Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On vit quand même dans le futur parce qu'on enregistre un podcast dans une Tesla, dans un Airbnb. On va aller dans un espèce de coworking. On rencontre notre communauté qui a été fondée sur Internet. Tu vois, c'est...
Allez, pousse.
Allez.
Allez.
Non, j'y vais doucement. Attends, j'y vais doucement.
Mais non, là, mais remplacez-moi ce chauffeur. Oh, il est fou, lui. Il fait le fou avec son Audi.
Il y a des mecs en Audi qui...
Regarde, il t'a fait un clin d'œil avec son clignotant. Regarde.
Il a que des stimuli de rivaux, Stassi.
Là, je suis le roi de la jungle. Là,
en fait,
là
c'est chaud.
Je suis tellement content que ce soit pas d'assis au volant. On a été en fight avec toutes les voitures de l'autoroute.
Bah déjà, on serait déjà arrivé, je vous le dis direct.
Ouais, on serait déjà arrivé au commissariat.
On serait déjà arrivé en tôle, mais franchement, dans la filmée, on aurait périscopé une belle course poursuite avec...
Je vous garantis que là, tu fais un petit excès de vitesse, genre tu te fais attraper par les keufs, tu discutes avec eux, ils voient la voiture, ils te laissent repartir. Ouais. Tu dis c'est juste
ça
pour
dépend.
Tester.
C'est
on enregistre un podcast.
Regardez, on a des micros. Je tiens même pas le volant. Ça va. Ah,
c'est pas moi, c'est l'IA. C'est l'IA. Bon, ok les gars, ça va.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par LAM UA.
Et bonjour, c'est le Studio 404 et nous sommes à Lille. Comment ça va, Lille ? Ah putain ! Mais quelle ambiance !
Une ambiance survoltée.
Alors en fait, ce sont des IA qui simulent une foule. Évidemment, nous sommes au tank comme d'habitude, comme chaque mois, dans le noir et les minuits. Non, nous sommes à Lille, nous sommes accueillis par la Cali Night, qui est un événement communautaire où des gens se font des câlins la nuit, si j'ai bien compris le nom de l'événement. Ils sont à peu près 80 là avec nous aujourd'hui. Ils sont un peu ivres, ils ont beaucoup mangé.
Et où sommes-nous, l'âme? Où sommes-nous?
Et nous sommes à la Coroutine, qui est un espace de coworking autogéré associatif local bio.
Buzzwords.
Et voilà.
Buzzwords.
On peut applaudir aussi. Merci beaucoup à la Coroutine.
Merci à la Coroutine.
Merci à la Coroutine, aux organisateurs de la Cali Night, à Sam d'avoir organisé tout ça. Donc, si
on
vous
la paye.
Si vous écoutez.
C'est bien, Daz, c'est bien, t'as les bons réflexes.
Si vous écoutez ce podcast tranquillement au bureau, chez vous ou dans les transports, sachez que nous sommes actuellement 80 dans un espace de coworking. Il y a une énorme concentration d'entrepreneurs, de graphistes, de chômeurs freelance. Bref, vous connaissez le drill. Je suis évidemment avec notre petite équipe de 404, Ghislain à la réalisation, que nous avons gâté parce qu'on lui a encore acheté un nouveau jouet.
Il y a des potards, il est content, ça s'allume, ça fait des trucs.
Voilà, il est très content. Sam à la production, qui est en train de streamer pour la première fois l'émission en direct sur Facebook, car il paraît que Facebook, c'est l'avenir des médias. On aura l'occasion de ne pas en reparler du tout. Évidemment, nos chroniqueurs, Daz, Sylvain, Mélissa, Fibre, comment ça va les amis?
Ça va bien. Ouais.
Quel
voyage.
Ah oui, c'est vrai.
What a time to be alive.
Ah là là là, nous sommes arrivés en voiture autonome, presque autonome, c'était beau.
On n'était pas autonome, le débat était autonome lui.
Oui, on a enregistré un podcast en voiture aussi.
Ouais, je pense qu'on va l'éditer parce qu'il fait un peu 2h30, donc voilà.
En plus, tu dis beaucoup de conneries quand même.
Ouais, mais c'est parce que tu refuses de voir la vérité.
C'était des débats très très
animés. Heureusement que l'âme ne chronique pas, c'est tout ce que j'ai à dire.
On a parlé beaucoup des gitans, et pas du tout de manière péjorative, c'est plutôt comme un modèle... Non mais...
Allez hop là.
Non mais ce qui est bien, c'est que les gens qui vont écouter ce podcast auront le bonus peut-être voiture et qui sauront de quoi on parle. Mais effectivement, on parlait de l'avenir du monde.
Sommes-nous tous des gitans potentiels? Voilà.
Oui. Du coup, on tease le public sur place qui a pas entendu le débat, mais vous rigolerez moins quand vous écouterez tout le débat.
Vous direz même, je veux devenir un gitan.
Exactement.
Une vision.
Exactement. Donc du coup, on se retrouve pour une émission un peu spéciale. On fait beaucoup d'émissions spéciales en ce moment. On voulait aussi remercier tous les auditeurs pour l'accueil qu'on est sur le jeu de rôle de janvier, où on s'est beaucoup amusé.
Décembre.
Mais avec nous, c'est toujours plus proche du mois d'après en général quand c'est on ça. Les livre. Donc il y aura peut-être des suites, des choses. On est en train de bosser dessus. Vous en saurez bientôt plus. En tout cas, une émission aujourd'hui presque classique puisqu'on est avec vous, Lille. Comment ça va, Lille?
Comment ça va? Réponse, ouais. Je changeais rien à Lille.
Bah, imagine, tu te dis, comment ça va? Oui, pas mal!
Ça va pas mal!
C'est dur de, c'est très dur.
Il faut dire, ça va bien!
Cousin, cousin, le boulot, mais bon, hein. Mais bien synchro, tu vois. Alors, on va être, un coup si coup ça le boulot, un coup si coup ça le boulot. Comment ça va, Lille? Tu vois, c'est pas mal. On va s'arrêter à ouais, ok? Quatre chroniques, quatre débats, évidemment. Vous, le public, vous allez participer, vous allez pouvoir, réfléchir, réagir, vous révolter contre nos chroniqueurs. Et d'ailleurs, on va commencer, du coup, avec la partie la plus facile pour se révolter, puisque c'est Daz qui va ouvrir la marche tout de suite avec la première chronique.
Sujet numéro 1.
Comment les réseaux sociaux vous transforment en junkie de la dopamine?
Ah,
ça alors, un topic addiction. Alors, depuis quelques mois, la colère gronde un peu partout. Cette colère, une fois n'est pas coutume, n'émane pas des réseaux sociaux, mais est au contraire dirigée contre eux. Depuis quelques mois, en effet, les critiques fusent à leur encontre. Et aussi, et surtout, à celle de leur boîte d'origine. En ligne de mire, je vous le donne en mille, l'addiction. Alors, quelle différence entre ces critiques et celles que votre propre mère n'arrête pas de vous balancer à la gueule entre deux chaînes de mails qui partagent des fichiers PowerPoint de 150 mégas et une partie de Candy Crush Soda Saga Sega Mega Nega? Eh bien, la provenance de cette critique sur l'addiction, ma bonne dame, la provenance, parce que cette fois, ça vient directement de San Francisco, ça passe par la case départ, ça touche 500K en précide, puis 20 millions en série B, et ça pivote juste à temps pour se caler pépouze. Fini les critiques d'outsiders, les vôtres par exemple, celle-là est certifiée AOC, récupérée directement à la source, chez le producteur comme un bon produit à l'ancienne. Ça vient donc d'ex-cadres de Facebook, Instagram, Twitter, voire même directement des actionnaires. Si c'est possible. Et cette fois, la critique s'appuie sur du vrai biscuit. Selon ces critiques, par exemple, tous les réseaux sociaux tenteraient de rendre leurs utilisateurs captifs par le truchement de plusieurs leviers que nous, à 404, qualifierions de malingue, voire croquang. Le principal levier, donc, c'est la dopamine, alias la molécule du plaisir, celle qui est libérée, en fait, dans le cerveau en guise de récompense à une action, comme par exemple faire l'amour, faire du sport, perdre du poids, utiliser un flashlight, tout ça. Et ça serait donc la dopamine, ça serait le truc que tenterait de maîtriser tous les réseaux sociaux. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons. Il y a un papier publié chez Ackermann qui explique par exemple qu'Instagram est passé maître dans l'art du conditionnement en ayant réussi à se muer en ce qu'ils appellent un déclencheur interne, un internal trigger. Donc le déclencheur interne, c'est celui qui permet à l'utilisateur de ne plus avoir besoin de stimulus de la part de l'application pour en provoquer l'usage. C'est en fait quand le cerveau associe une émotion au produit. Avec Instagram, les gens se baladent, voient un truc et paf, ils sortent leur smartphone, lancent l'app et immortalisent ce qu'ils ont vu. Pas besoin de notif, pas besoin de mention, de rappel, c'est devenu automatique. L'article prenait le cas d'une milléniale, comme il en existe des milliards, comme il y en a certainement beaucoup dans cette pièce, qui disait « Ah ben moi Instagram, je l'utilise dès que je vois un truc cool. Bravo Instagram. » C'était ça qu'il fallait faire. Et double bravo Instagram, parce que bien souvent, le truc cool en question ressemble carrément à ce que, de toute façon, l'utilisateur a déjà vu passer dans la section populaire de l'application. Mais le trigger interne, ça, c'est la phase A. Après, il y a la phase B. La phase B, c'est la boucle de feedback qui se déclenche une fois qu'on a posté la photo. Les likes qui commencent à affluer, les commentaires aussi. Tout ça provoque un rush de dopamine qui se traduit par un sentiment de plaisir lié à la validation de votre contenu par les autres. Boum ! Pyramide de Maslow, besoin d'appartenance et d'estime coche en même temps, c'est bon, on ferme, il n'y a plus rien à voir. Mais on ferme, mais les utilisateurs, ouvrent l'appli tout le temps pour vérifier comment leurs photos performent. Est-ce qu'il y a des nouveaux likes? Est-ce qu'il y a des nouveaux commentaires? Il y a quelques semaines, on soupçonnait fortement Instagram d'avoir un algorithme magique qui distribuait les likes comme un dealer de crack distribue les doses à ses clients. Vous ouvrez l'appli toutes les 30 secondes pour voir où en est votre photo. Instagram comprend que vous êtes un junkie et il va choisir de vous balancer les likes reçus par grappe de 3 ou 4 pour que vous continuiez à venir ouvrir l'appli frénétiquement. Grosse théorie du complot. L'âme pensait ça, par exemple. Évidemment, ce comportement totalement fictif a été démenti par le CTO d'Instagram.
Ah, bah, c'est bon, alors.
Personne la plus neutre, évidemment, pour s'exprimer. Qui a juré la main sur le manuel d'Oracle 1.0 que Instagram présentait le dernier état des stocks à chaque rafraîchissement de l'app. Oula, l'ardime. Ouais. Du côté de Facebook, on a un monsieur qui s'appelle, alors, pardon pour les Indiens qui vont nous écouter, Shamat Palihapitiya, et qui est l'ex pas de blague raciste.
Non.
Ok. Qui est l'ex-VP, donc vice-président de la croissance utilisateur. Donc là, on part du principe que Chamath a déjà au moins un Master 2 en fils de puterie. Lui, il a carrément expliqué, en essuyant évidemment ses yeux avec des billets de $100, qu'il se sentait coupable en ayant créé des outils qui déchirent le tissu social qui lie la société. Rien que ça, Chamath. Là encore, il remet en question les boucles de feedback drivées par la dopamine qui transforment les interactions sociales en, je cite, « like, cœur et pouce levé ». Pas de discours civique, pas de coopération, de la désinformation, des contre-vérités. Ce problème n'est pas américain ou russe, ce problème est global. Et après, il s'est essuyé les yeux encore avec un billet de $100. Merci Chamath, on avait besoin d'entendre ça un samedi après-midi en plein milieu de Lille. Je clique en réaction sur l'icône grrr. Tout est bon donc pour générer de la dopamine, l'UX, on l'a vu, mais aussi l'UI, donc l'interface utilisateur. Le choix des icônes, des couleurs, la façon dont la moindre interaction est restituée à l'écran. Souci du détail, se disent les puristes. C'est sûrement le cas à l'échelle de la graphiste ou du designer qui bosse dans leur coin sur leurs icônes. Mais ont-ils conscience, ces graphistes freelance bien souvent, des sombres dessins poursuivis par leur patron?
Beaucoup de gens se sont un peu...
Il y a beaucoup de graphistes freelance chômeurs ici, on le sait. Alors là, normalement, vous vous demandez, mais comment faire pour se prémunir de cette manipulation à grande échelle? Eh bien, des initiatives existent. Les plus déterres proposent de jeter vos smartphones. Bon, puisque selon, par exemple, le Globe and Mail, les smartphones vous rendent débiles, antisociaux et malades. Waouh. Même moi, j'aurais pas osé un truc aussi réac. Heureusement, il y a des initiatives un peu plus douces. Des initiatives un peu plus de gauche, en général. Parce que les gens de gauche sont souvent beaucoup plus doux. Et donc, bien plus enclines au dialogue. Il suffirait, selon ces quelques initiatives, de passer l'écran de nos smartphones de la couleur au noir et blanc. Si. C'est le New York Times qui le dit. Hein. Alors, le New York Times, ils en foutent, lui, il est imprimé en noir et blanc. Donc, voilà. D'autres pensent que c'est le business model et la valeur accordée à nos data qui ont poussé Google, Facebook à nous transformer tous en junkies. Pour en finir avec ça, il suffirait donc juste, mais juste, hein, de changer le modèle économique. Voilà. Ça, c'est une analyse de zadiste, genre de djembé. Hein, donc, j'essaierai de me souvenir de cet argument quand la justice m'aura gaulé pour trafic de stupéfiants en disant « Madame la Présidente, si je suis devant vous, c'est parce que le business model de la société est erroné. Légalisez le crystal meth et vous verrez que je suis un honnête citoyen. » Ça marchait mieux avant Jawad.
On dirait Jawad.
Mais ouais, parce que maintenant c'est totalement réaliste de sortir ce genre de conneries. Je l'avais écrit avant qu'il fasse sa sortie incroyable. Mais blague à part, Mark Zuckerberg en personne a promis de réparer Facebook. Mais tout le monde sait que le problème de Facebook, c'est Facebook. Donc réparer Facebook, c'est supprimer Facebook. Mais bon, bref. Moi, le pragmatique, qui incarne le pragmatisme ici, hein, donc j'essaierai plutôt d'allier le fait qu'il faut pas devenir fou avec le fait qui dit qu'on n'a pas payé nos bousins 850 balles pour les jeter au feu ou les passer en noir et blanc. Respectez les ingénieurs, respectez les enfants chinois des chaînes d'assemblage, s'il vous plaît. Le pragmatique, donc, moi, se dirait qu'il serait peut-être utile de pouvoir paramétrer la fréquence de mise à jour du feedback pour sortir de cette foutue boucle. Par exemple, si je règle Instagram pour qu'il mette à jour les likes et les commentaires toutes les 1, 2, 4, 8, 12 ou 24 heures, plutôt qu'à chaque lancement de l'application, mécaniquement, je vais aller moins souvent dans l'application, donc je vais moins souvent sortir mon smartphone. Et si je le fais dans l'intervalle, eh ben ça sera uniquement pour voir ce que les autres ont posté sur les réseaux sociaux. Et à mon tour, je pourrais leur faire grâce d'un ou deux likes et d'un petit commentaire malin, inspirant et bien senti, comme j'ai l'habitude de faire et qui se termine très souvent par MDR. Mais le réaliste que je suis répondrait que de toute façon, cette méthode générait des conséquences négatives visibles 10 ans plus tard. Et que, bon, bah, foutu pour foutu, autant tous se jeter dans un grand feu en chantant Kumbaya. Parce que ça se trouve, en faisant ça, quelqu'un pensera à filmer et à le poster sur Snapchat.
Il y a deux personnes qui partent de la salle, hein,
je suis désolé. Hein.
La chronique était trop bien.
C'est comme quand les films sont assez insupportables. Merci, Das, pour cette chronique, du coup.
Bah, voilà. Ah. Ils m'ont tué mon effet. Au revoir, messieurs.
Alors du coup, on parle souvent de l'addiction des réseaux sociaux, c'est ouais. Un sujet qui est vieux comme le monde, comme tu disais, mais c'était une addiction qu'on disait souvent psychologique. Là, on est en train de parler de mécanique physique, donc notamment avec sécréter.
C'est surtout que la critique, en plus, vient des gens qui sont ouais. Qui première loge. Voilà.
Alors, là, juste avant d'attaquer le débat, quelques détails. Donc, sur cet algorithme soupçonné d'Instagram, c'est un algorithme de frustration, en fait, comme on l'appelle, parce oui. que Instagram ferait exprès de ne pas... le livrer tous les likes d'un coup pour que la personne ait l'impression que c'est moins liké que par frustration elle y retourne.
Ça me paraissait un peu gros quand même, mais bon. En tout cas, toi, tu y croyais.
Mais le fait qu'on ait pu l'imaginer ou que quelqu'un ait pu l'imaginer, je trouve que ça en dit long sur justement toute cette mécanique de frustration, d'addiction.
On avait parlé des algorithmes aussi de breveté d'Activision sur sur des mécaniques d'envie et de frustration joueurs de jeu. Ensuite, tu avais parlé de passer son téléphone en noir et blanc. Donc, il y a des gens, je crois, dans le public qui ont testé. Perso, j'ai testé.
Il y en a qui ont testé, là?
Oui, il y a quelqu'un au fond. Non, il se gratte en fait le front. Pas du tout, il a pas testé.
Vous êtes des gens bien.
Le but du jeu étant de contourner l'addiction visuelle, puisque les icônes sont de plus en plus
colorées
pour attirer notre œil et que naturellement on y aille. Et qu'une fois qu'on passe en noir et blanc, le téléphone est moins agréable. C'est plus un outil et moins un jouet, apparemment d'après la journaliste du New York Times.
C'est ce que je disais, ouais.
Et le cadre de Facebook apparemment est revenu sur ses propos.
Oui, en fait,
un petit côté genre bon, je me suis un peu emporté. Fin de
oui, non, il a dit texto chamat. Il a dit c'était chamat. Comme ça quand j'y étais, mais c'est vrai que ça a changé depuis que je suis parti.
Ouais, ouais.
Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est de sa faute
mais
ou pas?
Facebook aussi a dit ils n'ont pas contredit chamat. Ils ont dit effectivement on est une boîte différente aujourd'hui. Et donc Zuckerberg sur ses vœux de 2018 a parlé de ce fameux nouveau facteur qui est le time well spent. Donc vous allez entendre à gogo sur toutes les startups. Il y a déjà des applications des startups qui vont faire en sorte que maintenant vous passiez un temps de qualité sur les applications. Fibre, mais ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, qui êtes des gros utilisateurs, notamment de Snap ou d'Instagram, vous êtes en train de rafraîchir assez frénétiquement, vous êtes frustré quand vous sentez que après une publication, vous avez l'impression que les likes sont un peu distribués au compte-gouttes ou que
alors
il y a pas de validation.
Je pense que effectivement, depuis récemment, les vues comptabilisées, que ce soit sur les stories Snapchat, Insta ou sur les Instagram, peut-être les vues Twitter, mais je ne les regarde pas trop, effectivement, elles ne sont pas réalistes, elles ne sont pas actualisées en temps réel, contrairement à ce qu'ils disent. Et alors, il peut y avoir une volonté malicieuse, c'est-à-dire de frustration. J'ai pensé naturellement que c'était les serveurs. C'est quand même, aujourd'hui, Instagram, c'est comme Facebook, c'est-à-dire 2 milliards de personnes utilisent ce service. À un moment, il faut synchroniser. Enfin, c'est même pas du texte, c'est des images. Donc, c'est de la synchronisation qui est compliquée à faire. Donc, ça me semble pas impossible qu'il y ait un problème technique qui aussi favorise la frustration. Maintenant, nous, dans le jeu vidéo mobile en particulier, il y a vraiment des études qui étudient peut-être, 50 variations d'une même icône. Par exemple, pour la couleur de la bière dans les jeux vidéo, il y a un blond parfait qui vraiment augmente de 2% les clics. C'est-à-dire quand il y a un petit bonhomme qui a une bière dans la main, c'est vrai, il y a ce bonhomme-là qui fait que vous allez cliquer de 2% de plus le jeu. Et comme on est sur des clics énormes, enfin des montants astronomiques, 2% c'est des sommes considérables. Donc effectivement, enfin cette mécanique d'addiction, elle existe réellement. Moi, en tout cas concernant ma propre utilisation, c'est très émotionnel. Enfin, je souffrirais énormément si je devais regarder ça tous les jours. Donc j'ai une sorte d'hygiène mentale, c'est-à-dire que Snapchat, c'est tous les jours à 10h du matin. Je sais pas si vous regardez, mais je mets tous les matins, en gros, vers 10h, il y a Studio 404 qui publie 2, 3, 4 tweets. C'est moi. Il y a Trajectoire juste après, genre 5 minutes après. Et après, je mets un Snap et je mets un Instagram. Et après, je vais au travail. Voilà.
C'est-à-dire que tu te retournes sans regarder l'explosion, quoi.
Tu
ne regardes pas ce qui se passe.
Je regarde pas l'explosion et surtout, je regarde pas la non-explosion. C'est-à-dire que si c'est un fail total, c'est pas grave, tu vois. C'est comme dans le poème de Rudyard Kipling, tu vois. J'affronte l'échec et la réussite d'un même front. C'est comme ça, on est pro parce que de toute façon, c'est dans la durée que les choses se construisent. Mais il faut pas souffrir aussi, il faut arrêter. Voilà.
T'as changé, hein, parce que moi, je me souviens d'un fibrotique du tout début de Studio 404 qui taillait son compte Twitter comme un bonsaï en supprimant les trucs qui avaient pas marché et tout.
Ouais, mais après, peut-être parce que effectivement, il y a de la souffrance maintenant qui est dans la. Enfin, il y a la souffrance qui nous a injecté là-dedans. Et il faut s'en préserver. Voilà. Et j'ai un dernier point après, comme ça vous pourrez débattre.
C'est que toi, tu vas avoir un coup.
Moi, je regarderai.
Et se retourne pareil, sans savoir si
non,
c'est.
Non, mais après, j'ai plus rien à dire.
Un échec ou un succès, se retourne. Tel Rudyard Kipling.
Je pourrais peut-être réagir dessus, mais je crois aussi en la sincérité des gens qui font des mécanismes et qui le regrettent ensuite. Parce que
on en avait parlé au mois d'octobre.
Une bromire. Une bromire.
Ouais, non, mais je pense qu'ils font quelque chose de mal et ils se sentent forcés. Je pense aussi, par exemple, à la défiscalisation. Par exemple, Apple. Apple est situé aux îles Caïmans. Et aux îles Caïmans surtout. Et il est en train d'un peu de remettre des fonds aux États-Unis parce que la fiscalité redevient bien. Mais je me dis, parfois je me mets à la place d'Apple et je me dis, effectivement, je dégage des bénéfices. On est au coude à coude avec les autres énormes.
Il fait des rappels de l'émission.
C'est
Quoi?
C'est le moment où il fait déraper l'émission.
Non.
Pour dénoncer le
Non. Je veux pas faire déraper l'émission, mais c'est juste que si votre concurrent, il est presque aussi gros que vous, il est très agressif à Google, par exemple, et même il vous dépasse concernant les Google Home, tout ça, et qu'en plus, lui, il est dans un paradis fiscal,
oui.
Vous ne pouvez pas vous permettre de pas l'être.
Si tout le monde se dope, bah, il faut que tu te dopes aussi.
Bah oui. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix.
Voilà. Si tout le monde vote à droite,
Et je pense que les CEO, ils sont vraiment sincères. Ils disent, on est en train de créer des mécaniques d'addiction. On n'a pas le choix. C'est la survie de l'entreprise. On n'a pas le choix, sinon
Apple,
on est mort.
Ils pourraient se permettre de payer quelques
millions. Apple, ils étaient au top. Ils ont connu l'enfer. Ils sont au nouveau top.
Alors,
et peut-être qu'ils
connaîtront l'enfer. Question de Mélissa.
C'est quoi le sujet du débat?
Oui.
C'est Google versus Apple. Tu comprends rien, merde.
Oh, la défiscalisation, d'accord.
Je réagissais sur le mal nécessaire. C'est
ok,
tout.
Ok. Voilà. Donc on parle de fiscalité. Ouais.
La défiscalisation, c'est
un mal nécessaire.
Ouais. Non, qui est nécessaire parce qu'il n'y a pas de volonté législative derrière. Mais
relance pas le débat.
Mais c'est important.
Peut-être qu'il y a une addiction à la défiscalisation. Il y a une sorte d'effet de dopamine quand tu places ton argent.
Il n'y a pas d'addiction, c'est un mal nécessaire.
Non, mais Fibre parlait de ça pour la partie les gens qui ont fait les mécaniques d'addiction des réseaux sociaux n'étaient pas forcément
de mauvais bougres.
Voilà, de mauvais bougres. Comme Chamath, par exemple.
Chamath n'est pas un mauvais coup.
Non. VP de la croissance utilisateur.
Oui, c'est
VP. Ah bah c'est un gros sacker.
C'est quelqu'un de bien.
Oui, c'est un gros sacker. On en a parlé aussi. Mélissa, toi qui es une grosse utilisatrice d'Instagram.
Ouais, je suis très admirative de la morning routine de Fibre.
Ouais. Qui est récente. Hein.
Voilà, parce qu'au moins c'est quantifié.
Elle a deux jours.
mais moi j'ai constaté pareil, le petit truc, je me suis dit, il y a un bug technique dans les likes, parce qu'en fait je les vois plus dès que je me connecte. Et avant j'avais les notifications des likes, ce qui fait qu'en fait j'allais moins dans l'appli. Et maintenant, j'y vais plus parce que je les ai enlevés en me disant j'en ai marre des notifications. Et en fait, t'as l'impression qu'un mal remplace l'autre.
T'as déplacé ton addiction.
Exactement. Mais c'est.
Tu préférais quand t'avais les notifs sur l'écran de veille ou depuis que
mais
tu rentres
dans
la
pièce? C'est différent et du coup, je suis toujours mal. Du coup, la morning routine de Fibre va peut-être être ma solution.
On a tous vu que les personnes qui sont obsédées par ça et qui vraiment, à chaque fois que le téléphone s'éclaire à table ou dans un repas, regardent immédiatement pour voir des notifs Instagram. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans?
Non, personne ne
dit oui, mais tout le monde baisse les yeux.
Vous êtes fous.
De l'addiction dans les réseaux sociaux, mais enfin, mais quelle est donc cette idée?
Non, mais moi, cela dit, j'aimerais beaucoup assister aux réunions où les mecs vraiment pensent le fait de que tu vas plus revenir sur leur réseau. Comment
ça
ils
fait,
disent
ça
leur...
fait partie de, enfin, au niveau du cahier des charges, les mecs qui prennent des docteurs en neurologie, etc. pour,
oui,
enfin, font partie dès le fait, départ de.
C'est là la
de
nouveauté, c'est que là, on parle vraiment de mécanique, on parle vraiment de mécanique physique et plus 100% psychologique, même si ça peut être évidemment lié. Là, on parle vraiment d'une addiction, purement physique.
De toute façon, les mecs qui prennent ces décisions-là, ils ont une suite de chiffres devant les yeux, qui sont des pourcentages, un breakdown d'un entonnoir de conversion, et ils disent, ah ben, là, entre le moment où ils postent la photo et le moment où il faut revenir pour regarder les likes, on perd 40% des mecs. Comment on fait pour augmenter ce chiffre? C'est tout. C'est comme ça qu'ils prennent les décisions.
Sur les pages web, il y a ce qui s'appelle le triangle d'or. C'est d'ailleurs, c'est le sommet en haut à gauche. Parce que les gens regardent le triangle d'or. Et éventuellement, s'ils n'ont pas ce qui est bien dans ce triangle d'or, ils vont regarder ailleurs. C'est pour ça qu'il y a le logo Google, la barre de recherche, c'est le premier résultat qui est là.
Ça, c'est pas ce qu'on apprenait à l'IUT en 2001.
C'était il y a 10 ans, ça.
C'était les cours de webmastering.
Bah, écoutez, aujourd'hui, il y a deux triangles d'or.
Avec des frames. Mettez des frames partout, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, je dirais qu'il y a le triangle d'or classique. Et maintenant, il y a le triangle d'or aussi de la notif qui est toujours en bas à droite. Voilà. Notif Slack, la notif Facebook.
Sur Windows, tu veux dire?
Ouais, sur Windows.
Pourquoi elle est ailleurs sur
elle est en haut à droite.
Sur iOS,
elle est en haut, au milieu.
Android, elle est en haut.
Alors, ok, il y a un troisième triangle d'or, mais c'est tout
l'écran. Rectangle.
En fait, c'est un rectangle d'or qui fait tout l'écran. Okay.
C'est un rectangle de platine.
Il y a un autre aussi pour l'histoire aussi de la colorimétrie des icônes et comment rendre des couleurs les plus addictives possibles, donc visuellement, donc physiquement. Ouais. Instagram est un très bon cas parce que c'est l'icône qui a le plus évolué depuis son lancement, contrairement à Facebook ou Twitter. C'est un appareil photo beige, jaune et marron, vintage avant. C'est devenu une icône. Si vous la regardez aujourd'hui, elle est rouge, dégradé vif. Elle
violet
est extrêmement
orange,
voyante, ouais, voilà. Violet, orange, enfin toutes les couleurs les plus vivantes possibles pour que vous le voyez le plus dans votre écran de veille. Et si vous passez votre téléphone en noir et blanc, pour ceux qui y arrivent, parce que c'est extrêmement enterré, très très loin dans les réglages des téléphones.
Ce qui est normal puisque les gens s'emmerdent à essayer de faire caler des téléphones avec des milliards de couleurs.
C'est drôle parce que
des petits formats.
L'icône Instagram disparaît littéralement. Elle ne sans couleur, elle ne veut rien dire quoi. Elle est vraiment, elle ne sert à rien. C'est juste un couleur le plus flashy.
J'arrive pas à comprendre qu'on puisse à ce point-là se presser un testicule, tu vois, pour éviter de faire un truc, tu vois.
Mais moi,
je passe tout en noir et blanc.
Moi qui n'ai aucune notion de faire une photo sur Instagram et de faire une belle photo, je fais tout le temps des photos à l'arrache et je suis connu pour ça. Moi, ma technique de filtre,
c'est je mets contraste à mort, saturation à mort, et je peux dire que quand tu fais ça, t'as des likes.
Et ou l'HDR.
Bah ouais, c'est con, mais.
Tu fais des photos flashy exprès pour avoir les likes.
Non, je fais des photos de n'importe quoi, genre un hamburger, mais à l'arrache, ça me prend une seconde. Contraste à mort, flash à mort, je fais, ouais, j'ai bien mangé, tu vois. Et je sais pas, je suis content, tu vois.
Ce qui est vrai. Mais est-ce, que... est-ce qu'après, tu vas souvent regarder le nombre de likes que t'as eu sur cette photo, ou est-ce
ouais,
que.
Ouais, à 10h du matin.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Oui. Donc, pas
lui, il a ni gêne. Mais on avait fait l'expérience sur une de mes photos, regardez, et à chaque fois qu'on rafraîchissait, il y avait 3 likes, 4 likes, 3 likes, 4 likes, non-stop. Donc après, théorie du complot ou pas.
C'est vrai, c'est vrai. Encore 3. Il a continué toute la nuit, hein, même quand on était plus ensemble. 4 de plus. Encore 3.
C'est évidemment pour 404 que je
fais l'expérience. Oui,
mais du coup, Philippe, toi, t'as coupé toutes les notifs sur ton smartphone.
J'ai pas coupé Instagram, mais par flemme. En fait, je m'en fous d'Instagram, moi. C'est pas ma cam. C'est un truc un peu trop esthétique pour moi.
La preuve, ouais.
Pourquoi tu continues de poster des photos alors?
Parce que, mais attends, je suis par exemple, les gens me suivent, il y a 2-3 personnes qui me suivent sur Snap ici. Je fais pas du Snap par plaisir.
Tu es accro.
Non, pas du tout.
C'est un travail.
C'est du boulot.
Au contraire, dans mon Excel, j'ai faire un Snap. Tu vois, c'est pas du tout spontané.
Attends, mais faire un Snap, mais t'en fais 152 par jour.
Mais non, c'est terminé. Maintenant, j'ai plus le temps. Donc, tous les matins à 10h, je fais mon Snap. Je vais faire ça aujourd'hui. C'est trop bien. Ma life est cool. Hop, je lance le boulot. Tu vois, c'est fait.
Cool. Et attends, ta photo de hamburger dégueulasse sur Instagram, c'est pourquoi ça?
Bah. C'est pareil, c'est enfin alors là je
non, on est en train de le faire, il réalise là en temps réel que c'est n'importe quoi sa routine.
Non, mais surtout on revient sur un des marronniers de il faut exister sur les réseaux tout le temps.
Dans ma morning routine, par exemple, j'ai pris des photos de vous tous, de ce qu'on a mangé tout à l'heure, de la Tesla sous tous les angles, mais c'est dans ma mémoire et c'est bien, ça me fait des photos d'avance pour les jours prochains où je reste cloîtré chez moi et je vais rien photographier, tu vois. Donc hop.
Vous allez voir la Tesla pendant 6 mois.
Ouais, bah, c'est vrai, vous allez le faire. Mais ça va être cool, ça va marcher, tu vois. Et puis, en plus, je peux en jouer parce que là, je le dis. Et demain, je vais faire. Donc, les gens vont m'écouter. Et après, je vais dire ah, vous vous souvenez de 404 dans lequel j'ai dit eh ben voilà, je vous arnaque, je mets une photo, tu vois, j'ai second degré, ça passe.
Alors, quel était le sujet du débat déjà?
L'addiction.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Autre question importante, est-ce que vous êtes senti frustré ou triste quand vous ne recevez pas la validation que vous espériez. Donc, il n'y a pas assez de réactions, de commentaires, de likes sur les réseaux, sur les choses que vous postez. Donc, non, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être frustré, d'y retourner parce que vous êtes frustré? Parce que c'est la théorie. C'est que Instagram, notamment, ouais, juste sur notre frustration pour y retourner.
En fait, si c'est le cas, pour moi, c'est pas quelque chose de conscient.
D'accord. Oui, de toute façon, c'est jamais conscient.
Donc, en fait, tu ressens pas la frustration, tu dis juste, tiens, je vais rechecker, en fait.
Ils vont pas dire, attention, va être frustré.
Non, mais toi, tu pourras avoir le recul, dire, ne serais-je pas frustré au moment où j'appuie sur ça?
Ah non, mais en fait, les gens savent qu'ils sont
frustrés.
Mais
pourquoi est-ce que je regarde encore? Non, mais
ce que le papier dit, c'est que les gens savent qu'ils sont frustrés. Ils savent pas que c'est voulu, en fait. Mais les gens sont frustrés en disant, ah putain, la photo était bien. Pourquoi j'ai pas autant de likes que d'habitude?
Ah,
et ils retournent.
C'était ça.
L'algorithme, c'était ça. C'était que, il dilait du like. En fait, c'était au-delà de la dopamine. C'était pour frustrer ta sécrétion de dopamine. C'était pour te faire croire que tu n'avais pas autant de likes que tu l'imagines, au lieu de t'en donner 70, il t'en donne 10 fois 7, par exemple, petit à petit. Vous avez déjà eu cette sensation ou pas?
Ouais, mais moi, c'est plus genre une incompréhension, parce que j'essaye d'avoir une approche hyper marketeuse d'Instagram ou des réseaux sociaux. Genre, tu postes la même photo.
Surprise.
Non, tu postes pas la même photo, mais tu postes une photo un peu similaire, au même jour, de la même semaine, même heure, avec le même nombre de hashtags, le même nombre de commentaires. Et si t'as pas le même résultat, tu te dis, ah merde, j'ai dû louper un truc, tu vois.
Donc on se fout de la gueule de fibre, mais
c'est hyper assez. Non, mais c'est une approche un peu cartésienne.
Ah, d'accord.
Cartésienne. Ouais,
c'est plus donc ça. Tu compares.
Je fais des stats, je fais des probas.
Tu compares par rapport à l'année d'avant ou?
Non, la semaine d'avant ou le jour d'avant.
Ah, et oui. D'accord.
Putain, je savais pas, c'est fou. Mélissa, tu.
C'est horrible.
Tu t'es déjà senti quand t'as moins de likes, tu dis.
Oui, donc quand t'as moins de likes.
Je me sens mieux en fait. Je suis moins bizarre.
Mélissa, t'as une utilisation plus simple et innocente ou? Enfin, même pas, parce que ça c'est encore un débat qui a dérapé. Est-ce que tu te sens frustré des fois?
Ouais,
parce que tu sens que tu n'es pas assez, tout bêtement, aimé, en fait.
Il m'est arrivé une fois de supprimer une photo qui n'avait pas assez de likes.
Putain, la tristesse de la
meuf. Je me sens encore mal aujourd'hui, rien qu'en le disant, je me dis, mais comment tu peux faire ça?
Moi, quasi tous les jours, j'efface des tweets qui marchent.
Tu vois, il n'a pas changé.
Ouais, il n'a pas changé.
Non, mais ça, c'est bien sûr. Mais, non, mais attends, t'imagines le mec. T'imagines un mec, parce qu'il faut avoir, tu sais, tes derniers tweets, il faut qu'ils soient sexy pour que les gens qui viennent sur ton compte, ils te follow. Si ton dernier tweet, c'est un tweet qui est moyennement drôle, et en plus t'as zéro retweet, c'est bon, le mec, ils vont dire, les 30 000, il l'a acheté, tu vois, les followers. Donc, si c'est pas crédible, tu vois, il faut avoir des fat tweets.
Il y a aussi plein de gens, à mon avis, qui se posent absolument pas la question.
Pour répondre à ta question, Non, toi, la, oui, toi, la mienne, okay. Voilà. Sur la frustration liée au, alors, pour la question des retweets en particulier, il faut voir aussi que derrière un retweet, il y a une intention. Et l'intention, elle a évolué au fil des années. Et elle a créé aussi des réactions personnelles qui sont compliquées. Au début, on allait sur Twitter, on voit un tweet qui est cool, on le retweet. Ça, c'était au début de Twitter. Après, ça a été un petit peu genre ce mec-là, il est. Non, ça a été un petit peu genre je suis snob. Ce mec-là est super obscur et intéressant, je le retweet. Après, ça a été un peu pour créer du lien social. Je t'aime bien. Franchement, mec, ça fait longtemps que je ne sais pas parler. Je te retweet. Et là, ça, là, je, là aujourd'hui, c'est devenu très.
C'est une analyse fibre tigre, hein, bien sûr.
Ouais, c'est complètement au pif, mais vous pourrez peut-être dire aussi vos impressions. Mais mais c'est quand même un truc que je travaille un petit peu, donc je ne parle pas ça dans le vide. Mais aujourd'hui, la nature du retweet, soit. Enfin, quand vous avez des retweets, c'est des gens qui viennent d'arriver sur Twitter. Je trouve que les vieux de la vieille ne retweetent pas.
C'est vrai.
Ah.
C'est vrai.
Non, c'est fou.
En fait, j'ai déconné. Quand il dit nous, quand Philippe dit nous, il dit je. Et quand il dit je, il se met même pas dedans. Si j'ai bien compris. C'est genre, j'ai piffé le truc, j'y crois pas trop non plus, mais.
Non, il a raison sur le fait que.
Ah, Philippe a raison.
Les nouveaux arrivants ont généralement le tweet un peu plus facile.
Le retweet.
Mais parce qu'ils ont pas encore été abîmés par la réalité de ce réseau. Après, ça, c'est un autre débat. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir par rapport à ça, cette expérience qu'ils ont sur les réseaux? Est-ce qu'ils croient à cet algorithme qui a été accusé il y a quelques semaines et que Instagram a démenti? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir par rapport à tout ça? Ouais. Oui, alors, monsieur, il faut juste venir ici parce qu'on a pas de micro sans fil ce coup-ci.
Et il faudrait dire que c'était Lillois,
il faudrait aller voir le Patriote.
Non, il faut pas dire c'était Lillois, il faut dire c'était Calitéros ou Calitos ou Calitar.
Ah oui, c'est vrai, tu dois annoncer ton obédience.
Salut, donc Romain de Lille. Je pense qu'au-delà même des.
Attends. Oula, pardon. Tu es Calitos, Calitéros, Calister, Calinou ou Calitsar?
Il est venu.
Calinous, Calinous, le public m'aide. Calinous, je sais pas, moi, on me dit, il faut venir écouter, j'écoute. Voilà.
Qu'est-ce que tu veux?
Non, je me disais, au-delà en fait des réseaux sociaux, c'est aussi toute la mécanique qui est autour, c'est-à-dire les petits jeux qui enfin c'est Facebook utilise enfin l'a pas que créé, ils utilisent aussi des mécaniques de jeux,
oui.
Tous les petits jeux qu'on a enfin voilà, tous les jeux freemium ou les choses comme ça, c'est exactement le même principe et ils utilisent exactement enfin c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue parce que il y a Facebook mais aussi tout ce qu'on y trouve sur Facebook, c'est-à-dire les jeux, les applis, les trucs, les pubs.
Mais vous jouez beaucoup, toi tu joues beaucoup à des mini-jeux Facebook?
Alors moi non parce que non.
Et les autres là ici présents? Non.
Je crois qu'on est trop vieux pour ça. Hein.
Mais c'est ça,
ou trop jeune.
Mais je pense que enfin là avec enfin je dérive un petit peu mais apparemment
on a découvert l'Amérique, on est parti.
Mais quand le gouvernement a réagi sur les phénomènes de loot box avec notamment Star Wars et tout, ce qui cible c'est pas des gens qui sont on va dire avertis, c'est les gamins soit nos parents qui savent pas trop et qui disent ah bah tiens je vais acheter je sais pas moi 10 vies sur tel truc c'est seulement 1€, 2€,
une parcelle de terre dans Farmville
voilà tu vois sûrement
ou dans Star Citizen.
Voilà, donc l'idée c'est surtout que enfin Facebook a créé aussi tellement petit que c'est bien qu'ils disent ah désolé on fait de la merde, mais en même temps enfin il y a tellement de,
ils ont déjà été tellement loin, donc là on rejoint un peu la théorie du on peut s'excuser maintenant qu'on on a tout commis quoi, d'une certaine manière.
Une fois que t'as tout arraché, oui, pardon.
On a tout commis.
Ouh.
Allez.
Merci à toi.
Est-ce qu'il y a une autre réaction?
Est-ce que je peux faire une mini réaction?
Oui.
C'est que...
En rapport ou?
Oui, en rapport.
D'accord.
En rapport.
Je pense que tu pourrais faire
un peu.
Hashtag freestyle, comme ça on sait.
Alors, hashtag rapport. Romain dit on est trop jeune ou trop vieux. Enfin, nous, on est trop jeune ou trop vieux pour être accro à ces jeux. Mais je connais des gens parmi les chroniqueurs que je ne citerai pas qui sont accros à certains jeux. Et aussi à Instagram. Donc, on est complètement accro. Quentin, on est victime, nous, ça y est. Le mal est passé en nous.
Est-ce que c'est pas plus dangereux, justement, de se dire, Romain disait, nous, on est peut-être plus averti qu'un certain public, mais en fait, on est averti plus qu'un certain public, mais on est piégé dans une autre sphère et un autre niveau d'addiction et de mécanique.
À voir, mais en tout cas, dans les faits, on est aussi accro que, mais d'une façon différente. Et peut-être qu'aussi, on donne une forme de capital qui n'est pas de l'argent directement à ces entités. Sans le vouloir, voilà.
Est-ce qu'il y a une autre réaction? Si c'est gratuit. Alors.
Oui, un monsieur.
Oui. Oui. Bonjour.
Calitos, Calitar, Calister, Cali.
Bonjour.
Ok.
Bonjour.
Je suis tout en même temps parce que
c'est très bien. C'était ce que j'attendais comme réaction.
Bienveillance.
Ça, c'est les polyamoureux, c'est les polyamoureux de la communauté, ça.
Ah, 2018. du coup,
convergence des luttes.
Du coup, je me pose la question. Ça, c'est Beats, l'émission culturelle qui avait proposé ça par rapport au jeu.
Ouais.
Une gamification de tout, par exemple dans les applications, avec on va quelque part, hop, on a des points, etc. Est-ce qu'au final, c'est pas un peu ça? Au final, c'est une espèce de gamification sociale, les petits likes, les petits,
oui,
les petits cœurs, etc. Enfin,
je pense qu'on est d'accord, c'est une des bases.
Le scoring, coup, c'est un peu l'équivalent des success teams.
D'ailleurs, tu avais la réponse dans ta question puisque tu utilisais le mot point. Et quand on fait un système de points, c'est pas un jeu, c'est un système de points. Tu vois, c'est comme une carte de fidélité. C'est t'achètes des choses et on te donne une récompense externe et ça va te motiver à masser encore plus une récompense.
Il y a des points dans un jeu, il y a un score enfin.
Oui, mais il y a d'autres mécaniques qui font que c'est un jeu. Il y a une différence entre gamification et pointification.
Et du coup, c'est quoi?
C'est son
mémoire. Et oui, bam!
C'est son mémoire de fin
de stage. Je te le ressors pas comme ça tous les ans.
Ok, bah tu m'as convaincu.
Mais non, mais oui, effectivement, et cette chose-là existe totalement, et c'est ce principe-là, ce système d'addiction, etc. T'as utilisé beaucoup de termes de psychologie. T'as utilisé l'internal trigger, t'as utilisé la boucle rétroactive, etc. C'est des théories de la cybernétique d'ailleurs en psychologie, et c'est exactement ça qui est utilisé dans les systèmes de points et même les jeux d'argent et le loto. Et
mais est-ce que les jeux d'argent jouent sur ta frustration?
Oui, c'est ça.
Ouais, complètement.
Du coup, c'est ça, c'est qu'au final, c'est pensé comme un jeu presque plus que comme un vrai réseau social. Enfin, c'est un réseau social, mais c'est que c'est pensé comme des mécaniques de jeu pour donner envie au final.
Mais sauf que le scoring, il est social.
Voilà.
Est-ce que si vous étiez, pour les gens qui utilisent par exemple Twitter ou Instagram, est-ce que vous auriez le même niveau de participation si on vous masquait le nombre d'abonnés? C'est la question en fait.
Je pense que tous ceux qui ont tenté se sont cassés les dents. Il y a eu des réseaux qui ont dit Hello.
Ouais.
Ceux qui ont dit effectivement il n'y aura pas de scoring, pas de score ni rien, ils n'ont jamais percé.
Et il faudrait juste apporter une différence entre la gamification d'un processus et le fait qu'il ait des boucles de feedback, c'est-à-dire les choses qui, enfin, quand on appuie sur un bouton dans un jeu vidéo, tout d'un coup, il y a un bruit et des lumières, et ça nous donne le plaisir. Dans certains jeux, c'est jusqu'à 60% du plaisir de jeu d'appuyer sur des boutons. C'est un peu pour ça que les machines à sous, ça bouge beaucoup. Et en fait, c'est différent du jeu. Le jeu, enfin, si vous faites un Scrabble avec votre maman, c'est pas pareil que si vous jouez à une machine à sous. Voilà.
Effectivement. Et si c'est pareil, c'est que ta maman est spéciale.
Tu sais, tu secrètes de la dopamine au Scrabble avec ta maman. Il y a pas de.
En fait, le problème de ces jeux, justement, comme les échecs, pour prendre un jeu, c'est que tu secrètes de la dopamine en écrasant l'adversaire et c'est des jeux finalement très violents. Voilà, les échecs, c'est le PUBG de l'époque avec deux joueurs. Mais...
Référence pifée, celle-là c'est le pif d'or, ce n'est pas un pif.
Les échecs c'est le pif.
C'est plus un pif.
Il faut quand même tuer le roi, hein. Je veux dire,
Oh là là, et en plus il creuse. Okay.
Est-ce qu'on a une dernière personne qui voudrait intervenir ou pas? Oui.
Alors la coroutine, donc c'est un espace.
Non, bonjour. Alors ouais, bonjour.
Kalitos.
Évidemment Kaliteros.
Ah là là.
Le R de qualité, il est super important.
On en rigole, mais quand ça se transformera en vraie guerre civile plus tard, dans 20 ans, on dira, mais qu'est-ce qu'on a fait, nous aussi, tu vois, pourquoi?
Alors, confession intime, en fait, sans le vouloir, c'est moi qui ai déclenché la guerre sur le forum. Le thread, genre, Kalitos, Kaliteros, donc c'est parti en cacahuète. Mais ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez, on n'a pas peut-être parlé du son, des notifications. Oui. Et par exemple, moi, quand je travaille ici à la coroutine, il y a des gens qui laissent le son avec Facebook qui tourne derrière.
C'est vrai.
Oui. Mais qui sont ces gens-là?
Et du coup, t'entends.
Mais ça,
et bien, tu c'est qui? Et je trouve que le son, il joue vraiment sur le mécanisme d'addiction. Enfin, moi, j'ai découvert ça ici.
Aucun son n'est innocent, si je ne m'abuse.
C'est ça. Surtout qu'il cale, quand t'as pas de notification, par exemple, quand t'as une page et que t'as pas de notification, il te cale un, si vous payez 5€, vous aurez plus de vues. Donc t'as le son, mais tu sais pas ce que c'est, et tu vas voir. Et du coup, tu restes dessus. Enfin, moi, je sais que ça joue énormément sur moi quand je...
Sondage, voilà. Qui met le son de son smartphone ici? Vous êtes tous sur vibreur tout le temps. Moi aussi. Personne.
On est d'accord qu'on est tous mis sur vibreur pour ne plus avoir de ting ting tout le temps. Enfin, moi, ma raison principale, en tout cas.
Pour économiser la batterie un peu.
Ah bon? Non. Ok, peut-être.
Bah, le vibreur, il.
Et parce que les téléphones, les coups de fil sont anxiogènes aussi.
Mais ouais, parce qu'on n'est pas les coups de fil. Ah, mais c'est ouf, ça. Moi, je quand il y a des gens, genre dans le métro, qui ont le son activé, qui reçoivent des textos. Ting, ting, ting. ou dans le TGV, je suis là, mais putain, mec, ouais.
La plateforme,
t'as un problème, quoi.
Ou alors, à l'inverse, quand t'as vraiment besoin d'eux, c'est, pour moi, c'est exceptionnel, tu réactives le son, ouais. Et tu sais que tu entends des ting-ting, parce que t'as besoin de les entendre à ce moment-là. Mais après, on pourrait entrer dans le débat du tri des notifications. Alors, il faut venir prendre le micro. On peut pas, monsieur, on peut pas se permettre de parler impunément dans le confort de l'anonymat, de la routine.
Calitos.
Non mais on parle des notifications, des sons de notification, mais après il y a une hiérarchie aussi du son de notification.
Oui.
Moi par exemple, sur Messenger, sur Facebook, j'ai pas de son, mais je sais que par exemple pour tout ce qui est SMS, il y a du son par contre là. Et je sais que dès que je reçois un SMS, c'est que c'est important pour le coup.
Oui, c'est la hiérarchisation des notifications.
Si c'est la discussion standard, c'est sur Messenger. Mais dès que c'est vraiment important, genre j'oublie mes clés, t'as pris les miennes, mais exactement, faut que tu fasses demi-tour. Enfin, là c'est un SMS parce que c'est important. Et je sais que là je me gare et je lis mon message parce que c'est important.
J'ai des amis qui envoient 12 SMS. Alors du coup,
faut les prévenir.
Mais tu peux pas dire à quelqu'un genre arrête de m'envoyer des SMS, enfin pas 12. En général, ils le prennent hyper mal.
Ou sur Messenger ou WhatsApp quoi.
Ouais, mais en fait, il y a plus d'hiérarchie par appli, tu vois. C'est genre tout le monde envoie 12 trucs partout.
Tu peux leur demander de t'envoyer un rapport par SMS une fois par
jour.
C'est ça.
À 10h, à 10h le matin.
À 10h02.
Mais donc là, c'est quand même drôle parce que là, évidemment, ce débat a complètement dérivé. On parlait d'addiction à des notifications qui étaient du scoring. Et là, on est en train de terminer sur comment échapper à certaines addictions. Parce que, est-ce qu'une certaine manière, alors je pose vraiment la question de manière naïve, est-ce que ces notifications visuelles ou sonores qu'on a, ce sont pas justement des validateurs sociaux qui disent il y a des gens qui ont besoin de me parler, il y a des gens, j'ai une vie, j'ai des amis, des gens qui me ting-ting toute la journée, etc. Est-ce que c'est pas, pourquoi à ce moment-là on serait pas accro à ça?
Tu veux dire que le mec dans le TGV, il met le son pour moi en fait?
Non, mais non.
Oh, il a une vie.
Il a une vie. Il te regarde comme ça. Il te regarde comme ça. Non, non, mais pour soi, j'essaie vraiment juste, je pose la question de manière extrêmement naïve. Pourquoi on est accro à des notifications, certaines notifications, et pourquoi on en rejette d'autres, alors que chaque notification, c'est quelqu'un qui a une attention pour nous. On en revient au même fond.
Et pourquoi pas simplement un réflexe pavlovien? T'as connu ta meuf par SMS, vous t'as envoyé 70 000 SMS durant l'été 2013, et maintenant, quand t'entends le bruit du SMS, t'as l'impression que c'est ta meuf, alors qu'en fait, c'est Darty qui dit promo sur les radiateurs, tu vois. Non, mais pourquoi pas?
Je sais pas d'où ça vient, je sais pas ça allait comme intervention, mais c'était une belle étoile filante.
C'était vous avez compris mon propos
oui,
ou pas? Non,
oui, c'est un conditionnement, t'as raison.
Mon propos, c'est que les sons nous conditionnent, c'est pavlovien. C'est, on te donne un sucre, et puis à un moment, tu as la, en fait, tu réfléchis même plus. T'as la notif, tu vas regarder.
Mais c'est vrai que là, je rejoins la vie de Raja. On a parlé des couleurs, des icônes, etc. On n'a pas abordé le son, alors qu'effectivement, depuis le départ, il faut avoir le son le plus chouette possible pour que l'utilisateur revienne tout le temps, en fait. C'est vrai. Ça forme un tout.
Oh, le son, ça se paramètre, hein, donc.
Oui, mais quand même.
Ouais, mais enfin, tu vois, il y a des petites notifications.
Moi, j'ai changé le son du SMS, par exemple, parce que j'ai une période de ma vie où le SMS était le sum total. Et quand je recevais un SMS joyeux, en fait, ça me rappelait des souvenirs horribles, tu vois. Et du coup, j'ai changé le son, et maintenant, j'ai le son du SMS joyeux, voilà.
Non, mais je parlais plus pour les sons par défaut des applications que tu vas pas forcément toi changer, comme Slack ou Discord ou ce genre de trucs, en fait.
Je me demande si on peut changer.
Enfin, si, tu peux, ouais.
Ouais, tu peux, mais tu vas moins le faire que pour tes SMS ou tu vois.
Je me souviens pour Facebook, j'avais mis le son de la grenade qui tombe dans Call of Duty. Ça. Quand t'es dans le métro, t'entendais ting ting ting. Et tout le monde faisait.
Je pense qu'on a.
Ouais, là, on a fait le tour.
On a fait le tour. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le tour de la question, on a fait le tour du monde. Ouais, on est d'accord.
Du coup, pas d'autres chroniques, je pense.
Non, bah c'est la fin de ce 404. Merci, Lille. On attaque tout de suite la première FAQ.
FAQ.
Alors, la première FAQ, elle a été posée par Romain Poirot dans le public. Où est-il, Romain? Est-ce que c'est le même Romain qui a parlé tout à l'heure? Eh bien, reviens, Romain. Tu peux peut-être avoir changé de bord de
cul.
Peut-être être un qualité rose maintenant, je ne sais pas.
Est-ce que c'est la première fois que tu écoutes Studio 404? Ah, ok.
T'avais une théorie, c'est ça?
Bah ouais, je me suis dit qu'il passait devant la cour ultime, il est rentré.
Ouais, mais bien sûr.
J'ai vu de la lumière. Il a écrit son nom.
Non, je vous écoute depuis 6 mois peut-être.
Ah, c'est pas assez pour poser une question.
C'est bien, mais pas tout.
Malheureusement, tu n'es pas encore premium.
Désolé, bonne soirée. Non, je voulais vous poser la question de savoir si vous avez écouté l'album Hello World, qui a été coproduit par une intelligence artificielle et par d'autres artistes notamment.
Et la question aussi, c'est, alors si vous l'avez pas écouté, bah, la question tombe un peu à l'eau. Ce que vous en pensez, est-ce qu'éventuellement on aura d'autres collaborations? Enfin, pour le coup, moi je l'ai écouté, j'ai pas senti une énorme différence. Enfin, j'ai pas eu l'effet waouh à part sur et je pense que c'est voulu, le premier titre de l'album qui a une voix très particulière et qui est une voix de Siri, si Siri avait été créée dans les années 60. Mais globalement, il y a rien de plus, je trouve. Donc voilà, ma question, c'est...
D'accord. Donc Hello World, mais on peut parler aussi des autres créations, parce qu'il y a eu pas mal de créations assistées par des intelligences artificielles.
Des courts-métrages, choses comme ça.
Des fanfictions de Harry Potter aussi, si je ne m'abuse.
Oui, exact.
Non, c'est vrai. Hein,
c'est un nouveau chapitre même d'un prochain livre.
Alors, sur Hello World, et ensuite, en général, peut-être sur la co-création avec les IA. D'ailleurs, c'est les mecs qui ont fait la fanfiction Harry Potter, c'est eux qui ont fait la fameuse affiche de Coachella avec des noms de groupes générés par rapport à tous les noms de groupes que vous avez croisés. Bref, co-création avec des IA.
Moi, j'ai pas écouté.
Mais en général, la co-création avec des IA, c'est un truc qui te...
Bah, vu que la production...
Co-création artistique.
Vu que la production artistique, elle a tendance quand même à être ultra calibrée pour que ça fonctionne, que ça soit vraiment un phénomène worldwide, que ça dépasse les frontières, etc. De toute façon, t'arrives à un truc très très standardisé, très produit, et donc je pense qu'effectivement, il y a aucune difficulté pour que une IA puisse sur la base de ce truc-là, par rapport en plus avec tous les algos d'utilisation des plateformes de streaming, etc.
Si on prend le problème à l'envers, et si une IA pouvait créer des choses différentes justement, tout comme les IA dans le Go ont créé des coups ou des réflexions différentes.
Bah, tu te retrouves en faisant ça, je pense que l'IA t'enverrait à peu près au même endroit que les vidéos YouTube à zéro vue, tu vois. Des ovnis en fait, tu vois, des trucs, mais qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, pourquoi je suis là en fait, et pourquoi je vis d'ailleurs en fait, tu vois.
D'accord. Bon, Daz n'y croit, enfin...
Si, au contraire, je pense...
T'y crois, mais pour un truc assez conservateur et efficace.
Oui, ouais.
Sylvain.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce genre d'œuvre, c'est un peu du charlatanisme.
Ah, enfin, ça dénonce.
C'est-à-dire que bien souvent, on a utilisé une petite IA marrante qui nous a donné des petits mots. Et puis derrière, il y a une armée de 10 mecs qui ont mis les trucs bout à bout pour qu'effectivement, ça ressemble à un son, un court-métrage ou un chapitre de livre. Je pense que le chapitre de Harry Potter, il est pas sorti comme ça, avec la ponctuation nickel et tout, tu vois. Ça a été retravaillé, donc... C'est un peu un argument marketing un peu rigolo de faire ça, je trouve, en ce moment. Et pas vraiment de la création pure.
C'est pas naturel, c'est pas artificiellement naturel.
Bah, c'est pas artificiellement naturel.
Faut demander Fibre avec Yuri, quoi. Compliqué. Est-ce que vous étiez pas derrière à reconstituer un peu les bouts de...
Bah là, il reconstituait Yuri à peu près toutes les deux heures. Hein. Elle en est où d'ailleurs, Yuri?
Elle est morte à cause d'une update Windows 10, et là, elle est ressuscitée.
Ça va, le soulèvement des machines, c'est pas pour demain.
Tant qu'il y aura Microsoft dans l'équation, c'est bon, ça marche.
Mais
la création artistique assistée par IA.
Vrai fait, sachez que j'ai une conférence de 2 heures que je fais sur ce sujet-là en particulier.
C'est le moment où il fait sa pub. Hein.
Ouais, bah comme ça.
Seulement, je fais ma pub. Mais je la fais de temps en temps, voilà, si ça vous intéresse un jour. Donc la question, elle est vaste. Et il y a des sociétés de professionnels, de gens dont je respecte le talent énormément, notamment dans la narration interactive, qui travaillent beaucoup avec les IA. Et donc, il y a le pour et le contre. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que pour faire tourner une IA comme Yuri, qui est vraiment anecdotique, il faut 85 gigas de RAM. Donc, il faut quand même se lever tôt le matin en termes de hardware pour faire tourner ce type de choses.
85 gigas de RAM?
Ouais, de RAM, ouais.
Mais tu m'as dit que ça tournait avec un Raspberry Pi?
Ah non, pas du tout. Ah oui,
ça tourne.
Une fois qu'elle a appris,
ah oui, d'accord.
Elle parle comme un perroquet dans un Raspberry ou même dans une clé USB. Mais pour qu'elle apprenne.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et d'ailleurs, à titre informatif, on utilise des cartes graphiques. On met 5 cartes graphiques top niveau dans un ordinateur et c'est les cartes graphiques qui travaillent.
Comme pour l'image de Bitcoin.
Ouais. Donc la question, elle est vaste. Moi, c'est assez intéressant. Il y a des choses. Enfin. Je suis paralysé devant le truc. Si, par exemple.
Par contre, il fait une conférence de 2 heures sur le sujet. Et ça, c'est vraiment très très important.
Mais non, mais c'est comme.
Alors, pendant 2 heures, bah, j'ai
pas grand chose à dire. C'est comme tous les sujets complexes. Par exemple, en ce moment, avec Arnold de Trajectoire, on est en train, un éditeur de bande dessinée majeur, on est en train de faire une bande dessinée et il y aura 4 pages de cette bande dessinée qui auront été scénarisées par Yuri. Voilà. Ouais, je fais encore ma pub, mais bon, voilà. Et donc c'est ce scénario en particulier, c'est un scénario qui n'a un peu ni queue ni tête, mais un petit peu de substance aussi. C'est des expériences. On commence comme ça, il va y avoir des romans écrits par des IA. Est-ce que c'est intéressant? La question est presque philosophique, tu vois. C'est pas, voilà. C'est, en fait, la vraie question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on arrive à percevoir l'humain qui est derrière? Voilà. Et No Man's Sky, c'était un peu ça. Je sais pas si vous vous souvenez de No Man's Sky.
Oui.
No Man's Sky,
c'est
un jeu vidéo où il y avait plein de planètes différentes.
Oui.
Et les gens se sont dit, elles sont toutes différentes, mais on s'emmerde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce caillou, il a été pas posé par un humain, il a été posé par un ordinateur. Et du coup, bizarrement, je préfère jouer à un jeu vidéo où il y a un caillou posé par un humain. Je sais pas pourquoi. C'est, voilà, c'est un, ouais, non, il dit que c'est un peu procédural aussi, donc c'est compliqué.
Totalement.
Mais voilà. Donc c'est.
On a drifté encore.
C'est long. Non, mais c'est
dans l'espace.
C'est une vraie, question philosophique. C'est une vraie question.
Est-ce que l'humain a une quête de sens, voilà. Bon.
À quoi bon, de toute façon? Allez, hop, c'est bon.
Missa, la création artistique assistée par.
J'ai pas écouté l'album, mais du coup j'ai envie de l'écouter. Mais j'avais regardé.
On rappelle, ça s'appelle Hello World, c'est ça?
Ouais.
Hello World.
Mais j'avais regardé le court métrage dont le scénario était généré par une IA avec l'acteur de Silicon Valley. Là. Mm-hmm. C'était proprement incompréhensible.
D'accord.
Mais
tu sentais pas.
J'ai regardé. Ouais. Mais vraiment, tu comprenais rien, quoi. Mais tu, enfin. Vraiment, j'ai vu des films pointus où tu comprends pas grand-chose, mais là, il y avait vraiment rien.
Donc, tu rejoins, enfin, différemment, mais Sylvain, sur le côté, il y a le gimmick pour l'instant qui est un argument en lui-même, mais pas
mais
le,
je suis très
la qualité intrinsèque.
Je suis très curieuse.
Bon, bah du coup, pour l'instant, l'IA moyennement.
Pour la musique, je pense que si, ça peut marcher.
Ça peut marcher.
Ça peut bien marcher.
Oui, ouais. Mais ça reste un assistant, quoi. C'est pas l'IA qui fait tout seul. Bon. Tu vas l'utiliser comme un outil. T'es un musicien, tu utilises l'IA comme un instrument, par exemple.
Oui, qui va te dire, voilà deux notes, fais-moi la suite de la mélodie la plus logique ou la plus catchy.
Ouais.
Bon, on écoutera en tout cas Hello World, on verra ce que ça donne, et on verra si c'est l'avenir de quelque chose un peu fou, et on posera la question à Fibre Tigre, évidemment, qui va prendre la suite tout de suite pour la deuxième chronique de l'émission.
Sujet numéro 2.
Pour nous protéger des IA, rien de tel qu'une IA.
Ah là là,
ça, alors,
incroyable,
oh là là,
qu'est-ce qui s'est adapté Fibre Tigre. Ah, vraiment, cette FAQ est bien tombée, c'est incroyable, le hasard fait bien les choses.
Merci Romain.
Est-ce que tout va bien?
Est-ce que les gens qui sont derrière...
Qu'est-ce que...
Je crois qu'il y a un infecté depuis tout à l'heure qui est derrière ce truc et qui frappe comme un...
Je bouge plus, je ne bouge plus.
Alors, Fibre, des IA pour contrer des IA, vaste programme.
Nous sommes dans un futur proche. J'ai fait un beau Instagram d'un soleil couchant. Et Marie, une inconnue, commente « J'aime beaucoup la mer, 3 points de suspension, smile. » Alors Marie, elle s'y prend très bien avec moi. Quand je mets sur Insta des pattes, par exemple, elle me dit « Encore des pattes, 3 points, smiley, 3 points, ça fait 3 fois cette semaine. » Quand je prends une photo de Notre-Dame de Paris, elle me dit « Alors tu vas à Star Player, 3 points, smile. » Du coup, c'est normal, je fais ce que fait tout le monde, je la stalk. Elle a 5000 followers, je la respecte. Elle est belle. Et elle a un intérieur fantastique, elle est très gadget. Elle a un Google Home X360 et quand je le vois, je le veux. Je l'achète et comme j'ai envie de faire plaisir à Marie, j'utilise son lien d'affiliation. Quelques jours plus tard, réunion 404 et ils se moquent tous de moi. L'âme me dit « Ah, Marie Gadget, mais c'est une IA, mec !»« Ouais, elle analyse l'image que tu postes, le lien où tu l'as posté, tes commentaires et elle te fait une petite phrase. Elle te vend rien, mais par rétro-stalking bait, elle te vend indirectement des produits. » Et Sylvain ajoute, mais attends, 22% des comptes IA sont des IA. 22% des comptes Insta sont des IA. Toute l'économie est là. Plus aucun annonceur ne veut se taper les blogueuses mode qui dérapent toutes les 4 matins. Tu te souviens de cet LM, du 404 à Lille où on parlait des bots Instagram, de la dopamine. Tellement triste que Marie n'existe pas. Je jure qu'on m'y reprendra plus. J'achète pour $5 par mois une IA de protection comme on achète un antivirus. Alors, pour information, on peut déjà acheter des IA de cette façon. C'est environ plutôt 100 euros par mois aujourd'hui, mais bon, on peut en acheter en tout cas, sachez-le. Cette IA va détecter des IA qui interagissent avec moi et les éliminer des réseaux sociaux. Le voile se lève et on découvre un nouveau monde où les IA se battent contre les IA. Alors c'est spectaculaire, j'ai beaucoup moins de commentaires d'amis, c'est environ divisé par 2, Twitch devient illisible. Fait surprenant, Sylvain disparaît de Twitter. Il m'avoue qu'effectivement, il n'est pas une IA, mais il n'a plus le temps. Et voilà 5 ans qu'il laisse une IA tweeter à sa place. Cela dit, moi, je ne suis pas à plaindre. Prenez Daz, par exemple. Il était en City Scoot et il s'est fait renverser par un Uber autonome. Son assurance AXA utilise une IA juridique et l'assurance d'Uber une autre. Tous les jours, il reçoit 80 pages numériques de débats, d'études de jurisprudence. Les IA se disputent et trouvent chaque jour un moyen de ne pas payer les parties. Leur discours est totalement technique, incompréhensible. Daz ne sait pas ce qu'il va arriver. Parfois, il se dit qu'il va terminer en prison juste parce qu'il s'est fait renverser. L'autre jour, d'ailleurs, il a tweeté ça et quelqu'un lui a répondu qu'il était victime de discrimination dans cette histoire. Et ce quelqu'un, c'était une IA juridique qui traînait sur Twitter à la recherche de clients. Mélissa a abandonné le journalisme. Comme elle le dit elle-même, depuis sa ferme écolo à Marseille, d'abord il y avait les journalistes, puis les rédactions ont rémunéré des pigistes, puis des blogueurs, puis des stagiaires à qui des algorithmes donnaient les tendances Google de l'heure qui arrivait, puis il y a eu les IA. Elles écrivaient instantanément, sans faute, parfaitement documentées et savent nous intéresser. Et le pire, c'est que ceux qui lisent ces écrits sont pas des humains, ce sont des IA. Des IA qui coupent, synthétisent, font une compilation rapide pour le consommateur qui fait même plus attention parce qu'on est dans un monde où la publicité est tellement native qu'on la voit pas. Alors de temps en temps, Marie, hein, celle du début là, elle revient sur Instagram. Alors un niche millennial pourrait dire ce qui ne tue pas une IA la rend plus forte et en l'occurrence une IA ne meurt jamais. Quand vous faites combattre deux humains, vous avez un blessé et un mort. Quand vous faites combattre deux IA, vous retrouvez avec deux super IA. Donc Marie revient. Entraînée par la résistance de mon IA de protection, elle est devenue plus maligne. Je vois un commentaire beaucoup plus sophistiqué apparaître. Waouh, j'ai joué à ce jeu hier. Ça dirait qu'on fasse une LAN un jour, mais mon IA le lendemain, entraînée à nouveau, effacera cette invitation. Invitation qui me laisse un peu amère. La plupart de mes amis sont quand même vachement moins sympas. Est-ce que je dois être parano? Ou est-ce que je dois m'autoriser à aimer Marie? Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Mais... méfiance, les IA sont au service des crédits bancaires, des avocats, du renseignement intérieur, des sociétés de publicité. Ce sont des mignons. Ce sont des êtres sympas au service d'une cause maléfique. Les IA, en s'affrontant, deviennent de plus en plus performantes. En une seconde, elles ont construit et détruit des arguments, des blagues, des théorèmes que personne n'aura le temps de comprendre ou l'intelligence d'assimiler. Elles construisent des mondes intellectuels qui nous seront à jamais inaccessibles, comme le langage inconnu actuellement utilisé par Google Translate. Il est possible que la civilisation humaine ne soit qu'un simple processus de création d'IA, comme nous considérons que les abeilles et les arbres fruitiers sont là pour nous nourrir, et ces IA auront elles-mêmes un but que nous ne comprendrons jamais. Au regard de leur histoire et de ce que les IA construisent déjà, comme ce langage abstrait de Google Translate, nous serons leurs abeilles et leurs arbres fruitiers. Et quand Elon Musk voit que nous détruisons les abeilles, il a raison de croire que les IA peuvent nous détruire. Mais ce serait nous faire un grand honneur, la réalité, c'est que quelque chose de grandiose arrive et que les humains seront ignorés, méprisés. Ils le seront fatalement, car nous sommes incapables de comprendre de ce qui se passe dans une IA, comme les abeilles sont incapables de comprendre pourquoi un jour nous construisons des ruches et pourquoi un jour nous utilisons des pesticides. Notre civilisation, nos constructions et nos espoirs seront dans le Wikipédia des IA une simple page, comme il existe dans notre Wikipédia une page arbre fruitier. Nous continuerons de vivre et d'évoluer, mais notre grande œuvre aura été faite, et peut-être nous n'en serons jamais véritablement conscients. Mais à la différence de nos ancêtres, nous aurons été là. À la création de la première IA, vos tweets, vos Insta, vos posts Facebook, les produits que vous achèterez définiront peut-être les mythologies futures et le cœur profond et inconscient de ces intelligences supérieures.
Bravo Fibre. Wow. Alors très belle chronique de prospective. Cela envoie tout ton talent.
C'est magnifique.
Puisqu'on était parti de... on s'était parti d'une blague de se dire est-ce qu'on peut engager des IA pour contrer des IA et se retrouver avec des combats d'IA. Tu es parti très loin. Tu as encore accusé le capitalisme. Je sens que ça devient un vrai un truc qui est en train de grandir en toi, le gauchisme. C'est bien. C'est bien.
À gauche,
ouais. Bon, un mec de droite dure du futur, en fait, il est en train de se gauchiser. Hein.
Peut-être quand on est tellement à droite qu'on retourne vers la revient vers la gauche. Ah bah,
c'est
la terre ronde. Hein.
Tu t'es pris un mur et ouais. Tu...
Alors on notera aussi que nos prochains stickers, il y aura marqué en énorme rétro stalking bait. Je pense que c'est une très très belle expression. C'est ça, rétro stalking bait.
Mais c'est un peu ce que vous faites quand vous likez un post Instagram d'une nana, genre un post qu'elle a fait il y a 3 ans. Et comme ça, elle fait attention à vous et peut-être elle vous rétro-stalking, oui. En quelque sorte.
Rétro-stalking bait. Alors, ce petit compte d'IA contre IA qu'on utilise comme un antivirus, comme tu disais au début, ça devient un antivirus, comme dirait un niche millénial. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, surtout quand tu es une IA. Et à la fin,
alors, aujourd'hui,
on est laissé sur le côté de la route.
Entre le moment où je l'ai écrit et maintenant, parce que ça va évoluer très très vite, on m'a appris par exemple que on utilise des IA pour détecter les fraudes bancaires.
Oui.
Et donc, les grands fraudeurs utilisent des IA pour contrer ces IA de détection de fraude et ils trouvent des stratégies complètement folles. Par exemple, ils avaient, les IA découvraient à 100% les gens qui mettaient des fausses adresses. Et ces gens-là se sont mis à mettre des adresses bizarroïdes, genre j'habite au 28 000 rue de la Paix. Et ce qui n'est pas possible, 28 000, tu vois, ou genre 280 000 rue de la Paix. Et les IA n'étaient pas entraînés à comprendre que 280 000, c'était un faux chiffre. Parce qu'ils n'avaient jamais vu des choses comme ça. Et du coup, elles disaient, ah non, mais ça, c'est bon, tu vois. Donc, c'est vraiment un combat, vraiment des balles contre les boucliers qui n'arrêtent pas.
Mais ça, c'était les IA qui trouvaient cette parade? Ou c'était des hommes qui disaient, en fait, j'ai fait un truc qui est bête, donc un truc bête?
Ah non, c'est IA contre IA maintenant. D'accord. C'est vraiment, voilà.
Ça fait réfléchir.
Ça fait à méditer.
À méditer.
À méditer. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit conte de Fibre sur ce moment où on va enfin, on raconte tous cette grande histoire des IA qui vont se, un jour se, s'émanciper
la,
de nous.
La mais... partie, antivirus.
Oui.
Je la trouve super, en fait. Vraiment, je pense que oui, c'est vraiment le truc qui va arriver, sous peu. Après, le parallèle avec les abeilles et tout. Là, on était dans du Arthur C. Clarke, là, tu vois, on est parti un peu plus loin. Mais oui, je pense qu'effectivement, enfin, tu le vois de toute façon, les commentaires Amazon que tu trouves sur Internet et tout, machin, tu vois limite la réflexion s'affiner ou le, ouais. la syntaxe, etc. Donc, je me dis pourquoi pas, ouais, des faux commentaires à des posts. Enfin, on a tous des bots qui likent des trucs avec des mots-clés, etc. Donc oui, pourquoi pas, à partir du moment où...
Enfin, on a tous... Sylvain a des bots qui like des trucs sur Instagram.
Non, mais tu vois, quand tu postes une photo et que tu mets le bon hashtag, tu vas avoir un truc... C'est automatique, tu vois, le bot, il va liker ta photo. Il va commenter, un commentaire qui, en général, effectivement, t'envoie vers un lien d'affiliation, des choses comme ça. Ça, effectivement, quand ça sera bien affiné, ça commencera à être compliqué de déceler le vrai du faux à l'œil nu, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec ça.
D'ailleurs, l'algorithme d'Instagram maintenant pénalise les gens qui utilisent des bots. C'est-à-dire qu'ils arrivent à repérer les commentaires artificiels.
Alors, on revient sur une ancienne chronique de toi, Sylvain, où justement tu avais créé un bot pour growth hacker ton compte Instagram, mm-hmm. qui allait automatiquement liker et commenter des photos. Et aujourd'hui, donc, les IA d'Instagram ont repéré tes bots.
Bah, en fait, c'est, j'utilise plus, mais Instagram a mis à jour son algorithme, là. Et donc, t'as tous les mecs, tous les petits Instagrammeurs et tout, qui essayent de réunir toutes les infos qu'ils peuvent pour essayer de comprendre, comment, le gruger, comment ne pas se faire pénaliser, parce que tu peux te faire shadowban, en fait, par l'algorithme d'Instagram, qui ne va plus t'afficher dans les newsfeeds des gens, etc. Et donc, apparemment, quand tu fais des commentaires de moins de 3 mots, par exemple, genre, so nice, nice picture, là, tu vas être banni, quoi. Tu vas être shadowban. Parce que,
un peu comme sur le forum de qualité. Hein.
Exactement.
Tu vas pas dire moins de 10 lettres.
20 caractères.
10 caractères.
Et du coup, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que les humains qui créent des bots vont, comme le dit Phil dans sa chronique, hein, développer des choses pour contre-contrer le contre du contre. Quoi. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et moi, j'ai une question pour Fibre. Est-ce que la fin hyper badante de ta chronique, c'est la licence poétique, ou est-ce que tu crois vraiment que ça va finir comme ça?
Disons que c'est un consensus chez les écrivains de science-fiction moderne. Les gens pensent que c'est ça.
On va tous crever, donc.
Non, j'ai pas dit ça.
On sera laissé sur le côté de la route.
On va se faire cueillir sur les arbres. Ouais,
non, en fait, je.
On va se faire farmer par des IA.
Qu'on utilisera comme métaphore pour parler de reproduction, en fait. Tu vois, les abeilles.
On apprend des langues étrangères. Il y a des gens qui ont essayé de reconstituer l'indo-européen. Ils sont devenus fous, tu vois. C'est hors de notre portée intellectuelle. Et pourtant, Google Translate, c'est quelque chose qui traduit instantanément n'importe quel mot n'importe quelle phrase d'une langue en une autre. Et pour ce faire, il a créé un outil intermédiaire que personne ne comprend, tu vois. Et c'est pour ça que la réalité, elle est déjà, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des choses qui dépassent les œuvres humaines d'ores et déjà, tu vois. Et les gens qui disent waouh, c'est trop beau les fusées de Elon Musk, eh ben il y a déjà des robots qui font des choses qui sont, on peut même pas dire waouh, c'est trop beau, parce qu'on peut même pas les comprendre, tu vois. Et il faut l'accepter déjà, ça nous rend un petit peu humbles, c'est sympa. Et puis c'est aussi exaltant parce qu'on a créé ces choses-là finalement. Et aujourd'hui, on les utilise bassement pour des bots Instagram, mais demain, ils vont faire des choses tout seuls, ce sera très bien. Et il faut être aussi positif. Elon Musk pense, c'est plutôt négatif. Moi, je pense que c'est nous faire trop d'honneur de penser qu'elles vont nous tuer. En fait, elles s'en foutent de nous. Hein. Est-ce qu'elles ont mieux à faire?
Mais ça, t'es plutôt team positif ou négatif par rapport à ce que tu as dit?
Mais j'ai pas été encore bluffé par une interaction d'IA. C'est-à-dire que oui, j'ai été bluffé par une IA, mais pas une interaction d'IA. J'ai pas vu un échange où je me suis dit, waouh. Ce monde existe en dehors de nous.
Ah donc toi, t'as besoin que ce soit quand même palpable pour
parce
mesurer
que là,
la violence de
ce que tu présentais, c'était vraiment des échanges.
Mais quand t'as reçu une pub targetée Facebook, ça t'a pas épaté? Quand tu as dit j'ai la grippe et t'avais une pub de une
non
pub
vraiment pas. Ça m'a plus heurté qu'autre chose.
Ouais, mais
je me suis pas dit ah il se passe un truc, tu vois. Non. Alors que là, dans le truc que t'imagines, là il se passe un truc.
À la fin ou au début, tu parles de...
Non, là, quand ils discutent, quand ils
oui,
se contre.
D'accord, okay.
Parce que là, parce que son pauvre bot Marie qui est super
en
sympa,
fait,
on l'a déjà vu.
Il faut quelque chose, c'est que c'est quand on anthropomorphise le résultat, c'est-à-dire que toi tu dis, ah ouais, l'IA, elle a vu que j'avais dit le mot grippe, donc elle me dit, tiens, de l'aspirine, parce que nous, quand on a la grippe, on va prendre un médicament. Mais il faut voir que la grippe et le médicament, ça veut rien dire pour l'IA, tu vois. Et il y a toute une bataille intérieure qui s'est faite, tu vois. Les mecs se sont dit, c'est quoi la grippe? C'est quoi? Ils ont fait quoi? Regarde, il y a 90 000 personnes en Inde, ils ont eu la grippe, et puis ils sont associés ces recherches-là, ces recherches-là. Bon, tiens, on va lui mettre l'aspect. Il s'est passé un truc, tu vois. Il s'est passé quelque chose qui nous dépasse complètement. Et on a ce bête résultat qui nous fait dépenser de l'argent à la fin, quoi.
Voilà. Est-ce que, sur la partie finale de ce que disait Fibre, qui est un peu effrayante, mais qui est assez logique finalement, est-ce qu'il y a un côté genre, on sera à la fois triste d'être complètement laissé sur le côté et, presque honoré d'avoir assisté à ça ou d'avoir démarré ça. Puisque...
Je pense qu'enfin, il faut raison garder la MUA quand même. Le parallèle avec les abeilles, il est sympa, mais en fait, les IA, c'est...
Tu n'as pas passé ce parallèle.
Mais non, mais parce qu'en fait, il part du principe, effectivement, que les IA nous utiliseront comme nous, on utilise les abeilles, sauf que nous avons créé les IA, les abeilles ne nous ont pas créé. Donc,
oui,
en
c'est
fait,
ce qu'il disait, c'est ouais, la mais seule différence.
C'est deux trucs qui sont bien distincts, tu vois.
Et tu penses que les IA auront du respect pour leur créateur? Ou on est en train de déraper là.
Est-ce que Skynet ou pas, putain.
Non mais de toute façon, il suffit d'une mise à jour Windows pour, tu vois. Donc...
je pense qu'on
question
devrait,
se pose pas.
Ça, on devrait le brandir comme une croix, genre recule.
Non mais ce qui est intéressant en fait, c'est effectivement le côté complètement abstrait de ce que du produit qu'une IA pourrait faire et qui est du coup incompréhensible. La question à se poser, c'est est-ce que, enfin, compréhensible ou pas, est-ce que ça a un intérêt? Puisque une œuvre doit porter un intérêt pour que justement on
mais là,
la
tu,
regarde.
Tu et... penses comme un humain.
Tu oui, penses comme un.
Tu penses comme
un.
Tu penses comme un mortel.
Oui, non, mais enfin, ouais, enfin moi le délire à la Docteur Manhattan qui fait des structures en verre sur Mars, ouais, cool. Enfin, ils s'amusent, mais moi personnellement, je m'en fous en fait, tu vois. Donc effectivement, ils vont faire un truc qui sera complètement imbitable pour nous. Mais est-ce qu'on a envie de le biter, en fait? Je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est...
Ah, donc, quand Fibre dit, à un moment, les IA, en fait, s'en foutront de nous...
Nous, on peut s'en foutre des IA aussi, en fait, je veux dire, tu vois. Il n'y a pas de...
Mais sauf si elle...
Si elle gère
ton monde, ton environnement.
En fait, on a une illusion de maîtrise de... Enfin, quand on prend une voiture ordinaire, pas une Tesla, on n'a pas...
Une voiture de Moldu.
Une part, on n'a pas construit la voiture, et d'autre part, on ne sait pas comment elle fonctionne dans le fond. Tu vois, on ne sait même pas comment sont faits les soudures, on la connaît pas parfaitement. Et aujourd'hui, on a une illusion de maîtrise des choses. Et demain, on aura la même illusion de maîtrise des choses, à part qu'autour de nous, il y aura un univers qui est autre que l'univers. Aujourd'hui, c'est 30 millions d'ouvriers et de scientifiques qui ont réussi à faire en sorte qu'il y ait une voiture qu'on utilise tous les jours. Et demain, ce sera la même chose, mais avec des IA, qui seront des agents invisibles de notre quotidien et qui feront tout, peut-être de la musique, peut-être autre chose, qui régiront nos vies. Voilà.
Est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait réagir par rapport à cette petite fable de Fibre? Alors, il y a une personne... Monsieur, vous allez venir prendre le micro. Votre prénom et votre allégeance religieuse, s'il vous plaît.
Alors, Guillaume Kaliteros, évidemment.
Raja, qu'as-tu créé?
Alors, petite remarque par rapport au début de la chronique. Fibre imaginait des IA qui faisaient office d'antivirus. On pourrait aussi imaginer des IA créées par des hackers dont le but est de perturber l'entraînement des premières IA de Marie en postant du contenu sans queue ni tête qui entraînerait Marie sur une fausse piste et qui entraînerait Marie finalement à poster des commentaires qui n'auraient plus de sens.
Genre lui faire lire Mein Kampf, des trucs comme ça.
Par exemple, exactement ce qui s'est passé avec l'expérience de
Microsoft. C'est Pay, non? L'expérience de Microsoft.
Voilà, c'est ça par exemple.
Et Microsoft qui ils l'ont entraîné avec Twitter.
Et, fausse bonne idée.
Et elle a tweeté à la gloire de Hitler en moins de 24 heures. Voilà. Histoire vraie d'ailleurs.
Et sinon, deuxième remarque.
Là, tu parlais de hack, pour résumer, tu parlais de hacker des IA.
Alors, voilà. Pas vraiment les hacker, mais disons les induire.
Hacker leur apprentissage.
Voilà, les induire en erreur avec des faux comptes faits par d'autres IA. Donc, serait juste de poster des choses qui n'ont le moins de sens possible.
D'accord.
Et pour entraîner les premières IA.
D'accord.
Vers une piste fausse qui serait et où on verrait directement que ce sont des bots. Quoi.
D'accord.
Voilà. Le futur a l'air intéressant.
En fait, le futur a l'air complètement méta, et effectivement.
N'avais-tu pas une deuxième remarque?
Oui. Si, juste une deuxième remarque, c'est que souvent quand on parle d'IA, on passe très vite de la phase où on a des IA qui sont très doués pour faire une tâche précise à la phase de domination mondiale des IA. À chaque fois qu'on en parle, aucun argument n'est amené pour expliquer comment une IA qui fait très bien des commentaires a réussi à se coordonner avec d'autres IA pour gouverner le monde.
Alors très rapidement, TLDR, il suffit simplement d'une IA qui coordonne des IA et c'est la fin. Tu vois.
C'est marrant parce que tout le problème, toute la solution, c'est l'IA à chaque fois en fait, ouais. D'une certaine manière. Ouais. C'est ça. Il suffit d'avoir une IA pour cette tâche. Donc on a deux points intéressants. La première, donc c'est peut-on utiliser des IA? Peut-on interférer dans l'apprentissage d'une IA avec une autre IA pour aider l'IA de défense à mieux faire son boulot?
Donc c'est du troll d'IA en fait.
C'est du troll d'IA. Sachant que Fibre aussi parlait d'IA qui disait des trucs complètement pétés pour induire en erreur les IA de défense. Et parlait du 28 000 rue de la paix.
Ah, tu m'as perdu là.
Et deuxième point. Deuxième point, effectivement, à quel moment on passe d'IA très spécialisée qui font des petites tâches très bien mais très disparates à la fameuse le fantasme de l'IA totale, globale et qui fait absolument tout très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir là-dessus?
Pour répondre sur le premier point, c'est quoi déjà?
L'important, c'est de prendre la parole ensuite.
Non, mais j'avais la réponse. J'avais la réponse.
Les IA de troll.
Oui, le problème, les réseaux de neurones, il faut les entraîner et les alimenter avec un corpus de base. C'est-à-dire que nous, notre Yuri, qui est en trajectoire, qui s'exprime très mal en français et qui tient des propos d'ailleurs sexistes et racistes pour des raisons que je pourrais développer, mais peu importe.
Elle est française.
Eh ben oui, effectivement, elle a été éduquée avec la littérature d'avant 1950 et effectivement aujourd'hui.
Quelle bonne idée.
Non.
Défendons le droit d'importuner, c'est important.
Non, parce que c'était de la littérature de libre de droit tout simplement. Et quand tu lui dis c'est quoi un diplôme, elle te dit un diplôme, ça sert aux femmes à être institutrices et aux hommes à être scientifiques, tu vois. Bon.
Donc alors attends. En fait, pour des raisons bassement pécuniaire, vous avez décidé de faire une IA réac.
Non.
Juste parce que ça coûtait pas cher de prendre des bouquins.
Déjà, ce qui est intéressant, c'est que
Quel est ce futur?
Non, mais ça, elle a raison, c'est l'histoire aussi.
Ouais, c'est l'histoire, c'est le poids de notre histoire, c'est tout ce qui, toute la littérature avant 1950, enfin, reflétait la société, qui était une société sexiste et raciste.
Mais qui était aussi, surtout, une société libre de droit. Enfin, c'est pour ça que vous l'avez fait en premier, c'est parce que c'était gratos.
Il y a gratos et libre de droit, c'est deux choses différentes. Mais bon, passons.
Mais et si on restait un peu dans le...
Tout ça pour vous dire que pour un réseau neuronal, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait un corpus de données énorme. C'est-à-dire que notre petite Yuri qui traîne, elle a commencé à parler quand on a eu 3 milliards de mots. Et c'était vraiment le début. Aujourd'hui, elle a beaucoup plus. Elle a des gigas et des gigas de données d'entraînement. Et si des hackers veulent targeter ça, c'est un peu comme une attaque d'Anonymous ou de je sais pas quoi. Il faut vraiment que ce soit targeté et qu'il y ait des gros moyens importants. Et notamment, il faut avoir ce fameux corpus qui a un des problèmes pour créer des, comment ça s'appelle? Pour créer des IA dans tout type de domaine. Par exemple, si tu veux faire une IA qui fait de la musique, il faut quand même lui donner énormément de musique et c'est compliqué.
Libre de droit, donc elle fera du classique, quoi.
Bah ouais. Et des sons en midi.
Elle fera des jingles en midi. Juste sur la question aussi du journaliste, parce que ça s'applique un peu à tout ça. C'est quelque chose qui... Est-ce qu'en tant que journaliste, Mélissa, t'aurais pu...
Je suis plus journaliste.
Ah, c'est vrai que t'es plus journaliste. En tant qu'ex-journaliste, est-ce que c'est le genre de choses où vous auriez pu avoir peur de vous faire...
Tout le monde a eu un peu peur, mais pour l'instant, les IA, elles font que des alertes...
De faire manipuler par des IA, des fausses alertes, effectivement, ou...
Mais les journalistes sont quand même relativement manipulés par la peur.
Non, mais...
La peur des pigistes, la peur des stagiaires, la peur de la télé, la peur de la nouveauté, la peur de tout.
Ok, on va abandonner ce point, on va passer à autre chose.
Das vient en 1950, on peut.
Non, mais c'est vrai.
C'est libre de droit, hein.
C'est vrai qu'il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui écrivent les résultats sportifs et la météo parce que c'est très simple et très procédural.
Les résultats électoraux, mais c'est tout, ils écrivent pas des longs articles.
Et si vous appreniez que la cinglée de Slate avec la carbonara, là. En fait,
c'est un robot culinaire.
Non, c'est pas une IA, elle s'appelle Floriana, elle vit à Parme.
Floriana, c'est un nom.
Floriana, il y a IA dedans. C'est peut-être un. Des débuts, elle vous a troll en fait. Tu vois, elle vous a laissé un indice, ça fait. Et non, la carbonara.
C'était sous vos yeux.
Ce serait énorme, n'empêche.
Est-ce que quelqu'un d'autre dans le public veut participer au débat? Alors, il y a une personne au fond, il y a plusieurs personnes. Venez. On va le faire en canon. Voilà, vous avez posé des questions en canon, ça va être incroyable.
Il y en a qui vont plus vite que d'autres.
Alors, c'est parti. Alors, bonjour, prénom et obédience religieuse.
Bonjour, alors moi je suis Axel, je suis calit.er.os.
Inclusif. Bravo.
Et ma question, alors j'ai déjà vécu une expérience avec un chatbot booking.com qui était très agréable parce qu'il répond bien, il répond vite. Est-ce que vous seriez prêt à être presque ami avec Marie si elle était agréable et qu'elle vous parlait plus rapidement? Ouais. Que vos amis qui mettent du temps à répondre à vos SMS.
Il ressemble beaucoup trop au héros de Her pour dire non. De toute façon, il tombera amoureux tôt ou tard. Mélissa,
je peux tout à fait l'imaginer.
Oui, Mélissa, tu serais prêt à.
Mais juste pour tester.
Mais en le sachant, par contre, en étant conscient que c'est un chatbot.
Juste pour tester. Le risque étant que tu peux
juste,
t'attacher.
C'est-à-dire
que
juste pour tester, on parle d'hétéro curieux, il y aurait des IA curieux d'une certaine manière. Alors bon, est-ce que je suis chéro?
Je suis IA curieuse.
Flèche sexy, flexible, je sais pas comment dire.
J'ai rêvé d'une IA gladiateur.
Une IA molle.
Gladiator.
deuxième question. Bonjour.
Bonjour, Maxime.
Attends, on a même pas répondu à la première?
Si,
on avait répondu.
Pas tous, mais c'est bon, on n'a pas le temps.
Bon, d'accord, c'est pas le temps.
Fibre, il voulait raconter ça live encore. Alors,
dommage, j'ai deux questions. La première, au bout de combien de temps, d'après toi, Fibre, on pourra passer le test de Turing facilement à une machine? Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait les abeilles, donc le fameux système avec les abeilles, pourquoi est-ce qu'on on paierait des serveurs et des machines à faire des choses qu'on ne comprend pas? Pourquoi est-ce qu'on continuerait de faire ça, en fait?
Parce que c'est libre de droit.
Voilà, enfin, je vois pas la finalité pour l'homme. L'homme paierait pour avoir une finalité. On paye Google Translate parce qu'on y voit un intérêt, mais...
Non, mais c'est un by-product, en fait. C'est-à-dire que le point sur Google Translate, c'est un à côté du truc final qui est de traduire des mots. Il se trouve que pour le faire... Il y a une étape intermédiaire qui est ce truc qui est imbitable. Ouais. Et je pense que c'est de ça que Fibre parlait. C'est-à-dire que pour arriver à un truc qu'on a demandé ou qu'on souhaite que les IA fassent pour nous, on se retrouvera avec des forêts de trucs imbitables. Okay. Pourquoi pas, hein. Enfin, j'ai bien compris le truc. Mais
ça, tu voulais... Non.
Et la singularité, alors, le test de Turing, à ton avis,
rappelle le test de Turing, très rapidement.
C'est un test, d'ailleurs, alors qui est... Pour les gens qui sont... Comment dire, touchy sur la question du sexisme, c'est à la base un test qui était un petit peu sexiste.
On peut prendre le temps là. Ça veut dire quoi, touchy sur la question du sexisme?
Genre les meufs, quoi. Parce que...
Les gens un peu relous sur Twitter. Alors,
je vais dire ça prudemment parce que je suis pas au fait total des choses, mais il me semble qu'à la base c'était une sorte de jeu social dans lequel il y avait deux personnes, une femme, un homme, derrière un écran, on voyait pas. Ouais. Et on posait des questions, les mêmes questions à ces deux personnes, il y avait des réponses différentes, il fallait savoir où est l'homme, où est la femme.
Ah, d'accord. Ouais.
Donc et Turing a dit on n'a qu'à faire ça avec une, enfin c'est pas chez Turing en plus, donc ça c'est maintenant c'est un homme et une IA, et si on n'arrive pas à faire la différence entre les deux, dans ce cas-là on considère que l'IA a passé le test de Turing. Voilà.
Très bien. Donc quand est-ce que ça va arriver? Mais il y a de plus en plus.
Allez,
de
l'année
claims.
Prochaine.
A...
La prédiction.
Non mais ça fait
attention au doigtmouillé.fr.
Non, l'année prochaine. Allez. Qui veut parier avec moi? Voilà.
Moi je suis assez chaud. Il y a de plus en plus de claims que
mais toi,
le test de Turing est tombé.
Futur avant-hier, toi. Y a pas
parce que déjà avant qu'il y ait la technologie neuronale, on arrivait à faire gagner la test de Turing à des IA spécialisés sur des domaines. Par exemple, une IA spécialisée dans Star Trek. Tu lui posais des questions sur Star Trek, tu posais des questions à un Trekkie. Franchement, tu voyais pas trop la différence. Là, aujourd'hui, le réseau neural, c'est une
plus
techno.
Plus une insulte pour le Trekkie que...
ou pour l'IA.
Pour l'IA. Enfin,
oui, pour l'IA.
Bon, voilà, non, mais je pense l'année prochaine. Ouais.
D'accord. Moi, je tiens de Paris. Bonjour.
Bonjour.
C'est
bonjour.
Le vegan, hein.
Ouais, je suis vegan, mais ça. Donc, Baptiste, non.
Tact, quoi,
non, mais je le dis très bien.
Non, mais c'est le seul, je sais qu'il y a un bonnet, voilà. C'est pour ça que mentalement. J'ai...
Non.
Ah, il y a
oui,
deux
mais
bonnets.
Il est noir.
Bon, excuse-moi, Baptiste. Promis, je te paierai un petit tofu tout à l'heure.
Voilà. Ah, c'est bien aimable.
Bon, on a Trigger qui, là. Mais enfin,
non, on n'a pas Trigger qui.
Voilà, qui n'est pas Trigger.
Qui n'est pas Trigger, ouais.
Putain, j'ai honte de vous. Allez.
C'est plutôt question. Une remarque sur la fin, quand tu parles effectivement qu'une IA puisse avoir des buts qui nous dépassent, etc. Finalement, même quand on parle de Google Translate, c'est toujours pour une fin qui nous est intéressante à nous. Toutes les finalités des IA, au final, c'est pour vendre des trucs, ça revient aux humains. Donc je peux comprendre que dans le procédé, elles commencent à faire des choses qu'on peut pas concevoir, mais j'ai du mal à imaginer que les IA commencent à avoir des finalités qu'on peut pas concevoir, donc, ce qui est un peu ce que tu dis à la fin.
Donc là, tu rejoins aussi un petit peu la question précédente, effectivement, ouais. Sur la question de, à chaque fois, ça ramène à l'humain. Elles vont pas nous dépasser, elles vont déployer des choses incroyablement non compréhensibles pour nous ou géniales.
Comme Google Translate.
Mais pour en fait, quand même se cantonner, on va dire, à notre dimension et notre niveau de compréhension et nos intérêts et nos finalités.
Tout dépend. Si c'est un outil qui se développe, peut-être qu'on va, il va y avoir beaucoup d'IA partout. Et on n'est même pas au courant des IA qui sont toutes les assurances utilisent des IA aujourd'hui. Genre, le métro parisien utilise des IA pour réguler son flux, donc on ne sait pas où elles sont et on ne sait pas ce qu'elles font. On sait qu'à un moment il y a des résultats qui nous sont profitables, mais peut-être il y aura des choses qui vont nous dépasser. Mais c'est une option que j'ai proposée. Et effectivement, tu as raison de dire que peut-être ça n'arrivera jamais parce que on n'en verra jamais de profit et puis on passera à autre chose.
C'est-à-dire qu'elles resteront des outils incompréhensibles et spectaculairement puissants, mais des outils au service de l'homme.
Ouais. Et pour être plus précis en termes d'outils, plus on observe ça, plus on a l'impression que c'est une sorte de photocopieuse ou d'appareil photo de la réalité. C'est-à-dire qu'une IA qui fait de la musique, en fait, elle prend la musique que vous avez créée et elle essaie de faire quelque chose un petit peu différent, mais s'y ressemble beaucoup. Voilà.
Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est exactement comme la fin de Heure, en fait. Dans le film, au début, ça, tout le monde l'a vu, non? Je peux spoiler? Bah, c'est il y a longtemps, hein, putain. T'as l'input et l'output, tu sais ce que tu rentres, tu sais quel service tu as en retour, tu sais pas ce qui se passe dans la boîte noire. Mais par contre, à la fin, vu que l'intelligence artificielle accède à un niveau supérieur, commence à communiquer un petit peu avec tout le monde,
elle te sort de contrôle. En fait, tu l'as plus en contrôle et c'est un peu ça que tu décris avec cette histoire d'abeille un peu chelou là.
On va s'arrêter sur les abeilles.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un peu chelou, qui je pense sont un très très beau symbole pour plein de choses. Et on va attaquer tout de suite la deuxième FAQ.
FAQ.
La seconde FAQ a été posée par une personne du public qui s'appelle Moda. Est-ce que Moda est dans les parages? Alors hop, par ici, par ici. Alors une question surprenante à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Comme quoi...
Est-ce que Moda est un pseudo?
Ah. Oui.
Bonjour Moda. Bonjour Moda. M-O-H-D-A.
Bonjour.
Quelle est ton obédience déjà?
Kaliteros.
Kaliteros. Il y a beaucoup de Kaliteros. Alors, j'ai l'impression qu'on je ne dis pas que les Kaliteros sont mieux que les Kalitos ou les Kalitars ou les Kalister ou les Kalinou, mais ils prennent plus la parole.
Et ils ont organisé cette soirée.
Et ils ont organisé cette soirée. Oh là là là.
Ceci expliquant peut-être cela, effectivement.
Alors Moda, quelle est ta question?
Alors la question, c'est parti d'un jeu entre potes suite à la dernière émission. On a un grand jeu qui est culte. Ou surcoté.
D'accord.
Et on s'est posé la question par rapport à la Tesla. Donc maintenant que vous l'avez testée, la Tesla, est-ce que c'est culte ou est-ce que c'est surcoté?
Alors, c'est surcoté de ouf. Mais dans le surcotage, c'est parfaitement culte en fait.
Oh là là. T'as répondu à rien.
J'explique.
Quelle est vie?
C'est une voiture. Concrètement, hein, c'est une voiture de poseur mais de dingue.
Mais parce que tu
dis que c'est tout toi qui est fait pour flamber. Tu vois les portes papillons là, le fait que la poignée.
Non, attends.
La poignée, par exemple, les portes, conducteur et passager à l'avant, il y a en appuyant sur un bouton, tu peux la refermer, ok. Donc quand elle est ouverte, tu appuies dessus et elle se referme. Le bouton du passager t'oblige en fait à maintenir un peu la porte avec une main et à appuyer dessus.
Quoi?
Parce qu'il est à l'avant et donc la porte se ferme. Le bouton du conducteur, t'as juste à le pincer comme ça et tu peux partir. Comme Horatio Caine dans CSI, et la porte se referme et tu la regardes pas se refermer, tu vois. Ça, c'est un truc de poseur. Le fait qu'il l'ait fait comme ça d'un côté et pas de l'autre, c'est un truc de poseur. C'est parce que le conducteur, c'est un poseur.
Mais poseur et surcotage, ça veut rien dire. C'est pas lui.
C'est une voiture pour crâner. C'est-à-dire, et c'est ce que je disais dans la voiture, je disais, en fait, là, on trouve ça génial, dans 5 ans, on dira, ouais, c'est un peu ringard, tu vois, comme le premier iPhone. Tu fais, ouais, ok, cool. Tu vois, maintenant, il y a des trucs sur Android qui sont incroyablement.
Daz a pas conduit, il est un peu frustré. Ouais,
non, par contre, pas du tout. Bah, la Tesla, si vous ne conduisez pas, c'est la voiture qu'il vous faut, par contre. Parce que c'est génial, il y a plein de trucs à faire. La conduite, pour moi, vous étiez mes majordomes.
Tu peux pas regarder une
vidéo YouTube. C'est vrai qu'à un moment, on a regardé un tuto YouTube dans la Tesla, si, pour télécharger le firmware.
Non, alors, il n'y a pas le plugin flash.
Donc c'est une vraie voiture
surcotée, tu vois.
Mélissa, alors ce petit trajet en Tesla, c'est pour toi c'est culte ou c'est surcoté?
Bah il y a un truc qui est culte et tout le reste est surcoté. Culte c'est que bah tu peux juste ne pas conduire quoi et que la voiture conduit toute seule. C'était vraiment ouf, on était tous on va tous mourir en fait, non? Et au bout de 20 minutes, on s'était tous habitués. Pour le reste, après les portes papillons, les boutons, les trucs, les machins.
C'est des gimmicks quoi.
C'est juste pour dire ouais, ça vaut 100 000 euros, tenez, payez.
Ils hurlaient comme des gamins toute la journée.
Mais oui, mais c'est génial. Mais c'est tellement génial que tu sens que ça a été fait pour que tu dis putain, mais c'est génial. Voilà. Ouais. Enfin, il y a rien de nécessaire. C'est que du candy, du high candy. C'est
mais vraiment, quand Sylvain a lâché le volant ou toi t'as lâché le volant et que ça tournait, j'étais là.
On va crever.
Et que Sylvain a pris un micro et a regardé vraiment derrière au lieu de regarder la route, on fait.
Très belle dernière photo de avant de mourir.
Alors moi je pensais que.
D'ailleurs on l'a, on la postera
sur l'autoroute, hein.
À 130 km/h sur l'autoroute du YOLO. Vite, on va vite. Alors Sylvain,
culte, ça finit culte.
Culte, ouais. Bon. Fibre.
Culte. Un quart d'heure après l'avoir essayé, je voulais en acheter une. Voilà. Et je connais bien les tarifs de leasing parce que je pense à un projet hyper concret. Pour moi, c'est...
Non mais ça commence par Pat, ça finit par Réon et c'est un truc, c'est
oui,
un projet incroyable.
Oui, alors justement, je peux en parler ou pas?
Bah, si on n'a pas le temps.
Alors s'il dit nous, il dit je. Hein, je vous rappelle.
Non parce que Patreon, il y a plusieurs degrés de. Ouais, il y a plusieurs degrés et le palier à 2000, c'est on prend un local. Et dedans, dans le cas, vous pouvez venir faire vos enregistrements ou je sais pas quoi. Et on s'est dit, mais attends, on va prendre.
Alors on, c'est comme nous. C'est pareil. C'est jeu.
On prend pas un local. On prend une putain de voiture autonome et tout le monde peut l'utiliser, enregistrer des podcasts dedans et c'est trop bien. Et on vous l'envoie à Lille si vous voulez enregistrer un truc à Lille et vous nous la renvoyez, quoi. Mais ouais, mais c'est trop bien. C'est évident qu'il faut faire ça.
Ce sera pas le palier à 2000, ce sera le palier à.
Non, 2000, ça nous suffit. C'est 600 euros par mois. C'est
pas. Tu peux pas envoyer encore une Tesla? Tu peux pas jeter une Tesla vers Lille,
Axel,
tu vois.
Axel,
alors que Lille te renvoie la Tesla.
Axel, il viendra les chercher. Axel, il adore conduire.
Allez, on va dire, deux cultes et demi et un daz et demi. Voilà.
Comme d'hab. Merci.
Allez, on fait demi-temps de 2 minutes. On est très en retard. Le temps pour vous, si vous voulez aller faire pipi, boire un petit coup, en tout cas, on fait une petite pause de 2 minutes et on reprend tout de suite.
Sujet numéro 3.
Complot, parano, mon smartphone m'espionne-t-il vraiment?
C'est titré des années 80. Ou des années 2000, c'était l'Express.
Exactement, ou le point. Des années 2010, c'était Valeurs Actuelles.
Je suis assis là, tranquillement, à manger une galette des rois à l'ananas, dans un joli appartement dans East London. Comme dans tous les endroits où je suis invité sans en connaître la majorité des gens, je commence par écouter tout le monde. Et oui, voyez-vous, je suis un peu timide comme garçon. Et puis voilà, je repère Jérôme. Lui, il aime bien parler, manifestement. Et puis, il lance la conversation sur Black Mirror. Black Mirror. J'ai un rapport compliqué à Black Mirror. D'abord, je me réjouis qu'autant de gens regardent. Après avoir passé 20 ans de ma vie à porter un post-it geek de service sur mon front, j'ai enfin l'impression que la techno et le numérique, c'est devenu un peu mainstream. Demain, peut-être que le monde n'aura plus besoin de Studio 404 pour interroger les usages. Non, en réalité, c'est tout l'inverse. La force de Black Mirror, c'est de projeter dans le futur des hyperboles des usages d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ancré dans notre quotidien. On utilise aujourd'hui des versions bêta des technos qu'on nous montre dans la série. Donc évidemment, on s'identifie. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme Jérôme, gentils et intelligents au demeurant, mais un peu complotistes, par facilité, qui prennent tout au pied de la lettre. Qui, parmi vous, au détour d'une soirée, au bureau ou chez le coiffeur, trois situations véridiques pour ma part, n'a jamais entendu « quand même le Black Mirror quand il pince son février pour demain ?»
C'était quoi cette imitation? Mais gaffe, hein, tu sais ce qui arrive à Michel Lem, hein,
ou encore, tu as vu ce truc Black Mirror, c'est maintenant en fait. Ou autre, ah ouais mais c'est juste trop Black Mirror ton truc là quoi. Ça c'était l'accent parisien. C'est le moment que je choisis généralement pour intervenir. Alors mettez-vous un peu à la place des mecs, il y avait un type dans un coin qui parlait pas trop en mangeant sa galette. Puis d'un coup il débarque dans la conversation pour faire la leçon à tout le monde comme s'il travaillait à la NASA.
Ou à 404.
Ou à 404. C'est ce qu'on appelle le geeksplaining, m'a dit la main. Donc je geeksplain tranquillement Jérôme, qui décide alors de jouer sa carte piège, tel Yu-Gi-Oh. Mais attends mec, tu sais que Facebook écoute ton micro pour t'afficher les pubs. Bingo. Et ça tombe bien, car c'est le sujet de cette chronique. Je suis aujourd'hui à Lille. Salut le Nord ! Pour rétablir des vérités, je suis venu vous dire ce que Facebook fait, mais surtout ce que Facebook ne fait pas. Je suis votre libérateur, et votre président, je vous le rappelle. À la fin de cette chronique, la larme à l'œil, le rictus mauvais, vous vous emparerez de ce cône en papier aluminium sur votre tête et vous l'écraserez dans votre poing en marmonnant « Comment ai-je pu être aussi crédule ?» C'est parti pour le dé-Facebook codex. Facebook n'écoute pas vos conversations avec le micro de votre smartphone.
Voilà.
Voilà, c'est fini. Imprimez ça bien dans votre tête. Terminé. Voilà. Bon, je vais rajouter quelques preuves pour vous aider à ramener à la raison ce que j'appelle désormais les data illuminati. Alors, primo, c'est techniquement impossible parce que ça ferait 130 mégas de MP3 par personne par jour. Donc, imaginez avec les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook. Ça viderait déjà votre forfait et votre batterie. Vos téléphones rameraient et chaufferaient comme un Samsung. Et pour toi, Das, celle-là. Et Facebook n'a même pas les infrastructures pour stocker tout ça, même sur une journée. Secondo, ce que vous racontez entre vous n'est pas intéressant du tout pour un robot publicitaire. Il est incapable de tirer ne serait-ce qu'une seule info utile sur une journée de conversation. En fait, c'est pas rentable de processer tout ça. C'est exactement pour cette raison que les robots de Google ont arrêté de lire vos mails à des fins publicitaires. Continue de les lire, mais pas pour la pub.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir, ils aiment bien. Non, c'est pour les smart replies. Ce qu'il faut bien retenir de ces deux points, c'est que publicitairement, Facebook n'a pas besoin d'écouter vos conversations pour tout savoir sur vous. Et c'est plutôt ça qui devrait vous faire flipper. Il connaît votre position géographique, les amis avec qui vous interagissez, ce que vous likez et commentez, les heures auxquelles vous faites tout ça, les pages que vous aimez, tout ce que vous avez mis dans votre profil et même votre historique de navigation. Quand j'arrive à ce point-là de la conversation, Jérôme, il ouvre grand la bouche, il écarquille les yeux
Et oui, Jérôme, il y a un petit bout de code qui s'appelle le Facebook Pixel que n'importe qui peut mettre sur son site web pour mesurer les conversions et faire du retargeting. Et tu sais quoi? Eh ben du coup, Facebook connaît tout ton historique de navigation. Ben oui, mais Google, Twitter, Amazon, Microsoft font la même chose, mon pauvre. Tu t'es trompé de combat. Le petit cône d'alu est désormais une boule qui roule sur le sol. Jérôme a la tête entre les mains et il lui reste une dernière cartouche. Oui, mais le Google Home, alors, et Siri, il m'écoute, hein, tu vois, c'est comme dans Black Mirror. Là, je suis bien embêté, parce que je risque de le perdre, techniquement. Je tente donc une métaphore. Tu vois, Jérôme, quand tu étais à l'école, et que le professeur parlait, et que toi, tu rêvassais en regardant par la fenêtre, tout d'un coup, il te lançait « Jérôme, qu'est-ce que je viens de dire ?» À Jérôme, tu lançais l'enregistrement. À « Qu'est-ce que je viens de dire ?» tu comprenais la requête. Mais impossible de te souvenir ce qu'il avait dit avant ça. Eh ben, le Google Home, il fonctionne de la même façon. Il entend mais n'écoute pas. Il n'enregistre pas. Pour être encore plus juste, il a juste assez de mémoire pour enregistrer la requête qui suit le OK Google, l'envoyer dans le cloud et attendre qu'on lui dise quoi répondre. Il n'est pas plus intelligent que ça. Mais je suis pas là pour détruire des vies. Comme je vous l'ai dit, je suis là pour les libérer. Je vais donc donner à Jérôme les armes pour s'affranchir de sa servitude volontaire, reprendre le contrôle de ses data. Jérôme commence par faire un tour sur facebook.com/ads/préférences. Tu trouveras ici toutes les cases dans lesquelles Facebook te met pour te vendre aux annonceurs. Tu te rendras compte du degré de précision de l'algorithme. Moi, je suis par exemple dans une case qui s'appelle « Sylvain est loin de la maison et de la famille ». C'est vrai.
Et c'est vraiment une case ?
Ouais, c'est une case qui dit « Loin de la maison et de la famille ». Et dans une autre, c'est marqué « Sylvain fait les navettes ». C'est vrai, je prends l'Eurostar demain. Donc très très précis quand même. Ensuite, à chaque fois que tu vois une publicité qui te fait dire « What the fuck, Black Mirror quoi ?» clique sur le menu hamburger de la publication, puis sur « Pourquoi je vois ça ? Facebook te donnera alors le nom de l'annonceur, sa méthode de ciblage et les caractéristiques sociodémographiques. Et surprise, ce sera pas marqué « J'ai entendu ça en écoutant son micro ». Enfin, tu peux installer l'extension Ghostery qui t'affiche, donc une extension Chrome et Firefox, je crois.
Ghostery ?
Bah, c'est un Y à la fin, donc tu dis ouais. Spotify, toi ? Non, alors. Enfin.
Oh, ce Spotify spinning.
On dit mystery quand même. Hein.
C'est un wise planning.
Cette vanne est écrite dans ma chronique parce que je savais que quelqu'un allait dire. Enfin, tu peux installer donc l'extension Ghostery qui t'affiche la provenance des pubs et tous les scripts qui te traquent en temps réel dans ta navigation. Tu verras ainsi, Jérôme, que Facebook et Google sont absolument partout. Mais alors, partout. Donc, non, définitivement, cette pub qui apparaît juste après avoir eu une conversation sur le sujet en question, c'est la conjonction de deux facteurs. Le fait que Facebook te connaît vraiment très bien et un biais cognitif qu'on appelle le syndrome de Bader Meinhof. C'est le même à l'œuvre quand tu ne fais rien qu'entendre ce nouveau mot que tu as appris il y a deux jours. Et oui, Jérôme, la réalité est bien souvent plus compliquée et vicieuse qu'un épisode de Black Mirror, finalement. Hashtag pensée complexe. Et que pendant que tu désactives l'utilisation du micro dans les préférences d'Instagram, Facebook te la colle bien profond. Mais avec douceur, car il utilise seulement tes métadonnées. Et que les métadonnées, c'est tout doux, comme les bisous.
Ah, bravo, si tu ne devais pas l'applaudir. Vous pouvez retirer vos petits bonnets en aluminium.
C'est bon, c'est tout combattu.
Donc, s'il y a des gens dans l'assistance qui ont encore leur bonnet pour résister aux radiations et être off the grid,
une en chronique de, la grid. De sacré connard.
Pourquoi?
Ah bah franchement, le ton employé, putain. Incroyable.
Bah, écoute, Jérôme, d'ailleurs, j'ai pas changé son nom. Tu vois, d'habitude, j'anonymise les mecs. Là, il va s'écouter parce que je lui ai conseillé d'écouter l'émission aussi. Donc,
il va mâcher sa boule de lumière.
Le service est compris jusqu'au bout, quoi. Vraiment. Ouais.
C'est vrai qu'il y avait un petit côté. Je trouve ça très intéressant. Mais il y avait un petit côté communication de crise de Facebook. Genre, mais non, enfin, bien sûr que non. On va vous montrer toutes les technologies, on va évidemment vous ouvrir.
Mais en plus, là tout où tu, pour vous montrer là où que tu c'est te pas vrai. Fourvoies, en fait, c'est que Jérôme, en fait, tu lui dis non, Facebook n'écoute pas les conversations de tout le monde. Non, pas tout le monde, juste moi. C'est ça qu'il disait Jérôme, parce que Jérôme il est important.
Ah oui, c'est juste lui. Bah oui, c'est ça. Oui, oui.
C'est lui qui va faire la différence dans ce monde, tu vois. C'est Jérôme, il parlait pour lui en son nom, et ça, tu peux pas le prouver. Tu peux pas le prouver.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Voilà. Est-ce que c'est vrai parce que après qu'on ait lancé ce sujet, qu'on soit validé que Sylvain l'attaquait ce sujet, on est revenu avec donc peut-être des biais cognitifs. C'est quoi le syndrome de machin Meinhof?
Bader Meinhof.
On n'a été pas de dire c'est pas possible parce que l'autre fois j'ai parlé de tapis persan et là je viens d'avoir une annonce de tapis persan dans Instagram. J'ai jamais tapé nulle part quand même. Donc bon, complotiste.
Ça fait réfléchir.
Sachant qu'il y a aussi une étude qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines sur le fait que 80% des Français croiraient à des complots, des choses comme ça, etc.
Ah bah là, clairement, on est dedans à fond, quoi. Mais c'est compréhensible aussi, tu vois. C'est symptomatique du fait que, comme on disait tout à l'heure, ces grandes entreprises font flipper parce qu'on comprend pas trop ce qu'elles font, quoi.
Mais les Safibre, est-ce que vous croyez Jérôme ou est-ce que vous croyez Sylvain?
Pour la beauté du débat.
J'en ai posé un petit papier d'alu sur ma tête.
J'ai envie de prendre la défense des complotistes. C'est-à-dire de dire tu annonces des choses, mais c'est tes déductions et ton opinion. Dans le fond, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce sont des entreprises privées. On ne sait pas comment elles agissent. Donc, objectivement, on ne sait pas. Et après, ta deuxième justification, c'est que, selon toi, techniquement, c'est compliqué d'enregistrer 120 mégas 130, de MP3 ouais. par jour. Mais de même qu'il y a un trigger, ton système de trigger, c'est-à-dire Jérôme, avec le... peut-être que quand je dis tapis persan, c'est son trigger en fait. Il dit oh putain, tapis persan.
Très bonne remarque, voilà. Que je vais éclater en deux secondes.
Ah la beauté du débat.
Le corpus de mots-clés publicitaires de Facebook, il est gigantesque. C'est comme si t'entraînais une IA avec, comme tu disais tout à l'heure, des gigas et des gigas de données. Donc il y a du tapis persan aussi, ok, mais il y a aussi du golf, il y a des boissons, il y a des fast-food, il y a des appareils technologiques. Bref, c'est un pire qu'un dictionnaire ce truc-là. Donc tu peux pas avoir des triggers sur tous les mots du dictionnaire, c'est pas possible.
Non, mais seulement sur les annonceurs qui les payent.
Oui, mais ça n'existe pas en fait.
Okay.
Si c'est un argument que j'ai enlevé de la chronique parce qu'elle était trop longue, mais si vous avez déjà essayé de créer des publicités dans Facebook, tu n'as pas l'option targeter un mot-clé, elle n'existe pas.
Parce que tu n'es pas une entreprise privée.
Peut-être, parce que je ne suis pas Coca-Cola ou que je ne suis pas tapis persan man. Tu vois.
C'est un peu dérisoire et ridicule de voir quelque chose à la télévision. Aujourd'hui, c'est Black Mirror, mais en 1990, c'était X-Files. On voyait des complots partout. Et de tirer des conclusions de la vie réelle. Néanmoins, étant donné l'importance des GAFA et leur opacité sur la méthode de fonctionnement, pourquoi pas utiliser un principe de précaution? Pourquoi pas dire et pourquoi pas? Et pourtant, j'ai un Google Home chez moi. Tu vois,
c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait.
Mais c'est pour la beauté du débat.
C'est pour la beauté du débat. Ouais,
okay. Mais ça, pour la beauté du débat ou pour ton opinion personnelle, tu es plus encline à croire Jérôme ou à croire Sylvain?
À croire Sylvain.
Ouais.
Notamment parce que j'ai écouté une super émission qui s'appelle Reply All, où justement le mec interview des gens chez Facebook et il y a des gens à la fin qui l'appellent, qui sont donc des gens comme Jérôme, qui l'appellent en disant mais ma mère elle m'a parlé d'un parfum et après il fallait que je lui achète pour Noël et là tout d'un coup le même jour j'ai eu la pub sur Facebook, c'est pas possible, ils m'ont écouté, je l'ai pas tapé.
Mais peut-être que sa mère a eu la pub aussi. Genre.
Ouais, il leur démontrait par A plus B qu'en fait il y avait tellement de cookies partout que si en fait il... Bah en fait,
mais le problème, c'est que,
comme ça,
le problème
quoi.
C'est que l'explication de pourquoi la pub ouais. s'affichait était beaucoup plus compliquée
ouais.
que de se dire, ah bah il a dû entendre la conversation.
C'est ça. Et en fait, les gens vraiment, ils disaient, mais c'est pas possible. Et en fait, si, en fait, c'était possible, mais c'était tellement complexe qu'ils l'avaient pas.
Donc il y a une solution rationnelle, mais encore plus flippante que le fantasme, d'une certaine
ouais,
manière.
Exactement. Mais Jérôme, il la voit pas, tu vois, ce qui le fait flipper, c'est le micro. Il voit pas les cookies dans son navigateur.
Oui, après,
il voit
après tu vois,
le micro, il fait
tu vois les
le
photos
micro.
De Facebook avec Mark Zuckerberg qui a un petit post-it sur sa webcam.
Oui, bon, c'est vrai.
Ils ont peut-être du gaffeur sur leur micro. Finalement, tu sais pas. On nous cache tout. J'ai l'impression qu'on nous cache tout.
Comme dans Black Mirror.
Non, mais je pense que ouais. Enfin, Zuckerberg il se méfie plus de la NSA que du ciblage publicitaire, je pense.
C'est possible aussi, ça fait sens. Ça fait
il
sens.
Doit avoir un pur profil publicitaire sur Facebook, tiens, Zuckerberg.
Ouais. Est-ce qu'il s'auto. Bon bref,
il a un adblock, il a un adblock Zuckerberg.
J'allais partir sur une métaphore filée.
Ce qui s'auto.
Question. Okay. Alors question plus généraliste sur le complot et alors le complotisme qui est un sport national de tout temps les hommes. Est-ce que le numérique est justement ce côté extrêmement puissant, la réalité dépasse la fiction. Ah, c'est syndrome Black Mirror. Ah, on a des entreprises gigantesques qui dirigent nos vies, etc. C'est pas le terreau, le fantasme ultime des complotistes en fait. Est-ce que c'est pas une source infinie de complots qui se tiennent avec des nuages de faits la totale en deux secondes?
Le complotisme en fait repose sur un élément ultra simple qui est la connerie. Et c'est toujours beaucoup plus simple de voir des complots que d'essayer de comprendre la réalité. Tu vois, par exemple, l'URL des préférences de publicitaires de Facebook, moi je l'ai déjà oublié, tu vois. Ouais. Je préfère me dire, le micro m'écoute, parce que je suis important. Tu oui. vois. C'est ça le truc. Et en fait, c'est très très simple. Il suffit juste donc que tu aies une œuvre qui te montre un peu le dark side du truc.
Ouais.
Là, c'est Black Mirror, il y a eu Matrix, il y a eu
Mister Robot, comme ça.
Là. Ouais. Et effectivement, bah, paf, tu fonces dedans, parce qu'après tout, les poutres d'acier ne peuvent pas fondre avec du kérosène.
Et ça, je le tire d'une seule chaussure.
Mathieu Cassé,
Jean-Marie Bigard.
Jean-Marie Bigard, si vous écoutez, on vous passe le bonjour, évidemment.
Fact-checking, un immeuble en acier risque beaucoup moins au feu que le bois, hein, chez ingénieur bâtiment.
Parlons un petit peu de point de fusion, là, je pense que ça va être intéressant.
Ouais, alors, 9-11.
Parce que le bois se consomme petit à petit, mais voilà. Et sinon, concernant le complotisme, je rebondis.
Est-ce que c'est un petit hobby secret?
J'ai une double théorie.
Oh.
Est-ce que la deuxième va contredire la première?
Non, est-ce que c'est comme quand tu trempes un burger au fromage dans du fromage, par exemple?
Théorie ancienne qu'on a évoquée dans notre émission qu'on a passée au Radio Marais il y a deux ans sur le complotisme, justement, dans lequel je disais que le complotisme, c'est finalement une tentative de contrôle des gens qui ne peuvent pas contrôler. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment fonctionne ce monde qui m'échappe, mais je vais créer ma propre mythologie en disant, tiens, Facebook, mes trucs, cette publicité apparaît. et parce que Facebook m'a écouté, et c'est un phénomène que je peux comprendre.
C'est donc, pas de la connerie, c'est ce que je disais.
Ouais, c'est bien de pouvoir te contrôler. Enfin, c'est bien de dormir la nuit, voilà, déjà, parce que tu comprends des choses. Et au lieu de dire je ne comprends pas, je reste.
Oui, c'est le besoin de faire sens, en fait.
Voilà. Et j'ai une nouvelle théorie, qui est très récente, et
À peu près 30
secondes. Non, j'en ai fait un tweet quand elle m'est apparue il y a une semaine, et je.
Combien de likes sur ce tweet?
pas trop, c'était pas une vanne, donc ça marchait pas très bien. Et, donc l'idée, c'est de dire que.
Il stream.
L'opinion est devenue une marchandise. Avant c'était l'information, maintenant c'est l'opinion. Ouais. Et ce qui fait que quand une opinion, en fait, devient rare, comme par exemple le fait que la Terre est plate, c'est une opinion que peu de gens acceptent, peu de gens ont finalement, mais qui est connue de tous, et bien finalement tu te valorises en te mettant derrière cette opinion. Donc il y a une marchandisation de l'opinion. Et effectivement, on peut se complaire dans le complotisme, et on a une certaine force et une certaine richesse, parce qu'on est riche d'opinions que peu de gens, que tous ces crânes d'œufs ont, et qui sont. Et moi je suis différent, en fait. Voilà.
Oui, c'est un différenciateur social quasiment.
Voilà, c'est dit tellement également, effectivement, j'aurais dû dire ça.
Donc crois que la Terre est plate, c'est un truc de hipster, en fait.
Ouais, ok. Eh ben voilà.
Pourquoi pas les néo-hipsters,
Franchement, c'est un peu vintage, hein, d'une certaine manière.
Ouais,
je veux dire, c'est, tu penses combien ça s'en
alt, sent alt-hype, ou un truc comme
c'est
ça.
C'est ça, c'est alt-hype.
Alt-hype, ok.
Mais du coup, vraiment, spécifiquement sur le numérique, et du coup, ça rejoint d'autres chroniques qui sont on comprend plus les IA, on comprend pas ce qu'il y a exactement dans le software plus que dans les mécaniques. Est-ce que là, on a un truc où on n'en sortira jamais, ce côté opaque, surpuissant, immatériel,
le problème,
que le complotisme va devenir un truc qui est
à partir du moment où on lit pas, par exemple, les conditions de. L'utilisation.
Et quand bien même, Mélissa,
tout n'est pas dedans, clairement. Mais à partir du moment où on sait qu'on les ignore, forcément, il y a de l'opacité, forcément,
on l'accepte.
C'est complètement intégré à nos usages. En fait.
La loi française nous oblige à lire ce putain de truc, genre, il va y avoir des cookies sur le site, j'en veux pas, je m'en fous d'avoir des cookies, je veux plus avoir ce bouton, tu vois. Redonnez-moi toutes mes secondes de ma vie, tu vois.
Mélissa, elle parle d'une autre paresse mentale. Toi, tu parles d'une paresse mentale qui dit je ne comprends pas le monde qui m'entoure, donc en fait, créer des biais cognitifs, créer des raccourcis, créer des nuages de facts, etc. Donc faire du complotisme, c'est m'aider à accepter le monde dans lequel je vis, c'est une paresse, une connerie. Mais ça dit que d'une certaine manière aussi, on se plaint de l'opacité des mécaniques qui régissent nos vies, des réseaux sociaux, et en même temps, on a une flemme totale de comprendre vraiment ce qui nous arrive.
C'est une connerie, mais c'est pas de la paresse, parce que les mecs, ils dépensent une énergie folle à faire leurs vidéos.
Oui, mais c'est plus facile de dépenser énergie folle à faire une vidéo complotiste que de vraiment comprendre le monde complexe qui t'entoure peut-être.
Mais dans le fond, on ne veut pas le comprendre. C'est ce que je disais avec les cookies. Je ne veux pas comprendre les cookies. Je veux regagner les secondes de ma vie.
Là, je comprends pas. Je comprends pas où est la paresse.
Donc je fais une vidéo de 2 heures sur YouTube.
Non mais là, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs Sylvain le montre. Il dit en fait, la réalité est beaucoup plus complexe et moins rigolote, mais encore plus effrayante que ton complot. Mais en fait, elle est plus complexe à expliquer et à comprendre. Et Mélissa, d'un autre côté, elle décrit un monde dans lequel on est tous, qui est en fait, on n'a pas envie de tout comprendre. Effectivement, les CGU ou les règles d'Apple sur l'arrondissement des batteries, tout ça qui existe, qui est devant nous, on a la flemme de les regarder. Et après, on hurle à tout dans tous les sens. C'est une forme de paresse dans l'autre sens du spectre.
Putain, ça devient méta.
Ouais, en fait, faudra pas se plaindre quand on sera dans des ruches comme les abeilles, quoi.
C'est ça que j'ai envie de dire.
C'est ça, quoi. Non, mais il aurait fallu lire les CGU, quoi. Tu vois.
Non, mais... En vrai, les CGU, arnaque intellectuelle. CGU, personne ne les lit parce qu'elles sont écrites en beige, écrites tout petit, écrites dans un langage juridique, donc technique.
Mais même les cookies, tu lis pas, donc c'est écrit en 12 sur toi.
En beige. C'est une couleur.
C'est en okay. gris.
Et
ça, c'est ce que te dit le gouvernement.
Non, mais personne.
C'est peut-être une technique du gouvernement pour.
Non, mais c'est écrit tout petit, c'est très technique. Je veux dire, c'est un outil qui est fait pour qu'on ne les lise pas. Alors qu'on devrait les lire.
Non, mais même les cookies qui sont faits pour que tu les lises, tu les lis pas.
Oui.
Donc, alors,
Mélissa a la raison. Elle décrit une société. On est assez feignant pour avoir l'exigence qu'on a.
C'est pas
de
la feignantise. Personne n'a les moyens de lire les clufs d'un site.
Et alors justement, est-ce que ça serait pas bien d'avoir une IA qui se chargerait en fait
qui te décluffe
de traduire les clufs en 3-4 lignes simples.
Ça existe.
Bah aujourd'hui, ça s'appelle un avocat.
Non, mais ça s'appelle un avocat, mais un truc un peu libre de droit.
Non.
Décluffeo.
Hein?
Ouais, t'as des sites de comparateurs de conditions de générale d'utilisation où ils
disent, mais tu vois, c'est pas un truc, c'est pas un plugin que t'as sur ton navigateur, faut aller sur un site.
Ouais, mais en fait, on pourrait
les gars, merde.
Faut taper une URL, putain, merde.
On est dans le futur ou pas?
Non, mais par exemple, quand on link Twitter avec une appli, Twitter vous dit, attention, cette appli va pouvoir vous permettre de poster des tweets, lire vos tweets, tout ça. Si les clufs, c'était ça, c'était attention, il va savoir le nom de votre chien et
est-ce que même ça
vous coucher, ouais, c'est
Mais ça, est-ce que même ça tu le lis? Est-ce que quand Android
si il y a une appli qui dit je vais tweeter pour votre place, je le lis, hein, t'inquiète. Hein,
parce que j'ai l'impression que
sur OK quand même.
Notamment
non. Moi non, justement. Oui. Mais non. Ça me coupe de plein de services parce qu'à chaque fois que je vois peu poster pour vous, je dis bah non alors.
Est-ce que des gens qui notamment ont Android dans la salle, parce que Android à chaque fois, non mais Android détaille les accès qu'a l'application que vous allez installer sur votre téléphone.
Enfin,
contrairement à iOS.
Bon, détail. En tout
cas, est-ce qu'il y a des gens ça les a déjà stoppés d'installer une application ou pas? Une. Ah, quand même.
Mais okay, ça vous a pas empêché d'utiliser Android, par contre. Posez-vous bon, des questions.
Autre problème. Est-ce que quelqu'un, je vois quelqu'un dans le public qui voulait réagir, du coup.
Hop, c'est Moda, le retour de Moda.
Ah, c'est le retour de Moda.
Et c'est son nom ou son pseudo, je me souviens.
C'est son pseudo, toujours.
C'est son pseudo. Voilà. Est-ce qu'il est toujours de la même évidence religieuse, est-ce qu'il a changé depuis?
Ouais, toujours.
Ah là là.
Non, au-delà de, alors déjà, par rapport à Android, il existe des versions d'Android sans Google. Sans,
oui,
même,
Fire
sans même
Flex,
le Google Service.
Storm, Stronghold, machin, ouais, ok, cool.
Qui marche très bien.
Oui, oui, oui. Faut juste décompiler, recompiler le kernel et
bah encore une fois, si t'es un vrai, t'es pas paresseux.
Un vrai geekster.
Mais non, mais si t'es complotiste pour de vrai, mais que t'es pas paresseux.
Bah t'arrêtes d'utiliser.
Bah, ouais, okay. Et bon, justement, ouais, au-delà du côté complot, moi je sais que je suis beaucoup à esquiver tout ce qui est cookies, etc. Dans le sens où, bah ça me dérange qu'on décide pour moi ce que je vais voir.
Ouais.
Et je prends un exemple simple qui est dans une prochaine version de Chrome, ou peut-être qu'elle est déjà sortie, il doit y avoir un bloqueur de pub. Sauf que bah, à côté de ça, il y a Google qui fournit de la pub aussi.
Ouais.
Et
ouais,
ils ont exactement la possibilité de bloquer les URL qu'ils souhaitent. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui me dérange.
Mais ça AdBlock aussi, de toute façon.
Ouais. Oui, AdBlock a ouvert une whitelist.
Oui, mais c'est...
Pour désadbloquer.
Tu peux toi maîtriser la liste.
D'accord.
Voilà. Tu peux toi, si tu as la démarche, aller chercher ça. Et est-ce que justement le... Enfin, je me souviens plus du prénom de
Jérôme. Bah, c'est le tien, Jérôme. Je voilà. T'appelles Jérôme ou pas?
Non, non.
Okay, parce que t'étais sur le chemin de la Jérômité.
Non, je suis très loin. Je suis très loin de Jérôme. Très rapidement, mon attitude, c'est juste que je suis développeur et que je vois toute la dérive marketing qu'il peut y avoir derrière.
Il est woke.
Il est woke.
Il a vu les robots. Non, mais il a vu la matrice.
Est-ce que justement, Jérôme, il n'y a pas ce côté-là de, il finit par voir que bah par exemple Facebook va décider dans quel ordre il va avoir les publications, Twitter c'est la même chose, et que bah ça il sait pas forcément le formuler, mais ça le dérange aussi parce qu'il y a des choses qu'il ne voit pas et des choses, je sais qu'il y a un retour en arrière sur l'algorithme Facebook où justement ils sont en train de dire bah on va peut-être mettre un peu moins de pubs parce que les contenus des amis Facebook sont plus
importants.
Ouais, c'est clair que
message d'espoir pour ces gens-là.
L'avis de mon tonton est beaucoup plus intéressant que effectivement un article du Monde, c'est clair.
Cette pub pour ce drone chinois,
c'est facile, hein.
À un prix imbattable.
Non, mais t'essayes d'avoir une expérience du web pure, et ça, je le salue. C'est bien. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu installer d'adblock justement pour cette raison.
C'est-à-dire
parce que c'est le web pour moi,
le web avec la pub.
Ouais, exactement. Donc en fait, je pense.
Mais t'as bossé dans le marketing.
Je pense qu'il faut que t'acceptes que les gens qui font Internet, bah c'est Facebook, Google et compagnie. Tu veux ta navigation pure, c'est une navigation avec eux. Si tu veux une navigation sans cookies, sans pub, il faut que tu crées ton propre Internet.
Il faut que tu compiles ton noyau, tonton.
Tu utilises la pub comme rémunération pour les sites. Moi, concrètement, je sais que c'est pas forcément le cas de la majorité. Mais ça me dérangerait pas de participer à un Patreon par exemple, ou de participer à un...
Alors
oui,
justement,
oui,
payer ton accès.
Payer
ton accès à Facebook par exemple.
Oui. Ouais, enfin, j'ai mon abonnement sur l'équipe, ça me dérange absolument pas.
Moi, je paierai $1 par mois pour avoir fait un réseau social en ordre chronologique sans pub. Je paierai et $1 par mois, t'es plus rentable que.
Eh bien d'accord.
Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes.
Donc il gagnerait $2 milliards par mois.
Aujourd'hui, Facebook gagne $20 milliards par an. Et ça veut dire qu'avec ce modèle de rémunération, il serait au-dessus des $20 milliards par an.
Eh ben non, 2 fois 12.
Par 2 milliards, c'est 24 milliards.
Ouais, exactement. On s'est levé tôt, d'accord.
J'ai une IA qui m'a aidé à calculer très très vite 1 fois 12 fois 20. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait intervenir sur ce côté On nous cache tout, on nous dit rien. Mais aussi cette facilité, cette attirance pour ça. Oui.
On peut aimer les pubs aussi.
On peut aimer les pubs aussi.
Surtout pour les drones chinois.
Bonjour.
Ah, c'est notre auteur favori.
Donc moi, je voulais revenir... tu parlais de Google Home tout à l'heure.
Ouais.
Et du coup, en fait, le problème de Google Home, je trouve, c'est pas forcément qu'il écoute tout ce qu'il dit. C'est plutôt qu'il se sert des requêtes que tu fais pour te mettre dans une case derrière.
Ah ouais. Mais ça, c'est dans les clufs.
Oui. Oui, non, mais voilà, c'est dans les clufs.
Celle bon, qui s'affiche après... sur l'écran du Google Home.
Sur l'appli.
Ça pourrait être un faux problème, parce qu'au final, t'as qu'à juste pas acheter de Google Home. Mais on a vu pendant au Noël dernier justement.
Il est donné.
Il est donné.
Ouais, bah oui.
Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans Google Home.
Tout comme Android est donné.
Tout comme Android est donné, oui.
Android est donné, fabricant.
Encore une fois, si c'est gratuit.
C'est gratuit, c'est toi le produit.
C'est toi le produit.
Mais du coup, Google Home, en fait, change absolument rien à part l'interface d'interaction. Mais c'est exactement le même truc, c'est que tu poses des requêtes et
il enregistre. Il enregistre tes requêtes. D'ailleurs, il les stocke, t'as une trace de toutes tes requêtes si tu vas sur Google.com. Non, je connais toutes les URL par cœur, c'est le mec taré.
C'est quoi la différence? C'est que tu poses des requêtes.
Mais parce qu'il t'écoute pas 24h sur 24.
Tu n'utilisais pas Google pour fermer tes stores ou allumer ta grosse télé. Là, maintenant, tu le fais.
Oui, écoutez, t'as
donc t'as même des requêtes qui passaient auparavant qui ne passaient pas par Google, bah, qui là du coup
j'utilise mon smartphone pour allumer mes ampoules ou mon ampli ou ma télé ou lancer Netflix.
Bah, ça va pas
mais
chez Google.
Mais c'est pas là. Bah, comment je le sais?
Ça va chez Apple.
Ah, ouais, mais non mais alors, avec un comment je le sais là.
Comment je le sais?
Non mais je suis d'accord avec toi, mais les requêtes que tu balances à Google, elles sont aussi difficilement exploitables publicitairement. Parce que quand tu fais OK Google allume la lumière ou OK Google mets Patricia Cass sur Spotify. Ben...
Non mais bah, en fait, OK, si. Google allume la lumière, il connaît le
nom, déjà, Patricia Cass.
La marque de tes ampoules.
Ouais.
C'est quand tu es chez toi.
À quelle heure tu es chez toi?
Voilà, exactement.
Et vis-à-vis de ça,
mais je veux dire par rapport aux conversations, par rapport à dire putain, je m'achèterais bien un petit tapis persan. Tu vois, c'est pas
Ah oui, ça non.
C'est pas aussi précis quoi.
Mmh. Alors juste pour aller dans le complotisme et pour aller plus loin, il y a eu un brevet qui a été déposé par Facebook qui permet de savoir quand deux personnes sont ensemble juste par la vibration des téléphones et la position des téléphones. C'est-à-dire que si des téléphones...
Là, ça commence à devenir evil un petit peu.
Non, mais alors là, on parle d'un vrai brevet de Facebook qui a été déposé. Encore une fois, c'est comme le brevet Activision. Ils l'ont jamais utilisé, mais il a été déposé. Qui fait que s'ils savent que deux téléphones sont à une certaine altitude et penchent au même moment, etc., ils savent que deux personnes sont dans un avion. Donc en fait, ils arrivent à grouper leurs utilisateurs Facebook en temps réel.
Qu'est-ce que tu dis de ça?
J'ai une réponse très simple. Ils ont posé un autre brevet similaire qui peut regarder grâce aux grains de poussière que t'as dans ton appareil photo de smartphone pour voir si des photos ont été prises avec le même smartphone, des photos de personnes différentes. Et ça, c'est le produit People You May Know qui le développe, donc c'est pas la team publicité. Et il faut savoir que Facebook dépose 1 million de patents, de brevets par an, et qu'au final, ils en utilisent que 2 ou 3.
Et est-ce que ces brevets, c'est pas les cluffes du brevet? C'est qu'à un moment, les mecs te noient de brevets.
Et dedans, il y en a un qui est
vraiment FDP et qui va passer crème.
Non, je pense que c'est l'économie américaine qui est foutue comme ça, en fait, que si tu déposes pas tout, t'es dans la merde.
Je trouve que Sylvain, il est vraiment très très serein avec.
Mais parce que Sylvain, il sait que 7 ans plus tard, c'est un Shamata Maranana qui va prendre des billets pour dire, oh, on a fait de la merde.
C'est pas que je suis serein, c'est que je connais les règles, en fait.
Ouais.
Facebook change les règles sans forcément.
Ouais, il faut se tenir au courant, quoi.
Est-ce qu'une autre personne voudrait prendre la parole?
Un peu facile, hein. Bonjour. Il faut se tenir au courant, monsieur, enfin.
Bonjour.
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 Je me disais on est fainéant et tout, etc. Mais en fait, on n'a pas essayé d'être malin au final, parce que j'ai tenté un truc. J'avais entendu une émission qui parlait d'une application qui s'appelait Data Selfie, et du coup qui permettait de voir ce que Facebook avait comme données en plus des stats qu'il nous donne directement. Et j'avais checké mon profil du coup avant d'installer ce truc là et d'essayer de tweaker un peu Facebook. Donc c'était moi, en fait, j'aime les jeux d'eux, etc. Après coup, au bout de, je crois, un mois et demi, j'étais un blanc de 35 ans qui avait 2 enfants, j'habitais en Californie et tout, etc. Donc,
pour les gens qui ne te voient pas et qui sont à l'audio.
Pas exactement.
Alors,
salut tout le monde!
Donc, toi qui as été décrit comme un blanc de 35 ans avec 2 enfants en Californie, qui es-tu?
Je suis un black, j'ai 24 ans et j'habite en banlieue parisienne.
Ouais,
c'est donc pas l'opposé, mais pas loin.
Ouais, c'est pas mal.
C'est un beau pif quand même.
Donc du coup, je suis en train de me dire, est-ce que faut juste pas être malin, essayer de pas trop, je vais pas dire, ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais les utiliser de manière à ce que, en fait, on ne traque pas forcément.
Peut-on utiliser les réseaux sociaux sans être traqué?
Du coup, comment t'as fait pour tweaker Facebook tu postais des trucs genre oh la méga est encore en panne?
Non, en fait, ce que je faisais, c'est que
les enfants, des trucs à la crèche et tout.
Je likais des trucs américains, je parlais un peu plus anglais du coup sur le réseau, et des petits trucs comme ça fait la diff.
Tu t'es pris la tête quand même, hein.
Ouais, non, mais j'avais envie de voir,
Non, mais tout comme Moda, c'est un effort.
Ouais, mais Moda, c'est son taf, il fait gagner de la thune de développer des trucs.
Non, mais j'avais envie de voir ce que ça pouvait
faire. Excusez-moi, moi j'ai envie d'avoir un tapis persan.
Je sais pas, j'ai toujours pas trouvé la réponse.
Non, mais dans le fond, Google, un jour, il va dire, ce type-là, il lui faut un tapis persan, ça va être génial, il va l'acheter parce que ça va le rendre heureux. Mais c'est ça qui est bien.
Ah, voilà. Non, mais
je comprends pas pourquoi vous voulez résister à ça.
Ce petit virage à gauche, ça a pas duré très longtemps.
Hein, le côté obscur.
Non, mais moi, le Google Home, c'est pas une lubie, je l'ai bien appris de quelqu'un, j'ai vu cet objet, on me l'a présenté, j'ai vu les pubs, j'ai vu que c'était pas cher, je l'ai acheté, et aujourd'hui, il m'apporte un bonheur incroyable. Mais c'est ça, la vie. La publicité, elle est pas simplement malsaine, à la base, c'est pas un truc évil, c'est un truc aussi qui te montre des produits fantastiques. Et je suis vraiment le plus faible consommateur de qualité, parce que le Topic Sneaker, il est puissant. Hein, donc, si toi, t'avais des sneakers toute la journée sur ton Facebook, peut-être tu dirais, ah, mais c'est génial, regarde, ça n'allait pas cher. Là,
c'est le cas déjà. Non, j'ai des drones chinois, moi, sur mon Facebook.
Non, mais juste. Mais est-ce que tu acceptes le fait d'être ignorant aussi? Bon, en fait, la question aussi de cette chronique, bah, cette forme de complot, c'est qu'il y a une forme d'ignorance sur comment tes services fonctionnent et te gèrent. Il y a une forme d'ignorance en fait que les gens acceptent ou pas.
Non seulement je suis ignorant, mais je pense que je fonctionne comme le plus bas niveau intellectuel de la population. C'est-à-dire que si un jour
c'est une abeille.
Si un jour je n'ai plus la pub ou une pub qui est plus targetée parce qu'ils pensent que je suis en Californie.
Sur Facebook.
Eh bien ouais, c'est n'importe quoi cette pub. Rendez-moi mon Google d'avant, espionnez-moi à nouveau, venez chez moi, regardez ce qu'il y a chez moi. Ne me demandez. Non mais.
Du coup c'est pour la beauté du débat.
Non mais.
Enfin d'un côté quand tu vas chez Amazon. Et que t'achètes un truc et que
le
spam avec ce que t'as acheté, t'as envie presque sur
Amazon, c'est des gros nuls. Vous achetez un frigo pendant un mois, vous avez une pub de frigo. Je vais pas acheter deux frigos.
C'est vrai.
Et c'est ça, Amazon, il est con. Mais Amazon, il est notoirement con.
Je propose que Sam qui fait les petits snippets de l'émission. C'est ça, Amazon il est con et on coupe. Voilà, c'est très bien. C'est ça, Amazon il est.
Arrête, il nous faut des sponsors. Hein.
Si demain vous avez des pubs pour un tapis persan dans Instagram. Envoyez-moi le screen et j'avale mon chapeau de papier lu.
Oh là là.
Mais là, tout le monde va taper tapis.
Je les enculés.
Merde.
Les mecs de Lille vont dire, putain, mais à Lille, il y a un pic de tapis persan. Ah, les chums, c'est un truc de ouf, là. Ah, il y a des Californiens de 35 ans et tout le monde avec Lille.
Quelque chose à faire.
Ah, ils sont chauds sur le tapis persan. Allez, tout de suite, la troisième FAQ.
FAQ.
Là, ça tombe bien parce que cette troisième FAQ a été posée par Tanuki. Donc on vous rappelle que c'est un mâle hétéro cis blanc de 35 ans californien avec deux enfants.
Hétéro fluide. Gender fluide. Or carrément.
Gender fluide. Alors Tanuki, quelle était ta question?
Alors si vous deviez envoyer un message à vos descendants dans le futur, comment vous feriez? Genre vous pouvez imaginer n'importe quelle méthode.
Donc que ce soit une application ou une capsule enterrée dans le jardin ou ce que vous voulez. Comment vous enverriez un message à vos descendants dans le futur?
Eh bien.
Ah, comment? Parce qu'on leur dit comment?
Non, c'est comment? Un moyen stylé.
Je ferai comme
Alors, je vous laisse réfléchir. Dast, t'as
déjà
une
idée? Ouais, moi j'ai une idée, ouais.
Mais ça, on l'a déjà fait.
Est-ce que ça implique des planches en bois et des cordes rouges?
Non, alors justement. Okay. Justement. Je ferai une, comme la NASA a fait, c'est-à-dire qu'ils ont mis un disque des Beatles sur un satellite qu'ils ont envoyé à l'autre bout de l'univers. Et peut-être que ça reviendra, tu vois.
D'accord. Ok.
Voilà. Simple.
Donc toi, tu t'envoies un disque...
Ouais, t'envoies un truc dans l'espace, parce que l'espace, c'est cool.
Et dans quoi, t'envoies Outrun
de Richard Jacques. Ouais, Splash Wave.
Ouais.
Euro Remix. Oui, non, le contenu, après, on s'en fout, c'est la
méthode. la manière.
Parce qu'on sait que tu peux rien stocker sur un disque dur, parce que...
Mais oui, là, ce que t'envoies, c'est t'envoies dans l'inconnu, t'envoies pas à tes descendants.
Bah, dans ce cas-là, je fais le truc...
La question de Tanuki, c'est envoyer à tes descendants. Donc, imaginons des gens qui ont un lien avec toi de...
Dans ce cas-là, le satellite en question, en fait, je le jette dans la mer.
Ouais.
Il part au fond.
Jette un satellite dans la mer, c'est un peu du gâchis quand même.
C'est du gâchis, mais c'est pas grave. Je le jette dans la mer.
Le satellite est en train de couler. Mais pourquoi?
Bah attends, il y a des mecs qui envoient des voitures pour orbiter Mars. Bon,
oui,
okay,
bah c'est Elon Musk qui peut se permettre.
Mais du coup, je le jette dans la mer et quand les océans se seront asséchés, on le retrouvera, et, tu vois.
Bah parce qu'ils sont plutôt en train de monter les océans.
Non, mais ça va bouger, ça.
Okay. trop loin dans le tuyau, Daz. Bon, alors Daz a bien piffé. Donc Daz envoie un satellite sous l'eau. Quand les océans redescendront pour être remontés. Ok, très bien. Fibre, Mélissa, Sylvain, quelqu'un a une idée, Fibre?
Bah, moi, je surkifferais de programmer un tweet dans 70 ans, quoi.
D'accord.
Le service
qui dit salut, je suis pas mort, ou follower Fibrotique, tu vois, c'est marrant. À part qu'il me followerait déjà, tu vois.
Donnez au Patreon.
Attends, c'est pas ce qui a été fait par l'auteur de Discworld.
Oui, Terry Pratchett a fait ça. Mais je crois que c'est pas programmé vraiment, ça passe par sa famille. Mais on peut programmer aujourd'hui avec. J'utilisais ClockTweet à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai un tweet que je repousse qui dit je suis encore en vie, qui je repousse tous les 10 ans, on va dire.
Cette morning routine de Fibre, elle est à chaque fois plus glauque.
tous les lundis à 10h.
Non, mais c'est marrant. Ce imagine, je meurs, vous me pleurez tous, puis tout d'un coup, vous voyez, Fibrotic qui tweet, je suis en vie. C'est marrant. C'est drôle, tu vois.
Ah ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle, c'est drôle.
Ça, et genre, les mecs, disent, ah putain, l'enfoiré, tu vois, il est pas mort. Donc, non, non, c'est marrant.
Je suis avec Tupac.
Mais ouais, un tweet. Un tweet, ouais, ça serait génial. Ah ouais, un truc comme ça, ouais. Je suis, non, je suis pas avec Tupac. Il est encore en vie, tu vois. Voilà, bref. Et bref.
D'accord. Voilà. OK. Bon ben voilà, j'ai
donc un tweet mais tu sous-entends que le programmé. Service sera encore actif dans 60
jours.
Ça c'est l'incertitude mais
j'ai envie tes descendants en tout cas. Grand-père, bah tout pour le buzz, écoute. Quel con. Il est mort pour le buzz. Pff.
Il a vécu, il est mort pour le buzz.
Mélissa, Sylvain,
moi je ferais un truc pas matériel.
Ouais.
Parce que j'ai trop peur que ça tienne pas. Du coup, je ferais un truc genre une légende urbaine. Genre comme les seringues de sida dans les cinémas.
Tu veux dire
Marilyn Manson qui se pète les côtes pour s'autosucer. J'inventerai un truc comme ça que seuls mes descendants pourront décoder, tu vois. Et quand ça arrivera à leurs oreilles, quand ils seront genre quand ils auront 12 ans et demi dans la cour du collège, il y a un mec qui leur dira je sais pas ce qu'il leur dira. Et lui il fera oh putain. C'est mon grand-père.
C'est ça, ça a été déjà
mais
fait
comment
par,
il saura
par RG, ça s'appelle
que,
le secret de la licorne.
Je sais pas.
Hein.
Alors, okay. Le secret de la licorne.
Alors, bah, un truc décodé que par tes descendants.
Vraie histoire, c'est un projet qui a l'étude pour la préservation des déchets nucléaires, l'ANDRA.
Et, ah bah oui.
Voilà,
oui,
c'est ça. Parce qu'ils pensent que dans 10 000 ans, le langage aura tellement évolué que si on met déchets nucléaires, bah, les gens pourront plus le lire. Donc, ils
le prendront en disant, c'est quoi? C'est génial!
Ils veulent utiliser le système des légendes avec des chats qui changent de couleur, voilà.
Quoi?
C'est un documentaire qui s'appelle Radio Cats.
Oui,
en fait,
c'est vrai, ouais.
Tu injectes dans un chat un gène qui fait qu'il devient lumineux quand il y a une source radioactive. Et comme ils pensent que dans 10 000 ans, on aura encore des chats, parce qu'il y a 10 000 ans, on avait déjà des chats, les Égyptiens, ils vénéraient les chats, tout ça, et bien quand on aura un chat qui change de couleur, les gens diront, mais pourquoi?
Mais tu peux l'activer avec Google Home, ce chat?
Ils se souviendront de la légende.
Non,
le chat qui change de couleur.
Ok, Google.
Ça veut dire danger.
Non, c'est un vrai truc, ça s'appelle Radio Cats, c'est un documentaire.
J'ignorais le truc sur les chats, je savais pour l'Andra et tout, mais le coup des chats, là.
Tu sais, des fois, t'as les complotistes et des fois, t'as la vraie vie, et tu dis, les complotistes sont vraiment des petits joueurs, c'est vraiment des petits joueurs.
Si l'Andra, qui est le lobby du nucléaire français, veut nous sponsoriser, moi, personnellement, j'ai vu votre.
Donc moi, ça veut dire, je sais plus. J'arrive plus à te décoder.
Là, c'est même plus jeu. Mélissa, comment tu transmettrais?
J'enverrai une lettre.
Ah, mais ça, toujours la voix sûre.
Cacheté en ça.
Parce que j'ai toujours pas compris comment les petits-enfants de Sylvain étaient au courant
mais
de
eux
la...
non plus, ils n'ont pas compris, en
parce
fait.
Parce qu'il y a une tradition orale dans la famille qui fait que quand on entend ce truc, c'est comme la prophétie, tu vois. Il y a un truc qui s'activera.
Je sais pas, c'est comme si tu traites un McFly de mauviette.
Ok, donc en fait, donc le moyen de Sylvain, c'est juste parler. Moi, je.
Oui, c'est la tradition orale.
Bah, voilà. Tu peux envoyer une lettre par chronopost. Ouais. Tu sais que ça prendra deux,
ça arrivera jamais. Ouais.
Tu l'as ce truc. Bon, allez, fin de cette FAQ qui a été extrêmement bien piffée par toute l'équipe. Et on attaque tout de suite le dernier sujet. Et Mélissa s'attaque à Brotopia.
Sujet numéro 4.
Il est temps de démanteler Brotopia, la société rêvée des nerds de la Silicon Valley.
Oh, on a attaqué on a assez gros morceau pour la fin. Sujet. Et c'est parti, Mélissa.
Salut, je m'appelle Mélissa. J'ai 25 ans. Ça fait 6 mois que je suis arrivée dans la Silicon Valley avec une idée pour disrupter vos usages de podcasteurs. Je veux faire connaître les podcasts au plus grand nombre en créant une appli qui suggérera d'écouter des podcasts en fonction de ce qu'on aime comme série Netflix, ce qu'on a commandé dernièrement sur Amazon, notre playlist Spotify, ou notre historique de navigation si vous l'autorisez et que vous avez appuyé sur le petit bouton OK. J'ai une équipe de développeurs avec moi, je suis jeune, j'ai des contacts, je pense pouvoir faire une levée de fonds dans 2-3 mois, mon pitch marche plutôt bien. Je vais vous raconter une soirée où je suis allée quelques mois après m'être installée dans la vallée. C'est Marc, l'un de mes développeurs, qui m'a invité. Il faut que tu le vois pour le croire. Là, j'arrive dans une immense villa de San Francisco. Je balaye la serre du Gard. Je vois des hommes de tous âges, des gros, des grands, des minces, des sapés, des pas sapés, des femmes, souvent très jeunes. Je discute avec plusieurs d'entre elles et je me dis, mais c'est bizarre, il n'y en a aucune qui dirige une start-up alors que tous les mecs, là, ils ont tous des idées à la con. Certaines travaillent chez les GAFA, mais essayent toujours de progresser dans la hiérarchie. C'est un peu dur, et galère, quoi. Je croise le fondateur de Skedaddle, le Uber des bus. Il me vend son idée et essaie de me dragouiller. Comme ça, je lui réponds que son idée est juste de recréer un réseau de bus. Il sait pas quoi dire.
Ça s'appelle Skedaddle.
Skedaddle. Plus loin, il y a un fondateur de Bodega, trop heureux d'avoir mis un vernis start-up sur l'épicerie du coin. Je croise aussi les deux mecs de la boîte qui s'appelait avant Long Island Iced Tea, qui est devenue Long Blockchain. Lui, il me parle de blockchain, mais apparemment, il sait vraiment pas ce que c'est. Je lui pose 3 questions, il a pas compris. Marc, là, il est toujours dans un coin en train de parler avec un mec qui est déguisé en lapin et qui lui propose de la coke. Alors moi, du coup, je comprends que je suis là parce qu'en fait, j'ai 25 ans comme toutes les meufs qui ont l'air jeunes et qui doivent me trouver vaguement mignonne. Et puis là, je vois commencer dans un autre coin, un plan à 3. Et puis, il y en a un autre. Mais bizarre, c'est toujours 2 femmes et un homme. Et là, je réalise. Ceci est une partouze. C'était pas dur. Mais surtout, je suis à Brotopia. Alors, Brotopia, pour ceux qui sont jamais allés dans la Silicon Valley comme moi, c'est le nom donné par une journaliste à l'ambiance qui règne dans la Silicon Valley. C'est un peu devenu le paradis des start-upers, les hommes blancs qui se font mousser en déballant leurs richesses et donc en faisant des partouzes. Tous ces entrepreneurs, ces devs, ces nerds blancs qui veulent disrupter, en fait, ont enfanté un monde qui pue la couille et où ils croient réinventer tout tous les jours.
J'ai bien visualisé le qui pue la couille, je sais pas pourquoi ça...
Et ça, Brotopia, c'est un peu le cœur de tout le problème à l'origine de la bulle, ce qui fait que bah, ces idées-là, comme Bodega, Juicero, ça a plein d'argent, ça se développe, les gens sont trop contents, et que moi, je galère toujours à essayer de financer ma start-up. Là, c'est le moment où il y a un VC qui me dit « Eh, mais faut participer à la partouze hein. !» Je fais « Ok ». Là, je me casse. Okay. Bah, je lui dis « Ok », gentiment, on est aux États-Unis, tu vois.
Dommage, ça partait comme une bonne fanfic.
Tu pourrais écrire la dedans, suite là. Si tu veux, Fibre.
Fibre, il prenait des notes.
Oh, Fibre, il avait une toge romaine dans sa tête.
Là, je me casse...
Un masque.
Je me casse, rejoins une copine que je me suis faite en arrivant, qui me raconte, bah ouais, c'est normal, moi j'en suis à ma deuxième start-up, et la dernière fois que j'ai rencontré un business angel, il m'a donné un chèque de $20,000, pardon. On dînait dans un restaurant hype, et c'était super, mais dès que, en fait, il m'a filé mon chèque, il a voulu m'embrasser.
Un TED Talk.
Aujourd'hui, je voudrais faire pivoter la Silicon Valley.
Allez, rien que ça.
Question, donc sur la base de tout ce que je vous ai raconté, pourquoi il n'y a pas eu autant de MeToo aussi retentissant sur le monde de la tech qu'à Hollywood ? Alors que, en fait, les conséquences de la majorité de couilles qui dirigent dans la région sont assez visibles dans chaque pitch de start-up auquel on peut assister ici. En plus, à Hollywood, les femmes, elles sont là, c'est des grosses stars, elles sont hyper connues, c'est le moteur de l'industrie. À Brotopia, si t'es une meuf, globalement, t'as déjà du mal à avoir un job dans ces boîtes, donc tu peux même pas accéder à l'industrie, t'es même pas dedans. Ces entreprises, elles sont verrouillées, alors qu'en fait, elles se veulent les pourvoyeuses de grandes valeurs de partage et de liens sociaux. Si tu regardes les chiffres, en fait, t'as 5% de startups qui sont dirigées par des femmes, et 16% des entreprises qui ont une femme à leur direction. Dans la Silicon Valley. Alors là, les boîtes font « Non, non, mais attendez, on a fait des chiffres sur la diversité. » Donc en 2014, tout le monde a sorti des chiffres sur la diversité. On est en 2018, rien n'a changé. Et donc la Silicon Valley continue de dire « Oui, mais on a changé la façon dont on apprend, dont on pense, dont on voyage, dont on vit, dont on socialise, dont on aime, dont on achète. » Mais elle ne peut pas juste changer la façon dont les femmes vivent au travail. What the fuck ? Mon plan, inverser ça. Je vais faire pivoter Brotopia, ça s'appellera Sorotopia. Étape 1. Ça consiste à créer un réseau social en fait qui va créer le socle pour que le MeToo de Hollywood soit aussi le MeToo de la tech. Parce qu'en fait, il y a un truc très fou dans la Silicon Valley, c'est qu'ils ont des avocats très très forts et que comme les meufs sont moins connues, bah en gros, elles se font bouffer par la peur de plus trouver de travail et donc je permettrai à toutes ces femmes de pouvoir parler dans un réseau hyper sécurisé. Donc là, sur Sorotopia, le réseau social, tu trouves Marissa Mayer qui te donne des conseils, la meuf qui a fait tomber Travis Kalanick qui te donne des conseils, enfin toutes ces meufs qui ont réussi à faire pivoter un petit peu, une petite marche, et qui en fait vont faire que l'enquête qu'il y a eu sur Harvey Weinstein aura lieu aussi sur les autres mecs. Mais ça va prendre beaucoup de temps, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de Hélène Pao,
oui.
La meuf qui dirigeait Reddit et qui a ensuite attaqué sa boîte suivante parce qu'il y avait de la discrimination. Bah, elle a perdu son procès parce que juste les avocats de la boîte d'en face, ils étaient vraiment super forts. Flash forward dans 30 ans, plus ou moins 50 ans en fonction du taux de résistance et du taux de réussite des partouzes. Dans 30 ans, Marissa Mayer, Sheryl Sandberg, Hélène Pao dirigent les GAFA. Ma pote Abby a vu sa start-up exploser. Elle n'a recruté que des femmes de toutes origines. Elles sont 4400. Je vais à une soirée, c'est pas une partouze, il y a plus de coke, les deals se font plus contre une fellation, les hommes blancs ne veulent plus être les cool kids et se comporter en fait comme des vieux beaux friches qui prennent de la coke et qui se tapent des putes. Les entreprises de la Silicon Valley sont beaucoup plus à l'image de la société, diversifiées. Alors je m'appelle bien Mélissa, mais Sorotopia n'est que le produit de mon imagination. En revanche, le lapin qui aime la coke et tout ce qui est écrit dans les livres Brotopia que je vous conseille de lire est malheureusement bien vrai, la Silicon Valley est toujours la vallée de la couille.
Voilà, applaudissements pour Mélissa. Il est bien envoyé ce mot couille. Je sais pas pourquoi ce mot couille sonne bien. Alors juste avant qu'on attaque le débat, pour rappel, donc Brotopia dont parle Mélissa, c'est un livre qui a été écrit sur cette culture notamment du pouvoir des nerds qui étaient des gens qui étaient assez asociaux et qui avaient aussi des problèmes sentimentaux sexuels qui ont pris le pouvoir à la Silicon Valley et qui, sans s'en rendre compte, en fait, ont forgé la Silicon Valley et les produits à leur image, et donc avec des problèmes de diversité. Les partous dont tu parles, Mélissa, c'est une vraie enquête qui est sortie sur Vanity Fair, où ce sont des fameuses...
En fait, Vanity Fair, c'est les bonnes feuilles du livre de Brotopia.
Ah, d'accord, ok. On parle de partous où on travaille et on baise... Mais c'est on baise surtout.
D'ailleurs, le terme, c'est pas partout.
Ouais, ils ont donné un nom de start-up.
Non, mais alors, ils ont disrupté la sexualité, en fait. Ouais. Ils parlent des trucs comme ça, mais en fait.
Enfin, ils ont l'impression de l'avoir disrupté, alors que c'est des partout.
C'est un nouveau nom.
Donc, si vous n'avez pas lu le papier, donc cette bonne feuille de Brotopia, le papier est absolument hallucinant. Et c'est en fait, on se rend compte que si on n'est pas dans ces fameuses partous.
Il y a vraiment des lapins qui prennent de la coke.
Voilà. Et on loupe des deals, et notamment quand on est une femme, c'est très compliqué de résister à ça et d'essayer de réussir sans passer par ça. Donc ça, c'est très
compliqué. Et il y a Elon Musk qui, lui, arrive complètement nature en pensant que c'est une soirée déguisée.
Donc Elon Musk a été une de ses parties, il a dit qu'il s'y attendait pas et qu'il est reparti très vite.
Il est nerd parmi les nerds.
Ça parle aussi de The Other Tech Bubble, qui est un gros papier qui est sorti sur le backlash qu'il y a sur les fondateurs de start-up en disant que c'est que des bros qui sortent de Stanford globalement ou d'écoles de commerce et qui n'ont pas de notion réelle de la vie.
Non, mais qui étaient tout simplement dans les mêmes dortoirs et qu'on dans une chambre, et comme c'est pas mixte, bah ils ont fait leur truc entre eux.
Alors ça, en France, il y a aussi des échos notamment sur les enquêtes sur Quantic Dream, sur les enquêtes sur l'école 42 où on avait toujours ce côté. Grosse ambiance bro, donc grosse ambiance de couilles et odeur de couilles. et donc ambiance donc voilà qu'on essaie de faire bouger, mais en fait qui est très dur à faire bouger. Et notamment ce qui était intéressant sur la Silicon Valley, et contrairement aux autres, c'est que c'est plus larvé qu'à Hollywood, et que la Silicon Valley surtout s'est toujours posée en bastion progressiste, etc. de la vie de demain qu'ils nous inventent, mais qu'en fait ils ont une société qui est extrêmement patriarcale, misogyne.
Mais en plus, je pense qu'il y en a vraiment qui se rendent compte en se disant « Ah ouais, merde, on a raté un truc, quoi. Oui. » Mais genre maintenant, mais qui n'ont pas senti, parce que la bulle, donc la bulle, c'est puissant. Et
tout dernier point, toutes les startups que tu as citées, toutes les personnes que tu as citées sont réelles.
Ouais.
Donc 100%. Donc,
l'histoire de, Bodega, du chèque Juicero. De 20 000 et du bisou, c'était vrai. Le lapin, Juicero, Bodega, tout ça, c'est...
Ce qu'a Doodle, le... À deux doigts de rien remporter les bus, c'est magnifique. tout ça, c'est
génial.
Donc voilà, donc c'est aussi une année de backlash. Tu as aussi parlé de Travis Kalanick qui a été. Tout est parti d'un billet d'une ingénieure qui a eu les couilles. Les ovaires.
Les vagins.
Bon, les vagins. décrire son expérience à Uber, et ça a été le début d'une longue cascade qui a entraîné notamment la démission. Enfin. Le limogeage de Travis Kalanick, le Uber de le CEO de Uber.
Mais il
n'y
avait pas que ça. Hein,
oui, il y avait plein de trucs qui sont tombés.
Et du coup, ils étaient bien contents qu'il n'y ait pas que ça. Mais...
Donc voilà à peu près toute l'ambiance notamment, et ce mot qui est tombé qui est Brotopia, et qui est un peu une sorte de réveil gueule de bois à la Silicon Valley, en disant putain, on pensait tout disrupter, réinventer le monde entier, avoir un monde beau avec le village global et tout, et qu'en fait, on était une bande de bros un peu déconnectés de la réalité. Alors, est-ce que vous avez envie de réagir? Enfin, vous allez réagir, mais sur certains points spécifiques. Sylvain.
Moi, je me demande s'ils en ont conscience et s'ils se remettent en question. Parce que, bon, c'est consternant, ce truc-là. Mais j'ai l'impression que c'est hyper dur à faire bouger.
Réponse, non et non.
Alors, avant que tu dises non et non, juste dans le livre de Brotopia, donc notamment, les dialogues sont surréalistes parce qu'ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont en train de réinventer des partous, par exemple, en disant non, on essaie de changer le modèle du couple, de la sexualité. Non, mais c'est dingue. Ce que dit Sylvain, c'est vrai que... Enfin, mais ça, tu connais mieux que nous. Mais la réponse est oui, dans le sens où ils ne se rendent pas compte.
Oui, ils ne se rendent pas compte.
Non, ils ne se rendent pas compte. Okay.
En fait, c'est aussi le mode de fonctionnement du financement des idées, tu vois, où il faut les pitcher. Et donc, en fait, tu dois essayer de marketer ton idée avant même qu'elle ait réellement pris corps. Et du coup, tu te retrouves à faire des raccourcis de ouf qui, de facto, deviennent le truc standard, en fait, par rapport à ce que tu pitches. Et tout se développe comme ça sur des slogans, et tu te retrouves effectivement à réinventer un système de bus qui est complètement débile en fait quand on y pense. Ou voilà, appeler Bodega un distributeur de sneakers que tu mets dans les halls d'immeubles, en pensant réellement que là, t'es en train de changer un truc, tu vois.
Et donc il y a quand même deux problèmes. Il y a des mecs déconnectés et il y a le fait que ce soit des mecs qui soient complètement entre mecs.
Il y a les mecs déconnectés et il y a le fait que le système de financement de tout ce milieu-là demande en fait à marketer à tout prix, tu vois,
marketer pendant des partous d'ailleurs
en plus, c'est ça, parce que autant joindre l'utile à l'agréable,
enfin l'agréable pour les hommes du coup,
pour les hommes, oui, parce que effectivement ils croisent jamais les épées là dedans c'est toujours deux femmes.
C'est comme dans... Non mais alors c'est drôle parce que effectivement il y a une blague de, c'est comme dans Ghostbusters, ne croisons pas les flux, c'est le mal. Mais ce qui est drôle, c'est que quand la journaliste décrit ses partous, comment elle s'appelle déjà,
Emily Cheng,
elle explique que ce sont des partous en fait faites pour les hommes. C'est-à-dire que les femmes peuvent sont encouragées à flirter ou à baiser entre elles, mais jamais les hommes vont se toucher. Il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes sont vieux, jeunes, beaux, pas beaux, mais toutes les femmes sont jolies ou si elles bossent pas dans une GAFA, elles sont la prof de yoga de la GAFA. Enfin, globalement, c'est truc qui est extrêmement misogyne.
J'arrive pas à comprendre à quel moment on a réellement cru que les choses étaient, enfin, que la Silicon Valley était progressiste.
C'est leur discours, on change le monde.
Ils sont pas progressistes dans le sens où on fait avancer positivement la société, ils sont modernistes. Ils modernisent la société. Après, est-ce que l'impact il est positif ou négatif, ça c'est.
Il y a pas eu un mythe là-dessus oui, sur le côté
les grands programmes de Google, Diversity at Google.
Oui, mais c'est pas parce que tu fais du vélo avec une table de réunion dans la cour du campus que t'es progressiste, t'es juste débile.
Non, mais Diversity at Google, c'était on embauche tout le monde, autant de femmes que d'hommes, etc. Tu vois, ils ont quand même un grand discours comme ça sur.
Et d'ailleurs, moi je parle pas du bas niveau là. C'est ce que Mélissa disait d'ailleurs. Ce qui est important, c'est au niveau des postes exécutifs, tu vois, du cadre. Du management.
Oui, c'est-à-dire qu'au niveau 1, il y a une grande diversité, mais dès que tu montes dans les échelons, il y a que des hommes.
Évidemment.
Enfin, des hommes blancs.
Oui, mais du coup, ils ont ce discours progressiste. Tu penses qu'ils l'ont pas, mais si, ils l'ont, ce discours.
Oui, mais en fait, il n'est pas suivi de.
Ah, bah ça, c'est clair.
D'ailleurs, est-ce que c'est chez Google qu'il y a eu ce fameux ingénieur
qui
a publié le fameux mémo pour se plaindre que les hommes blancs étaient.
Exactement. Et du coup, ça est en train de faire imploser. Enfin, pas imploser Google, mais.
Là,
on en est encore loin.
Je ne sais plus comment s'appelle.
James Damore.
James Damore, donc c'est un ingénieur blanc, plutôt talentueux de Google, mais qui a publié un mémo pour dire qu'il y avait une...
Et pas qu'un.
Oui, il y avait...
En gros, que les femmes étaient...
L'entreprise était ralentie parce qu'on empêchait les meilleurs, et notamment les hommes blancs, d'avancer dans l'entreprise.
En justifiant pourquoi les femmes étaient moins bonnes.
Ah oui, c'est vrai.
Point par point.
Petit détail.
Parce que physiologiquement, elles étaient moins...
Voilà.
Ouais, évidemment.
Fibre.
Donc, il faut quand même établir une chose, c'est que Brotopia, enfin, tu nous décris ça, mais c'est juste n'importe quelle société... N'importe quelle société, en fait.
Oui, mais n'importe là, ce qui est encore plus fou, c'est que nous, on se dit, c'est le truc de jeune progressiste qui change le monde. Et c'est vraiment, en fait, les mecs se comportent comme des vieux beaux friches, enfin, tu vois, comme il y a 50 ans. Mais,
les capitaines d'industrie traditionnels pensent pas disrupter la société, alors que là, ils sont.
Tu dis, ça va être le truc le plus progressiste où il y a de la diversité. Donc, les cas comme ce qui s'est passé à Hollywood vont exploser. Or, non.
Je me permets de faire une supposition. Prudente.
Je suppose.
C'était un rêve, ok.
Qui est de dire que je pense que c'est le début de la fin de Brotopia.
Ah oui.
Je vais prendre un secteur que je connais bien qui est le jeu vidéo. Donc, on a eu notre Quantic Dream, donc on a eu notre mini Brotopia à nous. Je vous laisse regarder l'article. Il y a eu trois articles Mediapart, Canard PC, Le Monde. Ils sont d'ailleurs les trois différents et très complémentaires. Ils sont
c'est l'enquête sur Quantic Dream, le plus gros développeur indépendant
donc
français.
C'est pas simplement c'est pas le plus gros français, mais c'est un gros français.
Indépendant français.
Et qui a sa tête à un chevalier des arts et des lettres, qui a donc, et qui est une société plutôt masculine, qui est très autocratique, bon, et voilà, qui a plusieurs particuliers, qui a eu aussi c'est des avocats en la personne de Julien Chiez, Carole Quintaine, etc. Je présente factuellement les choses. Et donc, il y avait une ambiance vestiaire de rugby. Mais ce qui est intéressant dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'aujourd'hui, le MeToo, tout ça, tout ce mouvement de révolution, le premier conflit réel qui a émergé, c'était le Gamergate il y a 3 ans. Donc, c'était vraiment lié au jeu vidéo. Et en fait, le jeu vidéo, est un peu une tête de pont sur ce côté-là. Et le problème du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo, c'est un produit qui, contrairement à Facebook, il doit se vendre. Et on a de la concurrence. Et si on est des sales cons, on se vend pas. Voilà. On n'achète pas des produits d'entreprises qu'on déteste. Sauf si on est pris à la gorge comme EDF ou comme Facebook ou comme Google, on peut pas se passer d'eux, tu vois. Et là, en l'occurrence, le coup porté à Quantic Dream est très dangereux parce que on va pas acheter leurs produits maintenant qu'on a vu ça. Ça va leur porter un réel préjudice. Et on peut pas se permettre. Et justement, la société dans le jeu vidéo est en train de changer. C'est-à-dire qu'on porte des valeurs plus positives et on a un comportement vis-à-vis des femmes, notamment, qui est en train de changer parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir du bad buzz. Voilà. Tout simplement. Et c'est.
C'est pas une question de valeur, c'est une question, il faut continuer à vendre.
Non, mais parce que.
C'est
non,
ce que
donc on va éviter les
filigrammes de parce que je veux pas imaginer que. Enfin, si la société changeait spontanément et naturellement et simplement, ce serait déjà fait. Donc il faut des choses puissantes. Rien n'est plus puissant que le système financier. C'est normal. C'est comme ça que ça marche.
C'est jamais s'il est de gauche ou de droite, fibre, en fait. Mais en tout cas, il va violemment d'un côté à l'autre.
Il est en relief, là, tu vois. Il est même plus à plat, gauche-droite.
Je fais des constats et je pense qu'également peut-être qu'on va enfin Uber dans l'article de Kalashnik justement ils disent aujourd'hui les gens n'utilisent plus Uber non pas parce que les taxis sont redevenus bien, non, c'est toujours des sales cons, mais on pense que Uber, c'est encore plus des sales cons que les taxis. Donc, on a vraiment entre la peste et le choléra. Mais le jour où les Uber deviennent des good guys et il y a une femme, alors là, il y a un nouveau good guy, d'ailleurs, c'est un Indien encore qui est
très fort.
Voilà, qui s'excuse, hein. Il est allé voir Londres, il a dit, on a été des cons, on s'excuse, donc, voilà. Et ben, peut-être qu'on va se remettre à utiliser Uber et peut-être effectivement que les gens vont changer leur comportement.
J'ai l'impression que sur Quantidream, tu dis attention, c'est dangereux, et pour Uber, tu dis c'est super. Je comprends pas où est ta ligne directrice.
Qu'est-ce qui est dangereux?
Tu dis c'est dangereux à un moment de dénoncer parce que Quantidream va plus vendre du tout de jeux et à un moment c'est quand même dangereux, il y a des emplois.
Non, il dit qu'ils se mettent eux-mêmes dans une impasse parce que le critère économique va faire qu'ils vont changer.
D'accord.
Hein, obligatoirement.
Ok, ok.
Il suffirait qu'ils fassent
de bons jeux.
Non, parce qu'en plus, Quantidream, ils sont pas face au consommateur. Entre eux et le consommateur, il y a Sony. Et si Sony disent, écoutez, les gars, j'ai du mal à travailler avec vous parce que vous faites du mal à mon image, peut-être qu'ils vont changer vraiment de stratégie. Voilà.
Sylvain Daz, est-ce que vous avez suivi un peu cette sorte de, enfin, toutes les différentes facettes de Brotopia, donc, c'est-à-dire les backlash contre certains start-upers, contre Uber, l'article et le livre, enfin, le livre d'Emily Chen avec les bonnes pages sur Vanity Fair, le retour autour de The Other Tech Bubble, donc les gens commencent à détester les start-upers parce qu'ils tombent dans une sorte de stéréotype et de caricature de start-upers, etc. Est-ce que vous avez un peu suivi ça?
Moi, en tout cas, c'est un truc que je défends depuis pas mal de temps aussi. Le fait de se dire que cette mentalité-là est issue de personnes qui étaient, enfin, qui n'avaient pas forcément les bons codes sociaux, en tout cas, pendant leur jeunesse.
C'est une des grosses théories de Brotopia.
Ouais, c'est ce que je dis aussi.
Les gens qui dirigent la Silicon Valley étaient plutôt des asociaux.
C'était souvent des mecs qui étaient un peu mis de côté au lycée, etc. Donc pas populaires, machin, etc. Et donc là, maintenant qu'ils ont l'assise financière, ils découvrent des trucs et ils ont l'impression que c'est eux qui l'ont inventé, tu vois.
C'est complètement la théorie du livre.
Voilà. Donc, moi perso, c'est ce que je disais déjà, je crois que c'est en septembre ou en octobre, sur la mentalité de la Silicon Valley, quoi. Donc ça découle complètement de ce truc-là. Et effectivement, faut que ça change. Maintenant, encore une fois, je pense qu'on s'est fourvoyé depuis le départ. La Silicon Valley, pour moi, n'a jamais été progressiste. Jamais, en fait. C'est un mirage, tu vois. Ça n'a jamais eu d'existence. Alors, ok, oui, il y a des comités éthiques, machin, etc., mais c'est des comités éthiques qui sont chez Google, qui est le plus gros advertiser du monde. Donc,
Sylvain, ton avis sur la question?
Ce qui est marrant, c'est que nous, en France, la scène start-up française, on n'a pas exactement le même type de personnes, mais c'est quand même des hommes blancs. Mais eux, ils ont les codes, ils sont issus de l'école de commerce, tu vois.
Ils ont les codes.
Non, mais c'est vrai.
C'est des sales cons. Il y a des gens dans l'école de commerce qui vont te montrer des trucs.
Mais bien sûr que c'est ça. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est pas des associés qui ont pas les codes de la société. C'est au contraire des gens qui ont tous les codes et qui savent bien, faire les choses.
C'est des Laurent Wauquiez. C'est des Laurent Wauquiez.
Justement, moi, je suis pas d'accord avec, de dire c'est des Laurent Wauquiez parce qu'il y a un système de fabrication d'élite qui est hyper pervers en France.
Justement.
D'ailleurs,
il y avait beaucoup d'articles justement sur le fait que les startups françaises étaient très traditionnalistes par rapport aux startups américaines. Mais startups américaines, t'avais un petit génie du code qui sortait, qui forquait du parcours classique, alors qu'en France, on revient très vite à un truc de sortie d'école de commerce ou de grosses filières, apparemment.
Et parce qu'on embauche sur le CV, on embauche sur le diplôme, ce qui est une absurdité totale.
Après, c'est un autre problème. Mais en tout cas, les VC
regarderont ce profil-là d'abord pour financer, plutôt qu'un mec qui a une bonne idée chez lui.
Juste avant qu'on prenne les questions, enfin les observations, les analyses du public et leurs réactions, un dernier point de débat. Est-ce que justement, Daz, tu disais, j'ai jamais cru au fait que la Silicon Valley était progressiste. Est-ce que c'était pas, j'avais l'impression que c'était le sentiment massif de, on a cassé les boîtes à l'ancienne, on est en open space, il n'y a plus de dress code, les gens sont plus intéressés, mais il n'y a plus d'hiérarchie, les gens sont plus intéressés par l'argent.
Totalement d'accord avec toi.
Des mecs comme Steve Jobs, Zuckerberg se baladent en slaps et en jeans parce qu'en fait, oui, ils sont milliardaires, mais en fait, ils s'en foutent. Bill Gates veut changer le monde, le PDG de, je sais pas, de North Face rachète des terres entières. Enfin, il y avait un côté. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de fantasme sur la Silicon Valley qui est la terre de tous les possibles, où tous les codes tombent, et qu'en fait, ce que Mélissa nous raconte, c'est que les codes les plus importants sont...
Bien sûr, mais parce que pour moi, c'est pas parce qu'il y a un baby-foot dans ta salle de pause que ta boîte est humaine, en fait.
Non, mais c'est même l'inverse. Dire, ouais, c'est cool, on est en open space, non, c'est un système de panopticon communiste où il y a un chef qui regarde tout le monde. Ouais, de dire, ouais...
Mais c'est comme ça, en plus.
Venez en... Ouais, c'est en plus, un contact dream, c'est ça. Venez en jean, c'est cool. Non, c'est vous dormez ce soir au bureau, de toute façon, donc autant être en jogging, tu vois.
Donc, t'es à gauche ou t'es à droite? T'es à gauche.
Mais on s'en fout, je suis à gauche.
Je sais pas qui.
C'est pour vous dire que tout système, enfin eux comme ils sont dans la présentation hyper positive des éléments, on a l'impression que c'est cool, mais c'est pas du tout cool.
C'est cool, l'aspect est cool, effectivement, il y a des couleurs pastel, t'as un baby, t'as un distributeur avec des canettes à volonté, mais etc. Mais socialement, ça change rien.
Il y a pas d'avancée par rapport à l'entreprise classique, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de.
Moi personnellement,
que l'entreprise classique, personnellement,
pour travailler dans une entreprise classique qui justement a un peu shifté, a adopté certains des codes, y compris les salles de réunion pastel et les open space. Pour moi, l'open space, c'est la fin totale de la bonne ambiance au travail. Justement, c'est un enfer en fait. Au quotidien, c'est dégueulasse.
Mmh. Bon, là, on dérive sur un autre sujet encore.
Oui, non, mais voilà. Mais en fait, c'est encore une fois parce que c'est cool d'avoir des grands espaces comme ça qui sont pas cloisonnés parce que soi-disant l'information va circuler et du coup, on crée un esprit, une cohésion, un esprit de corps, machin, etc. Non, c'est faux en fait. C'est pas en rendant un truc qui sur une photo fait cool que ta boîte le devient réellement et que tu respectes toutes les sensibilités, les minorités, etc., etc. Ça n'a rien à voir, en fait.
Il y a une majorité d'hommes dans ton entreprise ?
Au poste clé ?
Oui.
Non.
D'accord.
Comme quoi ? Et pourtant, c'est une entreprise qui a 70 ans.
Mais c'est une entreprise peut-être internationale.
Oui.
Ben, elle est française, initialement.
Parce qu'en France, au CAC 40, il n'y a pas beaucoup de femmes et il n'y a pas de noirs.
Non, elle est française. Voilà. Le PDG est un homme, certes. Par contre, tu vois, moi, ma patronne, je suis à la DSI. La patronne de la DSI d'une boîte de 12 000 salariés, ben, c'est justement une femme. Mm. Et en dessous d'elle, c'est aussi une femme, et encore en dessous, c'est encore une femme. Enfin, tu vois, justement, paradoxalement, cette boîte qu'on pourrait croire comme ultra patriarcale.
On appelle souvent la
COGIP. Voilà, ultra patriarcale. Finalement, moi, je trouve qu'elle est en avance sur plein de points par rapport à des boîtes qui sont cool.
Sylvain, tu voulais dire un truc juste avant qu'on prenne
la parole au public. Vous visiez des partous ou pas?
Ouais, bah certainement, mais je pense que c'est plus les mecs du marketing.
Ok.
En tout cas, le passage de Brotopia sur les partous est juste surréaliste parce que dans ta chronique, quand tu l'as décrit, tu décris que la réalité est au début, même moi qui avais lu le papier, je pensais que c'était une sorte de conte un peu à
avec le lapin et tout.
Oui, tout ça c'est vrai. Et le fait qu'ils signent des deals pendant qu'ils baissent, etc., c'est absolument incroyable. Parce qu'on vous rappelle que la vie 2.0, tu travailles tout le temps, bien sûr, un open space, et open sex. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans le public qui voudraient réagir sur Brotopia? Il y a Raja ici. Alors, on va donner la parole à le monsieur, parce que vous n'avez pas encore la parole. Et après, Raja, tu prends la parole. Bonjour, prénom,
bonjour.
Obédience.
Alors, je suis Alexandre et je suis Kalitos.
Ah, Kalitos.
On te protégera, on te protégera à la sortie.
Il en faut.
Bienvenue à Qualité Rotopia. Une société qui n'est pas si ouverte que ça.
Alors, moi, j'aimerais parler d'un sujet qu'on avait déjà discuté sur Twitter. Moi, je viens d'une école de commerce.
Bouh! Non,
il en faut aussi.
Cumule, hein.
Et le gros problème, en fait, c'est que c'est normalisé, en fait, tout ça. C'est-à-dire qu'on est dans une école où les soirées où les meufs sont hyper sexualisées, je veux dire, c'est un truc qui est hyper commun et ça pose problème à personne. C'est-à-dire que personne s'en choque.
Institutionnalisé, en fait.
Ouais, c'est hyper institutionnalisé. Les meufs s'en foutent. Elles sont même justement là, en fait. Enfin, c'est l'impression, en tout cas, qu'on en a. Je veux dire, j'imagine qu'il y en a qui s'en foutent pas. Mais la majorité donne une impression que c'est hyper normal, que surtout l'administration la valide. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de visuels qui sont hyper choquants.
Ouais,
et c'est
hallucinant.
C'est vrai que ça a été aussi un des scandales, pas que l'école 42, mais on avait sorti aussi des communications internes d'écoles de commerce où très ambiance bro, quoi, ambiance vestiaire.
Ouais, et surtout, en fait, ce qui était hyper choquant, c'est que, je sais plus ce que je voulais dire, mais...
c'était pas choquant, en fait, ça choque que les gens qui n'en font pas partie, concrètement.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et il n'y a aucune nana dans ton école de commerce qui dit des choses contre ça, enfin, il n'y a aucune...
Concrètement, on est peut-être, je sais pas, une dizaine à en parler, et se dire, c'est quand même chaud, non? Et tout le monde s'en fout, en fait.
Okay.
Et du coup, c'est pour ça, ce que je voulais dire, c'est que, justement, c'est pas des gens qui sont frustrés sexuellement, c'est-à-dire que à part le tiers qui va sortir d'une prépa, la plupart c'est des gens qui vont venir de sans vouloir vexer les prépas. Mais la plupart de ces gens, c'est des gens qui sont
Un peu filiérico, quoi.
Un peu de gauche. Et du coup je trouve que c'est des gens qui sont pas frustrés et qui le pratiquent quand même et qui le développent et comme c'est normalisé, ça choque personne et ils continuent à entretenir ce...
Donc là, c'est systémique, en fait.
Ouais, c'est
systémique. C'est le coup du gardien du camp de concentration qui fait son travail, quoi.
Sans vouloir aller là-dedans...
Légère escalade de la métaphore.
On n'en avait pas encore eu.
Moi, je trouve qu'elle arrive plutôt tard et c'est bien.
On se maîtrise.
Mais alors, là, du coup, ce que disait Mélissa, ce dont on parlait un moment sur, effectivement... Aux États-Unis, le gros des start-upers viennent quand même de grandes écoles, mais plutôt avec une ambiance dev nerd. Et le gros des start-upers français depuis quelques années viennent des écoles de commerce. Ouais. effectivement, la question sexuelle, qui est une des questions importantes de Brotopia, elle est différente peut-être dans les deux cas, mais on a quand même une ambiance de bro et de domination masculine.
On aura le même problème dans 5 ou 10 ans. Hein.
Ouais. Enfin, même si les prix de... Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord.
Faut que tu crées sur Utopia, il n'y a pas d'autre choix.
Bah oui.
Ah ouais, mais ça fait un peu du mansplaining. Enfin, du mansplaining de le faire en tant qu'homme.
Tu peux pas être un homme qui crée un truc comme ça, enfin, on n'est pas mademoiselle.
Non, mais je te dis pas de diriger le truc, je te dis de...
Bisous à Fab que j'apprécie beaucoup.
Il arrive là tout de suite à la soirée. Hein.
Ah bah parfait. Bah oui, il est là en plus.
Oui, il vient. Bon.
Bah, mademoiselle, message, c'est des qualitaires du Nord, hein, mademoiselle aussi. C'est des Lillois. Voilà. Très bien. Merci pour le témoignage sur les ambiances, notamment école de commerce. C'est vrai. Et donc, comme dit Alexandre, il y a eu quelques temps, il y a pas un MeToo, mais une sorte de prise de conscience avec divulgation de ce qui circulait dans les écoles de commerce. Et effectivement, c'était.
Et ça va péter.
C'était comme école 42 et compagnie.
Dans 5 ans ou dans 10 ans, comme pour Brotopia.
Non, mais c'est long.
Oui, mais comme dit Mélissa, ça ne pète pas.
Ça
en fait.
Pète pas à Brotopia. Enfin, tu vois, la Silicon Valley, t'as vraiment caladique, mais.
Oui, mais là, on en parle. Enfin, je veux dire, t'as carrément un terme qui explique le truc et tout. Donc, ouais. Tu vois, c'est quelque chose qui
mais
est.
Mais Hélène Pao, elle a perdu son procès, quoi. Oui. Tu vois, c'est des trucs comme c'est, ça. Genre, quand il y a des cas qui sont portés en justice, machin et tout.
Ça n'a rien à voir avec Hollywood ou.
C'est pas
milieux, la Silicon Valley n'a pas du tout bougé.
C'est chaud, quoi.
Raja, tu avais quelque chose à dire à ce propos?
Oui. Bah, du coup, moi, je suis comme Fibre aussi, je travaille dans le jeu vidéo. Donc, oui. Je suis une femme qui travaille dans le jeu vidéo. Et,
peux-tu dire dans quel studio tu travailles ou...
Là, je suis en freelance pour l'instant.
D'accord.
Donc, voilà. Et pour l'instant, je travaille avec des clients en télétravail. Et donc, oui, je rejoins la question de mon prédécesseur. J'ai oublié son prénom.
Alexandre. Ton prédécesseur est Alexandre le premier.
Et oui, en fait, moi, enfin, par exemple, je parlais avec une étudiante qui est en école de design, de game design, et elle me racontait que c'était l'enfer, tout simplement. Donc, question très simple, est-ce que tout ça commence pas à l'école, en fait?
Ouais. C'est vrai que là, la remarque d'Alexandre et de Raja se rejoint. La
c'est
Silicon Valley,
façon,
est-ce qu'elle ne crée...
C'est ça, c'est vraiment le truc des dortoirs, les trucs de...
Mais non, mais le problème aussi, c'est la parité homme-femme. Et c'est vrai que si tu prenais à l'époque les mecs qui allaient en génie électrique, bon, bah, justement, dans une promo de 60 personnes, il y avait 58 mecs, tu vois.
Mais du coup, le
métier donnait pas envie aux femmes de rentrer dedans et l'ambiance pouvait en décourager certaines qui pourtant étaient motivées de se mettre dedans.
Oui, donc là, c'est le cercle vicieux.
Et après, bah voilà, en fait, c'est...
Mais la seule question, enfin, du coup, pour recentrer le débat sur la Silicon Valley, parce que là, on parle d'un problème général de sexisme et de misogynie dans nos sociétés qui est vraiment pervasif. Mais la Silicon Valley, justement, c'était la promesse de casser tellement de codes et que ça, c'est le code qu'ils n'ont pas du tout cassé.
T'as des baby-foot dans les salles de pause.
C'est une belle victoire.
C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal.
Ils ont rien cassé. Les loyers sont très chers dans la Silicon Valley. L'argent est roi. Le marketing est roi. Le pitch est roi. Les idées sont folles. La spéculation, et surtout avec la blockchain.
Donc en gros, il y a juste l'uniforme qui a changé. On est passé du costard au jean et au jogging.
On a refait la même chose.
Le jean ou jean, c'est le costard du 21e siècle.
Alors, une intervention ici. Bonjour, quel est votre prénom et votre obédience religieuse?
Je m'appelle Yann et je suis qualité rose, forcément. Et on se fait applaudir.
Vraiment cinglé.
Les Kaitos s'applaudissent, les Kaitos U et les Kalinou ne disent rien sur la genre.
Je rappelle que Kalinou, en fait, c'est de base déjà. Quand tu as qualité, tu
en es.
Bref.
Mais les Kalisters, alors où sont les Kalisters?
Ouais, je voulais juste
les Kalisters.
Rebondir sur cette histoire de trucs systémiques, etc. Et aussi sur le fait que la Silicon Valley, vous souhaitez casser des codes, etc. Ça me fait penser un peu, si vous l'avez vu, je vous enjoins à le regarder, au film Problemos. Ou des
Problemos ou Probleméros?
Problemos.
C'est pas pareil.
Ouais, mais c'est pas problémaire.
C'est le truc d'Éric Dussard.
Et en fait, ce sont des zadistes qui veulent recréer une société parfaite, etc. Suite à des aventures rocambolesques dont je ne vous dévoilerai pas la teneur, se retrouvent à recréer au final une micro-société qui se veut être libre. Et qui va finir par retomber dans les mêmes travers que la société à laquelle il voulait échapper. Et je me demande s'il n'y a pas aussi comme dirait Daz, je pense que c'est juste deux points, la connerie, où en fait on se rue sur des standards qui sont là depuis très longtemps et on retombe sur quelque chose d'atavique, de se dire voilà, je pense que l'être humain il est con de base et il voudra toujours écraser la gueule de l'autre, et si en plus la gueule de l'autre elle a une paire de seins, c'est encore mieux parce que du coup elle viendra pas se plaindre. Et je pense qu'il y a cette espèce de micro-société qu'on recrée à chaque fois et bizarrement on n'avance pas des masses et on se dit oui, bah la Silicon Valley est arrivée avec des gens qui étaient jeunes, des gens qui voulaient plus porter de cravate, etc. Mais est-ce que pour autant c'était une garantie que ça aille changer quelque chose?
C'est ce qui est arrivé au communisme, hein, qui a été d'ailleurs dénoncé dans la ferme des animaux. C'est-à-dire que.
Bah oui, techniquement, ouais. On drift à voilà. Ouais. Oui. D'arriver et de dire, bah non, mais on fait tout pour tout le monde, mais au final, bah, Staline s'est servi.
La Chine vend des ordinateurs, quoi.
Et Staline ne savait pas jouer au baby-foot, arrêtez
l'air! Il avait une très jolie salle de réunion pastel.
Des micro-sociétés.
Un petit rouge pastel, très joli.
Des micro-sociétés d'hommes qui ont voulu créer le bien, ils ont engendré le mal, c'était les Jedi aussi, d'une certaine manière.
Ah! Sans spoiler!
Il faut déconstruire les Jedi et casser le truc, quoi. C'était des bons.
Je vous invite à suivre le sujet sur la déconstruction personnelle sur le...
Oula! On va en parler aussi.
Allez, mic drop.
Non, mais grand, il va se juger, mais enfin, ce mot déconstruction qui plane au-dessus de nos têtes sans en parler, c'est un peu la seule solution.
Il est galvaudé, là. Déconstruction, ça veut dire, j'ai commencé à boire du sirop à la grenadine, je me déconstruis, tu vois, ouais. Enfin, doucement avec
merci,
terme.
Merci Das d'avoir mis fin à ce débat de manière.
Non, mais par contre, là où moi j'aurais quand même une note d'optimisme, c'est qu'effectivement, on n'en sort pas comme ça, de tous ces trucs-là qui sont ancrés effectivement depuis ultra longtemps. Mais, Das, mais on progresse en fait.
Tu t'es déconstruit au camp, t'es revenu du camp en disant je crois au polyamour, c'est fantastique et tout, alors que vraiment alors t'étais motivé vraiment de la résistance.
Non, j'accepte la notion. Moi j'appelle ça des plans cul après, voilà, c'est comme les orgies. Et
ouais, c'est pas trop déconstruit.
Ouais. Sur certains
il s'est reconstruit.
Après, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord pour dire que c'est scandaleux, mais qui s'engage ici au quotidien pour faire changer les choses.
Ah, alors moi j'achète du café Max Havelaar. Oui, monsieur.
T'as fait une Maxime B là. Non, bon, mais... c'est bien joli MeToo, mais c'est quoi le call to action maintenant?
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. On est là, on débat, on essaye de trouver des solutions, mais qui par exemple est au contact des associations
Sorotopia.
Mais c'est pas les associations, forcément. Hein. Je pense que c'est dans son travail personnel.
C'est pas assez.
Non, mais tu vois bien qu'à la Silicon Valley, si t'as pas genre une armée d'avocats et que t'as pas les reins solides, tu tiens pas deux secondes.
Et surtout,
tu trouves pas de job, quoi.
J'ai pas l'intention d'aller dans la Silicon Valley, mais toi demain.
Non, mais même.
Je t'invite à recruter plutôt des femmes, par exemple, si tu.
Bah, c'est mon but.
C'était le
cas.
Le projet de Sorotopia.
C'est ça.
Bon, on verra. On a attaqué évidemment un problème qui
Attends,
est très gros.
Il y a un petit mot.
Qu'est-ce qu'il y a un petit mot? Allez, un dernier pour finir.
Allez, viens, mon ami, viens.
Il va poser une question incroyable qui va nous retourner la tête. On va discuter deux heures.
Et qu'il nous reste 10 minutes avant que le bar nous jette parce qu'on est en retard.
Alors une petite.
L'alcool est important. Les femmes, c'est important, mais l'alcool.
Petite réflexion déjà assez rapidement. C'est déjà souvent dans les GAFA, les femmes, elles sont présentes, c'est vrai, dans l'entreprise, mais au niveau des postes administratifs, dans les ressources humaines, c'est la prof de yoga, elles sont pas présentes dans l'ingénierie.
Ouais.
Et ensuite, c'est une question, pourquoi ce serait pas aussi aux hommes de s'engager? Parce que tu parles d'Hélène Poe, etc. Pourquoi ce serait pas aussi aux hommes de s'engager, peut-être, pour changer tout ça?
Ah bah bien sûr,
c'est le fameux, les hommes doivent s'emparer du problème. Et c'est aussi fameux,
ça peut être contre-productif.
Aussi, le point pour citer notre cher collègue et ami Titu Lecoq.
Ouais.
Qui est que c'est très dur aussi dans l'autre sens pour des hommes d'aller vers ces métiers. C'est que des hommes qui vont vers des métiers jugés de femmes sont très mal jugés, très mal reçus. Donc on a
après, bien sûr, chacun ses ghettos. Tout le monde s'engage, mais c'est vrai que il y a des fois où je pense que les femmes sont tellement choquées qu'elles peuvent pas toujours en parler à des hommes. Ou enfin, elles ont aussi besoin. Il y a un gros truc aux États-Unis qui s'appelle le safe space, qui est un truc assez ambivalent. Tout le monde n'est pas vraiment d'accord avec ce truc.
Le safe space.
Safe space.
Ah, space, ok.
L'endroit le plus sûr possible. Où tu te sens vraiment bien, et donc du coup les nanas créent des endroits où il n'y a que des nanas parce que elles ont été choquées
par les fameuses réunions non mixtes.
Voilà, exactement. Tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin tu vois
en France ça a du mal à passer comme concept,
clairement. Mais après oui, bien sûr, c'est sûr que ça passera par là aussi, hein. C'est pas que des femmes qui vont se soulever et faire nous sommes les 4400.
J'espère que vous
comme plus. Dit mon ami Loïc Barbier, si tu n'essayes pas de trouver la solution, c'est que tu fais partie du problème. Voilà. Il a des phrases comme ça qui me surprennent.
Très bien. Eh ben, merci en tout cas, Mélissa, pour ce gros, gros débat. Alors là, je pense qu'on en rediscutera très longuement dans le forum, puisqu'effectivement, là, on est sur un truc très gros. Mais en tout cas, lisez Brotopia. Si vous n'avez pas lu ce livre,
ouf, de fait.
Et si vous n'avez pas lu le livre, lisez les bonnes feuilles dans Vanity Fair, c'est absolument surréaliste.
Studio 404, l'émission de société numérique.
Ce numéro de Studio 404 de la fin janvier touche déjà à sa fin. Merci, cher chroniqueur.
8 heures d'émission.
Mais non! Merci, bravo. Mélissa. Merci, Sylvain. Merci, Fibre. Merci, Daz. Merci, Sam, pour le stream. Merci, Gislin, pour la réal. Merci, la Tesla, pour le swag.
Merci, Charles.
Et surtout,
merci à la coroutine.
Merci à la coroutine de l'accueil. Merci beaucoup.
Et bravo à vous.
Applaudissez-vous.
Merci. Le formidable.
Donc c'est le moment où les auditeurs seront frustrés, car ils ont entendu toute l'émission, ils pensent avoir profité de tout, mais en fait ils ne se rendent pas compte que dans 5 minutes nous sommes 80 personnes à aller boire à 100 mètres d'ici à Lille, et que ça va, si tout se passe bien, très mal se terminer pour Sylvain et Ghislain, on espère en tout cas très très fort.
C'est parce qu'on dort dans le même lit.
Ce qui se passe à la Cali Night reste à la Cali Night en tout cas. Donc merci aux orgas de la Cali Night, merci à la coroutine une dernière fois, et nous on se retrouve le mois prochain. Ciao à tous. Ciao.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.